Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour!
Ouais! Salut! Ça va?
Oh là là! Qu'est-ce qu'elle est jombe! Qu'est-ce qu'elle est rayonnante, cette Alix Martineau! Pourquoi j'ai pas mon chat qui s'affiche? Allô? Ça fait longtemps que je suis pas venue sur Twitch parce que j'étais en vacances pendant une semaine.
Et oui.
Du coup, ça a fait une semaine qu'on s'est pas vu. On fait ce live vendredi au lieu de mardi. On n'a pas fait le live jeux vidéo. On n'a pas fait le live Reddit. Mais I'm back. Donc, on va reprendre le programme habituel après cette soirée exceptionnelle en compagnie de Alix Martineau herself. Alix, qui es-tu? Que fais-tu? Comment te retrouves-tu à parler de succession avec moi? Ce qui est un plaisir.
Moi, je suis qui? Ben, je suis Alix Martineau. Je travaille chez Acast, qui est une régie de podcasts, mais à côté.
C'est là où il y a mes podcasts d'ailleurs.
Exactement. Qui hébergent les podcasts de Mimi. Mais à côté, je suis aussi scénariste. J'ai aussi un podcast avec Kalindi Rumpfel, Camille Laurent et Louise Petrouchka qui s'appelle 4 quarts d'heure. Et je crois que c'est tout.
C'est déjà pas mal. C'est aussi la meuf la plus jombe de ton quartier. C'est réel et validé car c'est inscrit dans la description Twitch. Et vous pouvez la retrouver sur Instagram @alixmrtn. Le lien sera dans la description du podcast et vous l'avez dans le chat. Et merci Steel Marty pour le resub. Oh là là.
Wow.
Je vois qu'il y a un enthousiasme pour la présence d'Alix. Et ça me fait plaisir. Et on est deux bolosses qui avons oublié de mentionner qu'on fait Game of Reroll ensemble.
Eh mais oui putain.
Quand même, on l'a fait la semaine dernière et tout. Cette semaine, on s'est envoyé des mails pour caler le prochain et tout.
Oui, oui.
Et on a oublié de le dire et j'ai oublié de le dire dans la description. Mais vraiment, on se voit trop, on fait trop de choses. On fait Game of Reroll dans lequel tu incarnes
tous les mois
Isabeau de Cresserelle. Est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots, Isabeau, ce personnage si loin de toi?
Isabeau de Cresserelle est à la base fauconnière et donc elle se balade toujours avec son faucon qui s'appelle DJ Cactus.
Tout à fait.
Voilà, c'est une femme somme toute jeune,
libre,
mm-hmm. tant sexuellement que dans ses mouvements ou ses décisions.
Oui, oui, et parfois rapide aussi dans voilà. ses décisions notamment.
Et elle aime
Zoophilie
parler aux animaux.
Il propose Mintara. Est-ce que non, elle assume pas. Non, on cut. Arrêtez, je veux me faire bannir de Twitch. Je suis sûre, il y a des robots qui screen. Salut Marina, salut Louisy, on n'a même pas dit bonjour à tout le monde.
Bonjour le titre.
Salut Lardon trop cuit. Salut Bruno. Salut Marty, salut Ezog, bien sûr. Salut Justin.
Je vais faire une petite story.
Ah ouais.
Dire qu'on est là.
Ah ouais. Donc, salut Léa. En plus, t'as la petite light, ring light et un glow.
Eh mais non, mais ça.
Noter quand même. Je me permets parce que je sais qu'Alix n'a pas de problème avec le fait qu'on lui fasse des compliments sur son physique. Peut-on noter le glow de cette personne? Qui nous a demandé frontalement « Est-ce que j'ai pas super bonne mine ?» Et elle a raison, elle a super bonne mine. Léo demande si t'es pas la sœur jumelle de Mao Drama.
Ah putain.
En vrai, avec ça... cette coupe et le rouge à lèvres,
ouais.
Mao non, mais Drama tu sais est que... une comédienne tu sais... de stand-up qui, bah...
Mais en vrai, on nous le dit tout le temps. Et en plus, on a un peu la même voix. Et les gens nous disent parfois qu'on a même le même humour.
Bah, vous
donc,
êtes marrante.
Ce que je prends très bien.
Et féministe, et de gauche. Et il y a un peu d'absurde dans ce que vous
oui.
faites toutes les deux. Tu
oui,
vois.
Oui. Et du coup, mais du coup, je le prends très bien. J'ai une story à la une, sosie, sur Instagram. Où Mao est dedans, puisque vraiment, on me le demande 47 fois par jour.
Non, mais les fans réclament, quoi. Donc je comprends. Moi, pour moi, la meilleure sosie d'Alix Martineau, c'est Olivia Colman, parce que c'est aussi ma préf de toutes les sosies potentielles.
Je suis d'accord.
Mais c'est vrai qu'Alix, en plus d'être extrêmement BG, a beaucoup de sosies par rapport à quelqu'un comme moi qui en a assez peu.
J'ai une tête normale, quoi.
Bah, t'as une tête normale de meuf BG, quand même.
Je ressemble à beaucoup de gens.
Mais en mieux, bien sûr.
Ou c'est les gens qui me ressemblent, plutôt.
Oui, je pense que t'es le blueprint, tu vois.
Oui.
Pas comme Connor qui est le premier pancake. Transition. Qu'est-ce que tu penses de Succession, Alix Martineau? Qu'est-ce que tu fais là, un vendredi extrêmement jombe, au lieu d'être en train de twerker quelque part dans Paris? T'es là sur Twitch pour être une grosse nerd avec moi.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu kiffes Succession au point d'en parler sur Twitch?
Bon, moi, j'aime de manière très modérée Succession, de toute façon. Non, bah voilà, j'en ai
Vous
fait...
Vous n'avez pas vu la longueur de ses notes? Elle a plus de notes que moi et c'est mon podcast quand même. Hein.
Non, mais en fait, c'est une série que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Je crois que j'ai découverte à la fin de la saison 2.
Ah, donc, ok. Donc, je suis pas dans la Succession Family dès le début.
Non,
moi, il m'a fallu une saison pour écouter Fabrice et ouais. Peut-être.
Ouais, je suis pas une fan de la première heure, mais j'ai beaucoup entendu Famille Bimi en parler, donc j'ai fini par m'y mettre. Et puis, comme j'en ai fait dans un épisode de 4 quarts d'heure, je crois que c'était mon down, que pas assez de gens ne regardaient Succession.
C'est vrai.
Et que du coup, j'avais du mal à en parler et que du coup, j'avais recommandé ton Twitch et podcast, puisque t'es aussi en replay podcast.
Oui.
Donc, et je disais, j'en peux plus, personne ne regarde Succession et tout, je peux pas en parler. Donc, j'allais sur le chat parfois vous embêter avec Fabrice. Mais voilà, donc je suis...
Et tu écoutes aussi pas mal de podcasts Succession, tout comme moi. Vous savez, j'ai un problème d'addiction.
C'est ça. Donc, je trouve que c'est la meilleure tragédie du 21e siècle, que c'est une utilisation de la langue anglaise qui me fascine. C'est les meilleures insultes que j'ai jamais entendues.
Oui. Et des suites de mots que personne n'a jamais mis à la ensemble, suite, je pense, dans une seule phrase.
Créativement, moi qui suis fan de langue, c'est incroyable. Donc, voilà, je suis une méga nerd de Succession et je suis honorée et ravie d'être invitée sur ce live.
Ravi et honoré aussi de te recevoir, Alix. Et merci beaucoup, ravi et honoré que Pete Louche ait pris un sub à la chaîne. Merci beaucoup, vous êtes on fire. C'est le début du mois. C'est cool, merci. Vous
merci.
Avez peut-être suivi aussi que, en termes de mes actus perso, avant qu'on repasse à Succession, Laisse-moi kiffer, c'est fini pour moi. J'ai fait mon dernier live il y a 2 semaines, du coup, juste avant de partir en vacances. Non, enfin, il y a 8 jours. Et le replay podcast est sorti hier dans le flux Laisse-moi kiffer. Donc, je n'animerai plus Laisse-moi kiffer, le podcast chez Mademoiselle, où nous avons eu le plaisir de participer ensemble, Alix.
Finalement, on fait beaucoup de podcasts ensemble.
Bah, peut-être qu'on aime bien toutes les deux raconter des trucs
c'est
dans
vrai.
Des micros et parler de choses qu'on aime. Donc au-delà de Laisse-moi kiffer, c'était cool et c'est la fin d'une époque, c'est aussi une source de revenus en moins pour moi. Donc si vous avez un sub qui traîne, ça peut être le bon mois pour sub à la chaîne de Mimi et d'ici quelques mois, j'aurais comblé ce vide, mais ça fait un petit peu de sous en moins chaque
c'est
mois.
C'est Mimi.
N'hésitez pas. Pourquoi remuer des couteaux dans les plaies à vif? J'aime bien cette demi-mesure. Ça va très bien avec Succession.
Oui.
En termes de team, comment tu penses? C'est qui tes prefs? C'est quoi tes dynamiques prefs? Est-ce que tu es comme moi une hateuse de Greg qui est la pire personne ou est-ce que tu le tolères? Ce qui est déjà humainement surprenant.
Questionnable.
Impressionnant, peut-être. C'est quoi tes leitmotifs de Succession et genre, est-ce que t'as une théorie pour la fin? Genre, c'est ça que ça raconte. On est à la fin dans 4 épisodes et c'est comme ça que ça
déjà.
Va finir.
Bah, alors moi, je dois avouer que je suis une énorme fan de Tom, qui est, un de mes personnages préférés parce que j'adore son double visage, j'adore et en même temps je trouve que dans cette saison, enfin j'ai l'impression que cette saison c'est vraiment celle de Tom
où
il a un vrai nouveau souffle et un je sais pas le sa séparation avec Shiv, ça a vraiment créé quelque chose dans son personnage qui teste autre chose, je trouve, dans sa personnalité, qui est plein d'honnêteté et tout, et je trouve que cet épisode en particulier, il est intéressant
dire,
pour ça, tu vois.
J'allais dire, ravie cette semaine si t'es une fan de Tom.
Je suis très très fan de Tom, et je fus fan de Roman aussi, très très fort, parce que j'avais l'impression que c'était le plus sympa, le plus... Et
le
en
plus
fait,
gentil.
J'avais oublié que c'était un énorme connard. Et cet épisode me l'a rappelé. Et j'étais putain, c'est vrai.
Ouais. Mais c'est tous des énormes connards à qui on peut trouver des qualités, mais ils ont tous, c'est un truc cyclique de... ils arrivent à te faire oublier qu'un tel est un énorme connard, et du coup, t'es un peu dans sa team, et après, ils te le rappellent, et du coup, tu changes
c'est
de
ça.
Team. Là, on est sur un bon ride Tom, un pas très bon ride Roman. Ça peut s'inverser littéralement deux fois par épisode,
ça.
Donc... on a le temps de voir venir. On va parler de l'épisode 6 spécifiquement, mais avant ça, je voulais te montrer et vous montrer un truc, le chat. Donc, contexte. Dans l'épisode de la saison 2 sur l'anniversaire de Logan Roy, qui est donc l'épisode qui s'appelle Dundee, puisque ça se passe dans sa ville natale, Dundee, qui est aussi la ville natale de Brian Cox, qui joue Logan Roy, y a le rap inoubliable L to the OG, performé par Kendall Roy. Mais à la base, c'était pas le clou de cette soirée. Il y avait un court-métrage qui a été commandé à un studio d'animation et qui était censé être diffusé pendant cette soirée pour raconter la légende de Logan Roy à l'occasion de son... C'était 85e, je crois, anniversaire.
Ouais.
Et ce court-métrage a été produit par un studio d'animation et a été coupé de la série. Donc je pense, en vrai...
C'est fou, ça.
Ils ont d'avoir grave le seum.
Ouais.
Mais ils l'ont mis en ligne et ça nous permet du coup de savoir des trucs. On a quand même très peu d'infos sur la jeunesse et la vie de Logan Roy. Et c'est compliqué de dire c'est 100% canon, donc validé, parce que à la fin, ça n'a pas été diffusé dans la série et ils peuvent avoir décidé que certains des trucs qu'on voit là-dedans ne sont plus valables.
Ouais.
Mais c'est que ça a quand même été produit avec les critères des gens qui ont fait la série et ça a été validé par les scénaristes. Donc normalement, on n'est pas 100% loin de la réalité. Et on va le regarder. C'est en anglais, mais on le regarde et ensuite, on vous traduira parce qu'on est un peu bilingue.
Ce que oui, ça raconte. Tout à fait. Plus, hi New York.
Voilà. Alex a un accent anglais bien meilleur que le mien, donc je la laisserai vous faire des petits trucs de fond.
Logan Roy was born in Scotland in 1936. It was here that Logan's entrepreneurial spirit bloomed along with his paper route. His hard work and dedication made him the most successful paper boy at his company. Logan and his older brother Ewan enjoyed a pleasant life until his father tragically passed away due to a brain hemorrhage. During the war, Logan and his brother Ewan were sent away to Canada to live with their uncle Noah, a rancher in Quebec province. Desperate to escape, Logan used money bequeathed to him by his father to buy a local business for a bargain price and entered the shady world of outdoor advertising. He convinced Ewan to join him and invest his money in the business, which together they named Royco Holdings. After buying out his brother's shares and taking full control of the business, Logan expanded from billboards into the exciting world of newspapers. As part of his expansion beyond Canada, Logan acquired the U.S. local newspaper Waystar in 1967. Logan went on to build his massive media empire from these humble beginnings, branching out into the worlds of cable television, news, feature films, cruise lines, and theme parks. Today, Waystar Royco is one of the world's most important media conglomerates. Logan is particularly proud of his theme park, Waystar Royco's Adventure Park. After buying a once great Hollywood studio from aging industrialist Warren Baker, Logan revitalized the company and made the renamed Waystar Studios into one of his most valuable assets. Waystar Royco's Adventure Park entertains millions of visitors every year, ranking as the 6th most attended theme park in the United States of America.
C'est nul, sixième.
C'est grave nul. Genre, mais à la limite, tu mets 3, t'es sur le podium, tu vois.
Ouais, non. Sixième, c'est genre, on est presque dans le top 5, mais vraiment, tu peux enlever l'écouteur, ça va être un peu chiant de le garder. Du coup, voilà, la mif, incroyable ou pas.
Je crois que ça s'est relancé.
Ça s'est relancé, non, c'est bon. Ok, de toute façon, ah oui, hop. De toute façon, je coupe le son comme ça, vous l'aurez pas. Ok. C'est bon. Alors...
Non, mais c'est du
qu'est-ce
génie.
Qu'est-ce qu'on a appris dans ce court-métrage? Qu'est-ce qui te marque là? Qu'est-ce qui te reste immédiatement en tête?
Moi,
sur le chat, ça crie tout est faux.
En fait, ouais, moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a quand même une storyline de Logan que moi j'attendais de découvrir qui est sa sœur.
Oui.
Et on
Rose.
L'a pas.
Non.
Et j'ai vu que le chat était en feu aussi.
Oui, je t'ai vu Justin. Sa sœur. Il n'y a pas sa sœur.
Ouais. Et franchement, moi, ça me choque aussi. C'est vraiment le seul truc qui me choque, c'est que. Il y a pas.
Elle
du
est
coup,
littéralement effacée de
effacée,
l'histoire.
Ouais. Mais parce que je pense que aussi, comme c'est un truc corporate, Logan a dû voir le truc et il a dû dire, il a dû pouvoir décider en fait de ce qui apparaît ou non dans sa vie. Et je suis pas
oui,
sûre que
fou.
C'est un truc dont il a envie de parler.
Quoi. Ouais, il veut que ça soit absolument que ça ait disparu cette histoire parce qu'on sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il se blâme pour la mort de sa sœur, puisque à un moment son frère lui en a parlé, c'est tout ce qu'on sait. Et qu'il a demandé, c'était un des détails sur le papier où il y avait écrit et peut-être barré que Kendall devait être le successeur. Il a demandé à être enterré avec une photo de Rose dans sa poche de poitrine, donc c'est quand même un truc qui est resté avec lui jusqu'à la fin. Mais bah, dans cette vidéo corpo qui est censée raconter la légende de Logan Roy, elle est pas du tout là.
Zéro.
C'est choquant. Je pense, ouais, Justin dit, on ne saura jamais pour sa sœur. Je pense qu'il faut faire une croix dessus.
Ouais.
Est-ce que tu penses que on n'aura pas l'info?
Ouais, je pense que c'est pas. En fait, ce que j'aime bien en succession, c'est que ils vont pas donner des réponses pour donner des réponses.
Oui.
Tu vois, ça va vraiment être, ça fait partie de la vie. On sait que c'est quelque chose qui l'a marqué et tout, mais ça va rester dans son aura un peu mystique, tu vois, je pense.
Oui, je pense aussi qu'il y a plein de choses qui vont rester dans l'ombre. Je me dis que Rose, on a encore une occasion peut-être de savoir, c'est les funérailles de Logan, qui n'ont toujours pas eu lieu, qui, je pense, je crois, sont prévues dans la série. Et où il y a moyen qu'il y ait son frère, Ewan, qu'on a quand même pas du tout vu alors que son frère est mort. Et son ex-femme, Caroline, qui en sait peut-être un peu plus aussi. Donc c'est des gens qui, en tout cas, les gens qui ont l'info seront là, mais je suis pas sûre que Succession va s'attacher à nous donner cette info-là. Parce qu'ils ont autre chose à raconter.
Et ouais, c'est ça.
Ça fait partie du mythe de Logan d'avoir ce mystère sur sa vie. Du coup, sur Reddit, ça résume ce qu'on a appris, pour celles et ceux qui, peut-être, ne sont pas extrêmement bilingues. Donc, il est né en Écosse en 1936. Son père est mort brutalement d'un anévrisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, on le sait, il a été envoyé au Québec avec son frère, où il a, donc, dans la vidéo, ça a dit qu'il vivait avec Uncle Noah, qui était un ranger, un homme de la nature. Est-ce que tu te souviens quand on a entendu parler de Uncle Noah dans Succession ?
Non.
On a eu une phrase, bah justement, ça doit être dans cet épisode, où quand les gamins ils vont à Dundee voir où leur père a grandi, ils se racontent un peu la légende de leur père, genre il a grandi à la dure. Et en plus, et après ils arrivent devant une maison un peu toute normale, tu vois, donc ils sont là, ok, peut-être qu'il nous a menti. Et ils font des blagues sur le méchant oncle Noah. Mais on sait aussi que Logan a été maltraité dans son enfance et qu'il a notamment des cicatrices de coups de fouet sur le dos.
Sur le dos, ouais.
Donc je pense que Uncle Noah était moins sympa que qu'il a l'air de l'être dans le court-métrage. Logan a commencé en fondant Royco, une entreprise qui vendait des panneaux publicitaires, qu'il a ensuite, donc il l'a acheté grâce à un petit héritage. Ewan a investi
l'héritage
avec lui.
L'héritage de qui?
L'héritage de qui? On ne sait pas. Ça s'est étendu de façon internationale en 1967 quand il a acquis le média américain Waystar, Waystar Royco, et en 1986 il a acquis Waystar Studio. Et la vidéo prétend que le vrai passion project de Logan, c'est son parc d'attractions avec Dodrick, le chien dont on va reparler dans cet épisode.
Oui.
Je suis pas sûre que ça a été son asset préféré de sa boîte. Je pense que à choisir c'est plutôt ATN et les infos. Ça au
c'est
moins
clair.
Ça avait l'air de le passionner. Je pense que Dodrick, c'est pas sa fierté personnelle.
Ouais, non. Mais c'est, on a le contexte de quand ça devait publier. Donc c'était à l'anniversaire de Kendall.
À l'anniversaire de Logan.
De Logan, pardon.
Où Kendall rappe, du coup.
Ouais.
Puisqu'ils disent que ça a été remplacé par une scène où Kendall rappe. Et malheureusement pour nous, il y en a pas assez pour qu'on puisse se tromper. Et ça, qu'on rentre complètement dans l'épisode où on célèbre la vie et la légende de Logan Roy. Il y a quelqu'un qui dit tout est faux parce que Logan a l'air gentil et mimi dedans. Et
bah
c'est
ouais.
vrai que visuellement, je trouve qu'ils ont réussi à dessiner un mec qui ressemble à Brian Cox, mais
ouais.
en gentil.
Mais sauf quand, tu sais, il dit qu'il rachète les parts de son frère, là, il a un petit regard méchant.
Il se frotte un peu les mains
ouais,
en
il est comme
Monsieur
ça.
Monopoly, là. Est-ce qu'on est sûr qu'il est né en 36? Je pense pas qu'ils auraient menti sur la date, mais en vrai, on sait pas. Après, né en 36... Attendez, je vais googler parce que je suis nulle en calcul.
Maintenant, ça fait 85.
2020...
C'est ça fait 85. Je crois.
Ouais, et ça le fait être mort à 86-87 ans, ce qui est raccord avec le fait que Succession, même s'il y a 4 saisons, c'est pas 4 ans, c'est plutôt 2 ans. Enfin, c'est un peu moins de temps qui est passé dans l'univers de la série que pour nous, spectateurs et spectatrices. Ok, on va passer au débrief cet épisode 6, saison 4
ouais
et saison finale 1 de Succession et Alix. Un des premiers trucs que tu m'as dit, c'est « j'ai adoré cet épisode ».
J'ai adoré cet épisode parce que je trouve que c'est un épisode qui en dit, enfin qui est très proche des personnages de la série, parce que je trouvais que là, leur père était mort et tous ils se retrouvaient justement à être déviés complètement de faire le deuil de leur père, parce qu'ils étaient dans
ils
les discussions
le temps,
business, ils avaient pas le temps et tout, et que là en fait ils sont en train de faire leur deuil et du coup tu les vois en train de faire leur deuil chacun. Et je trouve
chacun
ça.
Chacun à sa façon.
Mais chacun à sa façon et chacun dans des chemins différents. Là, il n'y a plus de triade. Il n'y a plus de rien du tout. Chacun est vraiment sur son chemin. c'est intéressant.
Oui, et ils sont tout seuls pour la plupart, enfin sauf peut-être Shiv qui du coup est moins seul dans cet épisode, on va en parler. Ouais. Ils sont chacun isolés non seulement les uns des autres, mais enfin Roman il rentre le soir, il a vraiment personne à qui parler et Kendall à qui il parle vraiment à part à Roman, mais du coup bah dans cet épisode cette alliance aussi prend de l'eau. Ils ont personne à qui se confier quoi.
Bah déjà on les voit jamais rentrer. Genre on les voit jamais en dehors de
Après, je sais que c'est pro, quoi.
En deux semaines cette saison, mais ouais, tu les vois jamais dans leur espace privé parce que t'as vu à un moment Kendall il dit on se fait toute la nuit dessus, tu vois. Donc en fait ils n'ont nulle part où aller autre que cette boîte, tu vois, qui est vraiment là où leur père est mort. Enfin, tu vois, donc
oui, qui représente tout cet héritage et ce deuil aussi. On les a vus chez eux le lendemain de donc il y a la mort de leur père, épisode 3, et le tout début de l'épisode 4, c'est chacun qui se réveille. Donc Kendall qui est en dep, qui a pas d'envie. Mm-hmm. Roman qui est là, qui se brosse les dents parce que il a fait son pré-deuil. Donc oui. C'est bon, le mec il est sharp. Et Shiv qui
agile
apprend,
manager
qui apprend que son embryon va bien et donc nous qui apprenons que oh my god elle est enceinte. Tu penses quoi de Shiv enceinte? Tu l'avais vu venir ou pas?
Je l'avais absolument pas vu venir.
Incroyable. Nous ont bien eu.
Car je suis très très naïve comme tout à l'heure tu me posais la question sur Greg. Moi je suis méga naïve, je suis persuadée que c'est un débile profond et qu'il y arrivera jamais.
Tu penses pas qu'il y a un peu un agenda quand même sous ce qu'il fait?
Ah bah bien sûr il y a un agenda mais pour moi ça marchera jamais.
T'es pas dans ma team de Greg, il s'en sort bien.
Non, pour moi c'est juste un bolos fini. Enfin je suis très naïve sur ce truc. Moi je vois jamais les gens dangereux venir, tu vois.
Ok.
Donc c'est peut-être ça.
Succession c'est une série de surprises.
Donc je suis toujours surprise par Succession.
Un bisou à Pouik Pouik Macumba, incroyable hâte, qui dit coucou les filles, je ne regarde pas Succession, mais je passe vous faire un bisou quand même.
Oh, bah ça c'est gentil.
Bah gros bisou et bravo pour ce username qui est quand même Pouik Pouik Macumba, incroyable.
J'aimerais avoir une intonation pour le dire.
Pouik Pouik
Macumba.
Macumba. J'avais fait un Macumba aussi ouais, un peu en hauteur à la fin, donc ça fonctionne. Voilà, t'as un jingle personnel maintenant. Pareil, c'est Mimi, n'hésite pas. Ça peut vous arriver. Un jour, Tequila Tex avait fait des chansons sur les pseudos des gens s'ils se baient à la chaîne. Ça avait bien marché. il avait fait des impros et tout.
Je peux pas vous promettre ça. Désolé.
Tequila Tex reviendra et ça vous donnera une nouvelle occasion de vous abonner à la chaîne. Il y a, sur l'histoire de Logan Roy, juste pour revenir dessus, il y a Mister Melik qui nous dit « Sa backstory de vendeur de journaux à mania des médias fait penser à l'ex-milliardaire québécois Pierre-Carl Péladeau, où il y a eu toute une succession contentieuse de l'entreprise familiale entre ses enfants. Il y a peut-être une inspiration. » On a parlé dans l'épisode de l'avant-dernier, je crois pas, le 5 mais le 4, avec Fab des inspirations réelles et notamment de la famille Murdoch pour Succession, mais on n'avait pas celle-là. Donc je l'ai dit parce
que... C'est intéressant.
Merci pour le trivia et la culture G. On adore.
Ah oui, aussi, j'ai quelque chose à dire.
Vas-y.
Parce que je vois dans le chat Justin Izou, pardon, j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Greg Nunt.
C'est non.
Mais en fait, et je comprends pas pourquoi c'est une théorie, ils sont de la même
famille.
Mais
c'est juste parce que Fabrice Florent, il a prononcé ces mots et que maintenant les gens les ont dans la tête. C'est pas.
Mais ils sont de la même famille,
ils
c'est
sont
impossible.
Cousins. C'est pas la bonne série HBO. Ça revient. House of the Dragon. Ok, en attendant, vous pouvez vous refaire la saison 1 et mes débriefs, il n'y a pas de problème, mais calmez-vous. Elle n'est pas Greg Nunt et j'aime, encore une fois, jamais de la vie, elle touche Greg. À chaque fois qu'elle le regarde, on dirait un chewing-gum écrasé sous son Louboutin, quoi. Et c'est tout ce qu'il mérite. Donc
bien
c'est normal.
Sûr.
Cet épisode s'ouvre sur Logan Roy.
C'est génial. Attendez, je sors mes notes.
Ah oui, est-ce que tu peux juste scroller tes notes au...
Alors,
tiens,
mes
je te
notes.
Tiens ton micro si tu veux, comme ça t'as tes deux mains. Juste Théma, la longueur ouais, des... Attends, je vais vérifier qu'on voit bien. Ouais. Ouais. Théma, la longueur des notes de la personne.
Ah. Voilà.
Ça ne s'arrête jamais. Donc, Alix a des choses à vous dire. J'espère que vous avez de quoi vous hydrater et un petit plaid parce que...
Après, mes notes, c'est souvent « Oh là là, malaise, oh là là ». J'écris « Oh là là », tu vois, donc bon.
C'est bien comme ça, on a tout... Le ressenti de Alix Martineau. Du coup, Logan Roy, qu'est-ce que t'as noté dans tes notes sur cet opening avec Logan Roy, face caméra, fond vert, qui regarde l'objectif?
J'ai mis « Génial, trop contente, quel plaisir de le retrouver
». C'est un rayon de soleil qui manquait à ma vie.
Non, mais j'adore Brian Cox et... Merde, je parle pas de mon micro, pardon. J'adore...
on est là, on est entre nous, finalement.
J'adore Brian Cox et là, j'étais très très contente de le retrouver et j'ai trouvé justement que c'était super intelligent. Parce que tout à l'heure, ton mec nous a dit, mais du
mon
coup,
mec qui n'a pas vu,
voilà,
l'épisode.
Qui a pas vu l'épisode, il a dit, mais est-ce que c'est un, on le voit, mais du coup, c'est un flashback. Et oui, Mais c'est un flashback dans l'épisode et j'ai trouvé ça méga smart
en
fait.
C'est intradiégétique, n'est-ce pas ?
C'est ça.
Et en même temps, j'étais là, bah mec, on a des façons de voir visuellement des gens déjà morts de nos jours. Enfin, j'étais là, il y a une réponse simple qui est, c'est une vidéo de lui, mais on n'y pense pas parce qu'on n'a pas du tout cette vision de Logan en train de s'entraîner à tourner un spot de pub. Et clairement d'ailleurs, ça le fait chier.
Ça
il a pas envie d'être là, quoi.
Casse les pieds, quoi. Mais en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est aussi le retour à quand Kendall, du coup, l'écoute, et ça fait écho à une des dernières scènes de l'épisode dont on parlera, j'imagine, mais où vraiment ça fait, enfin je trouve que cet épisode il est constamment en boucle et il y a des thèmes qui reviennent énormément et qui traversent tous les personnages, et là c'était vraiment quand il dit my fucking idiot kids,
oui,
un truc comme ça.
Il s'énerve sur les gens avec qui, enfin les assistants avec qui il bosse, et il dit vous êtes aussi incompétents que mes putains d'enfants idiots.
Et que t'as un sourire qui anime le visage de Kendall, et j'étais là, c'est comme si il se remémorait la berceuse que son père lui chantait. Enfin, tu vois, j'en sais.
Oui, c'est leur langage de l'amour.
Mais c'est ça, et il dit c'est une carte de Saint-Valentin, quoi, pour moi.
Oui, parce que, bah, t'as aussi ce truc de tu regardes ton père décédé, dire que t'es un incapable devant les gens qui travaillent pour toi maintenant, tu vois. Donc, et Kendall, il est tellement, enfin, ils sont tellement habitués à te traiter comme ça que lui, ça le déstabilise zéro, tu vois, et de façon interne, et qu'on en parlera effectivement de Roman à la fin, où je trouve qu'il a une réaction qui est similaire, mais quand même très motivée par des choses très différentes.
Oui, c'est sûr.
Et il garde la face et tout. Attention, il y a mon chat qui va te monter dessus. Ça va.
Oh, voilà. Bonjour.
Bonjour, Momo. Bonjour, bonjour.
Trop gentil.
Mister Melik dit, il n'y a jamais eu de flashback de toute la série. C'est vrai que c'est pas, un peu comme Game of Thrones. C'est pas quelque chose que fait Succession. Et je sais pas s'il y en aura, parce qu'en fait, je me dis que peut-être je me suis fait bamboozle par Brian Cox, qui avait dit dans des interviews, et je crois que je l'avais pas dit dans ce podcast parce que je trouvais que c'était un peu spoilé, il avait dit dans des interviews qui parlait du fait qu'il meurt, on reverra Logan parce qu'il y a des flashbacks. Et je sais pas s'il y en aura d'autres, ou si en fait il parlait de ça, et du coup moi je m'attendais à un flashback un peu tradi, et pas à c'est une vidéo promo qui en plus ils vont éditer pour faire dire autre chose à Logan Roy que ce qu'il est en train de dire.
Et j'ai écouté le podcast du coup officiel de Succession de HBO, et qui interviewait la réalisatrice de cet épisode, qui est, j'ai oublié son nom,
Lauren Scafario, quelque chose comme ça. Je vais le trouver pour qu'on rende à César. C'est avec un O.
Ouais.
Lauren Scafaria. C'était déjà la réalisatrice de l'épisode sur l'anniversaire de Kendall. Et
c'est une spécialiste de Kendall, finalement.
Oui. Et de l'épisode 4 ou 5, je sais plus, de cette saison. Donc elle est habituée de Succession.
Ouais, et elle disait, c'était vraiment, je m'attendais pas à devoir diriger Brian Cox, et du coup c'était un vrai plaisir à l'épisode 6 de pouvoir le diriger, quoi.
Oui, et en même temps elle dit qu'elle a peur de lui, enfin que en fait, ce côté impressionnant, bah ça, elle s'est vraiment mis dans la peau de cette, parce que du coup elle joue la réalisatrice du spot de pub dont on entend la voix et qui lui dit est-ce que vous pourriez dire ça avec un peu plus d'entrain, et c'est là où il s'énerve immédiatement parce que c'est Logan Roy, il a pas envie de faire ça. Et elle dit, en fait, j'étais hyper intimidée, genre, j'ai pas aimé lui parler comme ça, et en fait, j'étais trop, elle dit que c'est un des moments du tournage les plus stressants pour elle, alors c'est une scène qui a, tu peux dire, ça a pas beaucoup d'enjeux, le perso est déjà mort, mais justement, c'est la première fois qu'on va revoir, et peut-être la dernière, qu'on va revoir Logan Roy, donc ça vaut le coup de pas la rater. Alors, Tamish demande le lien vers le film d'animation dans le chat, je l'ai toujours, donc, je te l'envoie. Let's go.
Momo m'adore.
Bah oui, grave. Je l'ai jamais vu autant. Michto, elle est sur les genoux d'Alix, elle lui renifle le pull en ronronnant, et voilà, elle s'est barrée. C'est toujours une... Faut pas... C'est comme Logan Roy, il t'aime et après il te met un coup de chassé pour voir si tu l'aimeras quand même. Bah, mon chat, comme c'est toxique, on l'aime quand même. Est-ce que t'as autre chose à dire sur cet opening avec Logan, ou est-ce qu'on...
Bah non, écoute, j'étais juste contente, quoi.
Yes, et moi j'adore ce qu'ils vont en faire, c'est...
Ouais.
Peut-être que là, on s'apesantira dessus, parce que c'est... chargé de sens, et en même temps j'étais là, ah, ils sont vraiment honte de rien, quoi, let's go. La scène d'après, c'est Shiv dans son jet privé qui croise, mais comme ça arrive tout le temps, à la station essence.
Oui.
Tu croises ton pote en bagnole et t'es là, bah débarque, t'es là, bah vas-y, on va prendre un petit café, on en profite.
C'est vraiment ça.
Pendant qu'on fait le plein pour catch up, sauf que c'est l'autre jet privé de son bon ami Lucas Madsen. Mm-mm. Et qu'on profite de cette pause essence pour faire des petits deals secrets, parce que c'est toujours très on the down low, cette relation, comme on dit. Il l'appelle my girl on the inside.
Ouais.
C'est quoi ton avis sur Lucas Madsen, déjà, sur ce perso-là ?
Eh ben, je trouve que c'est la première fois dans cet épisode qu'on le voit dans une situation où, je sais pas comment te dire, je sais pas si t'as ressenti la même chose que moi, mais quand il arrive et qu'il fait « Youhou !» J'étais là. Yahoo. J'ai l'impression qu'on voit sa vraie personnalité, mais genre dans l'intimité. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est pas en discussion business, il est là, salut, ça va? Et
oui,
tout.
Et en partant, il part en mini moonwalk oui, en dansant en mode. Et il lui fait un petit bisou ou quoi? Et
Il me gêne, c'est la drague la plus gênante. Genre, il est. Oui.
Et à l'épisode précédent, enfin, il lui a dit que la dernière meuf qu'il a pécho, il lui a envoyé plusieurs fois, rappelons-le, des briques de son sang.
Oui.
Et il se dit quand même qu'il a une chance avec elle, alors qu'il lui a volontairement donné cette information sur lui, qui est quand même une information qui, en tant que femme, me fait un peu fuir. Voilà, ouais. Je ne veux. Non, mais il y a mon chat qui est en train de lécher des curly, j'en peux plus.
Oh,
bon, je vais la Mimi. Vous savez quoi, je vais la laisser faire, c'est pas grave, j'avais
jeté sa life.
Ils sont un peu. Bon, c'est trop tard de toute façon maintenant, j'adore ma vie. Et il pense quand. Enfin, pour toi, il est un peu sincère dans sa drague, dans le sens où si Shiv, elle lui disait vas-y, on couche ensemble, il y irait.
Ouais. Ouais, ah, je moi, je suis. Aussi. Toi aussi?
Bah, je pense que ce genre de mec, il est incapable de voir une femme désirable comme. Pas intéressé par lui.
Oui.
Je pense qu'il l'a toujours en tête, je suis capable de la sauter.
Exactement.
Et, par contre, après, il s'en désintéresse une fois qu'il a eu ce qu'il veut, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense qu'il est. Il est sincère dans sa drague et qu'il comprend pas bien pourquoi ça résiste. Et en même temps, il est là, ah, ça m'excite un peu. Genre, lui, il est en mode, c'est un jeu. Est-ce que tu penses que pour Shiv, est-ce que tu penses que Shiv, elle est OP pour peut-être le pécho ou qu'elle le fait marcher
J'ai une théorie.
Les théories d'Alix. Attends,
attention.
Jingle. Les non, j'ai
l'été,
pas
les hauts, les riz, théorie.
On travaille dans le podcast aussi. Toutes les deux finalement.
Je sais être gênante, au moins autant que Lucas Madsen. Non, mais moi j'ai une théorie, c'est que il va y avoir une scène un peu à la manière de porno malaisant, tu sais, où il va y avoir.
Waouh, j'étais pas prête, let's go.
De Shiv et Lucas qui vont coucher ensemble devant Tom ou un truc comme ça, tu vois. Tu vois?
Oh, attends. C'est une théorie totalement. Si je vois, tu penses que Tom il va se faire cuck littéralement, c'est ça ouais. Le fantasme du cuckold du cuckolding, donc d'être cocufié.
Ouais.
Mais en tout consentement, c'est du jeu de rôle et ouais. C'est de regarder sa compagne
mais caché, tu vois.
Ah, tu penses Lucas il va pas être au courant.
Que Lucas va pas être au courant mais que c'est un truc entre deux, tu vois. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça.
Parce que quand il y a Shiv qui appelle Madsen plus tard, il y a Tom qui est là.
Qui est derrière et qui regarde, qui regarde les deux. Moi, je pense que c'est.
D'où ça sort.
En fait, elle drague Lucas pour un double intérêt, à la fois pour draguer Tom, parce que c'est leur manière de fonctionner, tu vois, et pour avancer businessment parlant, parce qu'elle n'est pas bête.
C'est
pas
un
bête,
peu son seul allié pour l'instant, Madsen, parce que ses frères, ils l'ont littéralement évincé. 10 minutes après lui avoir dit « on jure sur la tombe de papa qu'on va pas t'évincer de la discussion », Kendall a évincé tout le monde de la discussion. Donc j'étais là « bon bah voilà, ça va vraiment pas durer longtemps, on le savait, mais on est quand même déçus
».
Donc en fait, elle a aussi pas trop le choix, à part Madsen, elle a personne sur qui s'appuyer pour rester dans ce business Waystar où apparemment, elle a décidé qu'elle avait envie d'être alors que toute sa vie, ça l'a pas intéressée. Mais bon, c'est ça qui se passe, je pense, quand t'as un rapport toxique à ton daron et que sa boîte représente l'homme qu'il était. Et aussi... que tes frères, ils t'ont promis que vous alliez le faire ensemble et que tu y as cru, quoi. Donc, t'as un peu le seum. J'aime bien cette théorie. Sur le chat, c'est partagé. Alors, on a des... C'est fort probable. Ultimate cucked. C'est tellement possible. Mais aussi, hein. Mais d'où ça sort, ça, encore? C'est probable de fou. Écoutez, moi, ce qui me fait penser que non, c'est que Succession, c'est une série où il n'y a pas de sexe. Et, et c'est très rare qu'on voit... Je pense qu'on n'a pas vu une scène de sexe explicite depuis Kendall qui saute son ex-femme saison 1 dans les escaliers. Et j'oublie régulièrement que cette scène a eu lieu.
Ouais, moi j'ai complètement oublié.
Donc pour qu'on comprenne exactement... Genre là, par exemple, dans cet épisode, spoiler, Tom et Shiv, ils couchent ensemble. Et on le comprend en les voyant déjà complètement rhabillés après. Donc pour qu'on comprenne, Shiv et Madsen sont en train de vraiment coucher ensemble. Et Tom regarde, il faudrait montrer un peu plus de sexe que ce dont on a l'habitude. Mais je pense qu'en tout cas, il y a de l'idée dans le sens où que ça se fasse sexuellement ou pas... Oui, Shiv, elle est en train de dire, de flirter avec Tom en lui montrant qu'elle flirte avec Madsen parce que ces gens sont fracasseland. Et en même temps, de, comment dire ça? En fait, c'est à la fois, elle a le pouvoir sur Tom et il a aussi le pouvoir sur elle puisqu'elle est prête à jouer ce jeu avec lui alors que dans tout le reste de la saison, elle l'a ignoré frontalement et toutes les fois où il a essayé de renouer un truc avec elle, elle l'a vraiment shut down, notamment à, le lendemain de la mort dans l'escalier, là, quand il lui fait tout ce speech, Monsieur Darcy, où il lui rappelle, souviens-toi, en France, où il active ses grands yeux bleus, là.
Ah là là.
Et elle était vraiment en mode, ouais, ça fait longtemps, hein. Ouais, dis donc, il y a de l'eau sous les ponts, les temps changent.
Ouais.
Donc,
ah, mais ce qui marche,
moi, j'étais
pas
sûre qu'ils allaient renouer Tom et Shiv.
Ah ouais?
Bah ouais, mais bon, peut-être je ne crois pas assez à l'amour.
Mais bah on en parlera parce que moi c'est une de mes scènes préférées aussi de de cet épisode, c'est la scène entre Tom et Shiv, donc
petit détail, Madson, ce gros crasseux, traverse le tarmac pieds nus car c'est un milliardaire et qui est fou, et beaucoup de gens l'ont vu comme une référence et c'est
Elon
un
Musk,
style, non à Adam Newman. Okay. Qui est le fondateur de WeWork. On va en reparler dans l'épisode parce que Living Plus et WeWork.
C'est vrai.
WeWork, vous connaissez peut-être comme, ah oui, c'est le truc de coworking, genre ils ont des bureaux dans les grandes villes et tu peux y aller et bosser, il y a du café gratuit.
Où j'ai bossé pendant un an.
Oui, enfin, tu bossais pas pour WeWork, non. Mais tes bureaux, c'était mais dans des locaux de WeWork parce que quand on est une entreprise qui a pas les moyens de payer des locaux permanents, ça dépanne. Mais à la base, WeWork s'était vendu comme beaucoup plus que ça par son fondateur Adam Newman, qui est toujours un mec bien chez père, d'origine israélienne, qui a grandi dans un kibbutz, donc un truc communautaire. WeWork, l'idée, c'était de réinventer l'habitation, le logement, en faisant des trucs communautaires qui étaient pas du tout que des trucs de coworking, mais des endroits où tu vis, tu travailles, t'as des loisirs, tu rencontres des gens et tout. Et il a levé des millions et des milliards de dollars en bullshitant pas mal autour de cette idée de WeWork, en gonflant aussi les potentiels chiffres. Et si ça vous intéresse, il y a une série qui s'appelle We Crashed, qui raconte l'histoire de WeWork, forcément romancée, avec Jared Leto dans le rôle de Adam Newman. Et Dieu sait que je le porte pas dans mon cœur, mais en fait, pour jouer un mec complètement dingue qui à une intensité débile, bah il est super. Il y a Anna Taoué qui joue sa compagne, qui elle, mais
j'ai pas vu, mais j'ai trop envie.
Un peu chez père, genre Gwyneth Paltrow, tu vois, genre bien-être ou wellness et tout, mais il y en a pas un pour attraper l'autre. Et par contre, ils s'éclatent, les acteurs, ils donnent tout, c'est trop bien. Et du coup, Adam Newman, bah c'est un bon exemple de comme Kendall Roy essaye de le faire dans cet épisode, de mec qui gonfle une idée. Et c'est aussi un bon exemple de le capitalisme, il est cassé parce que bah il a réussi, il a levé des millions et il est pas en taule, Adam Newman.
Et puis surtout, il a escroqué vraiment plein de gens, ce gars-là.
Oui. Et il y a des gens qui ont vraiment pâti de ses actions. Et bah alors oui, il a moins de millions que fut un temps, mais il est pas en taule, quoi. Donc petit clin d'œil probablement à Adam Newman, peut-être à Adam Newman qui était connu pour se balader beaucoup pieds nus. Dans ce move extrêmement crassax de traverser.
C'est clair, putain. Crassax, c'est en même temps tellement à l'aise. Enfin, c'est l'entitlement fait homme.
Ah ouais, la richesse est vraiment incroyable. Ah, et tout à fait, Léo sur le chat rappelle que WeCrashed existe aussi en podcast. Il me semble qu'à la base, c'était un podcast. Ou un livre qui est devenu un podcast, puis une série. Mais je crois que c'était d'abord le podcast, puis la série. Donc, vive les podcasts. Des fois, ça fait en plus des bonnes séries. Et effectivement, c'est sur Apple TV+. Donc, assez facilement accessible.
Ouais.
Oui, avant qu'on passe à la scène d'après, il y a quand même plusieurs commentaires sur le physique de Madson dans cette scène. Est-ce que Alexander Skarsgård et Madson, ça marche sur toi ou pas?
Bah, en fait, ce serait pas honnête de dire ça me fait rien, ça me fait ni chaud ni froid. Ce serait pas honnête, car
c'est pas non plus un mec que tu croises à tous les coins de rue, quoi.
Exactement. Mais c'est pas non plus moi le charme comme ça, la nordique. Enfin, c'est pas
un peu imberbe.
Ouais, non, c'est pas mon style. Après, il est là. Je veux pas faire la fine bouche.
Il dort pas dans la baignoire.
Il dort pas dans la baignoire.
Il fait 2 mètres, il rentre pas dans la baignoire.
Mais c'est ça. Non, mais bien sûr, ça fait un petit truc, mais c'est pas mon fantasme ultime, tu vois.
Ouais, non, moi non plus.
Tu préfères Tom. Enfin.
Bah, évidemment que tu préfères l'acteur britannique full Monsieur Darcy, tu vois. C'est quand même Alex Martineau, qui est une noble anglaise incognito.
At heart.
Moi, je suis un peu comme toi, je suis pas trop dans la Skarsgård mania. Et encore plus en Madson, je trouve qu'il est... En fait, il fait
dégueu,
un truc avec sa physicalité et qui marche très bien, où tu sens... En fait, on dirait un mec qui pense être Alexander Skarsgård, mais qui est pas Alexander Skarsgård.
Exactement. Oh, c'est bien dit, ça.
Il dirait son sosie un peu nul. Mais qui, comme il est milliardaire et qu'il est entitled de fou, il agit comme s'il était Alexander Skarsgård, alors que non. Donc, je sais pas comment t'arrives à faire ça à un acteur, mais ça marche. Et du coup, moi, je le trouve, mais zéro excitant, même quand il monte ses abdos et tout. J'étais là, mais tocard.
Ouais, mais vraiment tocard.
Et bah peut-être parce que je sais aussi qu'il envoie des briques de sang congelé à des femmes qui travaillent pour lui, entre autres. Non, il me fait rien, mais ravi que si dans le chat ça vous réchauffe un petit peu votre printemps. Écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Shiv, après avoir fait le plan, arrive au travail. Donc c'est un épisode très full Los Angeles, ce qui est rare pour Succession. Et bah, je crois que c'est la réal qui a dit qu'une des envies c'était de changer de setting parce que ça permet de déraciner les persos et du coup ils ont des réactions qui sont à la fois très eux et pas tout à fait eux. On les voit dans d'autres.
Ouais, ils sont en vacances un peu.
Ouais.
C'est pour ça, genre, ils reconnectent avec Tom, tu vois, parce que c'est un peu.
Ouais, c'est comme un peu le week-end au soleil.
Ouais, c'est ça.
Tu rappelles ton ex.
Voilà.
On n'est pas à
ça
la
compte
maison,
pas.
Oui. On n'est pas dans notre grand appartement froid avec notre chien qui vit en cage là. Et quand Shiv arrive, Kendall s'assoit à sa place
ça...
directement. Et après il lui dit oh désolé et il bouge pas.
Ouais.
C'est la bâtard.
Ouais. Et ça elle prend son téléphone et là ouais.
Ouais.
C'est vraiment.
C'est très. Ça peut pas être plus clair pour elle la place. Même alors elle s'est pas encore rendue compte que ses frères sont vraiment en train d'essayer de couler le deal sans la mettre au courant. C'est déjà clair la place qu'il lui laisse, c'est-à-dire t'es la troisième roue du carrosse et t'es pas dans les bails et c'est nous les chefs, notamment Kendall.
Mais
Roman
en même temps,
fait un peu plus d'efforts.
En même temps, elle a été smart parce que je pense que depuis le début, tu sais, quand elle était un peu deg aussi que du coup il lui laisse pas la place en tant que troisième CEO, mais
oui.
qu'elle soit juste inside.
Il y en a pour trois.
Ouais,
écoutez.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense qu'elle les a pas cru. C'est pas tant. Je pense qu'elle était triste. Pas de pas avoir sa place, mais parce qu'elle savait que c'était un peu la fin aussi, peut-être, tu vois.
Oui.
Parce qu'en fait, elle a pas hésité une seule seconde avant de se faire ami-ami avec Lucas, même si elle dit à Tom qu'elle hésite.
C'est vrai.
En vrai, elle n'hésite pas, puisque depuis le début, elle se laisse courtiser, elle se laisse, enfin, tu vois, et elle courtise en retour. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'elle est smart aussi et que elle est déçue avant de l'être de
bah,
ses frères.
Elle est
vois.
Pas choquée, mais elle est déçue quand même. Tu vois,
ouais.
C'est genre, je pensais bien que vous alliez faire ça et j'aurais bien aimé un monde où vous le faites pas, mais je m'attendais et j'ai préparé le fait que vous alliez probablement pas m'inclure dans les trucs
ouais.
et me planter un couteau dans le dos parce que c'est ce qu'on fait dans cette famille et c'est ce que vous avez déjà fait.
Mmh.
Et j'ai écouté le pré-cap du Prestige TV podcast qui rappelle que dès l'épisode 1 de cette saison, quand Shiv arrive, donc c'est Roman et Kendall qui préparent The 100, qui se souvient de cette startup.
Génial.
Et quand Shiv, elle arrive, la discussion qu'ils ont immédiatement, c'est Shiv, il paraît que tu parles au candidat démocrate, que tu vas te remettre en politique, qu'est-ce que tu branles, on est en train de monter une boîte, pourquoi tu parles à tes anciens contacts pro
ouais.
Donc elle a toujours eu ce truc de, moi je mets pas tous mes œufs dans le même panier,
ouais, ouais.
J'ai mes petits bails on the side, ce qui fait qu'elle a de quoi se retourner, mais bon, peut-être que si ses frères l'abandonnaient pas, elle aurait pas besoin d'avoir des bails on the side,
mm-hmm.
Mais bon, ils se font pas confiance, c'est la vie.
Ils ont raison de pas se faire confiance, je pense.
Bah, c'est ça qui est tragique. C'est s'ils travaillaient ensemble, probablement qu'à trois, ils font un bon trio pour gérer. Ils ont des forces qui se complètent pour gérer la boîte. Mais comme leur père les a élevés les uns contre les autres, ils vont jamais réussir à le faire. Et il faut juste qu'ils aillent faire autre chose de leur vie, je pense. Mais ce n'est pas l'histoire que Succession raconte. Et c'est la scène où Rob et Kendall essayent de faire subtilement comprendre au board que peut-être.
Qu'est-ce
Madison,
qu'ils sont subtils.
Il est un peu zinzin, quoi. Qu'est-ce que
je les adore.
Sur cette
je les adore parce que qu'est-ce que j'ai noté. Mais je les adore parce qu'ils sont vraiment, bah comme leur dit Shiv, mais vous êtes nuls, tu vois. Enfin,
oui,
ça se voit.
Dit, you're not good at this, genre,
mais on
wow.
dirait des enfants qui mentent aux parents, tu vois. Enfin,
mais
c'est
oui.
vraiment débile. Et mais en même temps, ils ont raison. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils disent pas des trucs faux.
Mm.
Sur Madson.
Si, ils disent que Madson, il a pété un câble en haut de la montagne, alors que c'est eux qui ont pu... Enfin, c'est Roman qui a pété un câble. Mais à part ça, ils disent, est-ce qu'on peut lui faire confiance pour gérer la boîte? Est-ce qu'on peut vendre la boîte à une personne qui a cet état d'esprit-là? L'audace de Kendall qui dit, vu son histoire avec
ouais
la toxicomanie, son rapport aux drogues, quand même, je suis là, Kendall, Logan Roy.
Non, mais...
Miroir, non.
J'adore.
Peut-être tu parles aussi un petit peu de toi, mais je pense qu'il est sincère en plus. Enfin, c'est toujours cette dichotomie de, il arrive... à croire à cette non-vérité, tu vois, c'est très
ouais.
Big Brother, quoi, c'est, tu réinventes tout le temps le monde pour qu'il te convienne parce que t'es milliardaire et que tu comprends pas que le monde, il peut pas faire exactement ce qu'il veut.
Ouais.
Et ça marche pas du tout, en plus, leur tentative de...
Bah non, parce qu'en plus, Tom,
si
il est là...
on y repensait.
Ouais, et puis Tom, il est là, mais non, mais c'était une technique
oui.
de négociation, mais vous avez réussi, bravo, et tout. Tout le monde est là, ouais, merci, et tout.
Ouais.
Ils prennent tout le crédit, alors que c'est Shiv qui a vraiment fait la négo, enfin... Je suis là, c'est vraiment des petits génies, quoi.
Ouais, ouais, c'est vraiment des tocards. Et je trouve ça, ce qui est vraiment marquant, c'est qu'ils ont pas vraiment préparé d'histoire, tu sais, même quand t'es ado et que tu veux mentir à tes parents, tu te mets d'accord avec ton
ouais.
frère en mode, ok, alors on dit que.
On dit ça.
Il nous a dit ça, et nous on a dit quoi, non. Et après lui il a dit ça, et on a dit, oh, c'est chaud, mais après il a dit $192 et on pouvait rien faire. Et là, genre, seconde 1, quand quelqu'un leur dit de quoi vous parlez, ils sont en mode, you know. Je fais, mais vous avez même pas fait le truc que les enfants de 12 ans font, qui est de préparer un mytho, en fait. Juste, je sais pas, t'as fait un peu, même ça, vous êtes incapable de le faire. Donc ça marche pas du tout. Et je trouve que ça cimente aussi dès le début de l'épisode ce truc qui va les rendre fous, et notamment Roman, qui est, ils sont PDG par intérim, et tout le monde les voit comme, en fait, vous êtes là quelques jours, et du coup, on n'a pas vraiment besoin d'écouter vos avis.
Gardez boutique.
Ouais, c'est ça, c'est merci de tenir la boutique jusqu'à ce que le vrai patron arrive, et c'est cette dynamique qui dont ils essayent de se libérer, mais qui est aussi justifiée par le fait que bah c'est vrai.
Et c'est l'énergie du désespoir, tu vois. Oui. C'est vraiment le qu'est-ce qu'on peut faire pour tout niquer avant qu'ils reprennent le truc, tu vois, genre ils ont envie, je pense, de foutre un bordel, soit
non,
de récupérer le
garder
truc.
La boîte,
ouais,
en fait.
Mais
ils
quitte à.
Il y a quelqu'un qui revient.
Bonjour.
Bonjour.
Vous revenez. Bonjour. Venez.
Ah bah évidemment ça. Yes.
Bonjour, bonjour maman.
C'est le chat qui est de retour.
C'est le chat.
Mais oui, ils ont, pour moi, ils ont envie de garder la boîte parce que, déjà parce qu'ils sont persuadés qu'ils la méritent et qu'ils sont compétents pour la mener juste parce que c'est les fils de quelqu'un.
Et tu crois qu'ils sont persuadés qu'ils la méritent ?
Ouais, je pense qu'ils sont persuadés que c'est leur droit. Et bah, d'ailleurs, ils voulaient bloquer la vente à la fin de la saison 3 et... pour des raisons, et pas pour des raisons de notre héritage il vaudra plus, on va perdre un milliard de dollars, c'est littéralement, c'est à nous, c'est notre héritage, tu vois, c'est ce qu'on mérite par, c'est de droit, enfin, de droit divin, de droit naissant, tu vois, c'est comme des princes.
Oui, oui,
c'est,
d'accord.
Je le mérite parce que mon père, c'était qui il est. Et peu importe que ce gars-là, Madson, bah, a priori, il a bossé toute sa vie pour gagner ses milliards et finir en position de racheter Waystar et Royco, pour eux, il le mérite pas parce que il est pas de la famille, quoi. Et bah, c'était, les blagues sur Greg en suédois, là, de maître de népotisme, et mais combien il y en a d'autres de vous, tu vois ? Parce que bah, c'est une façon de gérer une boîte, quand même, de la gérer en famille, tu vois, et ça marche pas toujours, parce que être dans une famille veut pas dire que t'es compétent dans le business que gère cette famille, quoi.
Ouais. J'ai vu, je sais pas si je me perds en digression, certainement.
Oh, on a le temps.
J'ai écouté le podcast de Caller Daddy de Alex Cooper, je sais pas si vous connaissez.
Alors, contexte.
Caller Daddy, bon, c'est un podcast qui est exclusivement sur Spotify, qui est animé par Alex Cooper, c'est un des plus gros podcasts aux États-Unis. Et donc elle interview notamment là dans le dernier Gwyneth Paltrow, et donc elle lui demande de faire des fuck Mary Kill avec tous ses ex qui sont Brad Pitt, Ben Affleck, Chris Martin, enfin tu vois, c'est des bons fuck Mary Kill,
première C, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Concours d'allemand.
Et à la fin, elle lui a offert un t-shirt Nepo Baby. J'ai trouvé ça du génie. Et je me suis dit, si seulement tous les personnages de Succession avaient un petit t-shirt Nepo Baby.
Mais grave. Oui, donc si jamais vous n'avez pas le contexte, les Nepo Baby, c'est les enfants du népotisme. Et c'est un terme croissant aux États-Unis pour critiquer bah, les gens qui ont... Comment on dirait en France, les fils d'eux ?
Les fils d'eux, quoi.
Et bah eux, c'est alors en termes de fils et filles d'eux, let's go, ils sont pas mal, les Roy. Et même Shiv, tu vois, je suis là, mais qu'est-ce que tu foutrais au bord d'une compagnie dont pour laquelle t'as jamais travaillé, t'as fait de la politique ? Ils font des médias et des croisières et visiblement l'immortalité. Enfin, c'est juste pas ton métier. C'est comme si mon daron, il était genre propriétaire d'une boulangerie et que moi, j'en ai jamais rien fait en commerce ou en boulangerie, et qu'il meurt et que je suis là, bah bonjour, c'est ma boulangerie et je vais la gérer probablement.
Mais il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens qui font ça, tu vois.
Et comment ça se passe pour eux ?
Bah, je sais pas.
Pour leur business et leur commerce. Pas toujours très bien, je pense. Donc ensuite, on a le board qui part et qui laisse Shiv avec Ken et Rome, et c'est le moment pour Shiv de leur faire comprendre que déjà il faudrait arrêter de la prendre pour un jambon. Et c'est Kendall qui décide de lui dire la vérité, c'est pas Roman. Alors que depuis le début, c'est plutôt Roman qui rappelle, hey, faut qu'on aille chercher Shiv, faut qu'on en parle à Shiv et tout. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène où vraiment elle leur met le nez dans leur caca, mais direct en mode, bon, vous allez arrêter de me prendre pour une conne ou on est où là ?
Ouais, bah, moi en fait, c'est là où j'ai compris que ça allait être l'épisode de Kendall. Ou enfin peut-être pas dès la première fois
c'est
que j'ai vu,
c'est la saison
de
Tom et l'épisode de Kendall.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je sais pas si ce que t'en penses, je sais pas ce que j'en pense non plus.
Top.
Mais mais dans l'épisode Still Watching de Variety, qui est un podcast de Variety, donc c'est Still Watching.
Vanity Fair,
yes. Pardon, qui débrief les épisodes de Succession. Le journaliste parlait du ça du moi et du surmoi.
Oui, ah ouais, il est parti loin, j'ai trop
aimé. Il est parti super loin. Ah. Et donc, il était là, j'ai l'impression que chaque enfant est... Alors, le ça, c'est vraiment Roman qui ouais. agit par l'instinct. Donc, en psychanalyse, le ça, c'est ce que t'es un peu... Enfin, je vais vraiment vulgariser et surtout...
Animal, un peu.
Ouais, c'est ça. C'est toi sans aucune barrière sociale, je crois.
Oui, c'est toi, quand on enlève les limites de la société et du bien.
C'est
du
presque
mal,
toi, enfant, enfin, enfant et encore, tu vois, mais c'est genre, ouais, voilà. Et donc, pour moi, c'était Roman. Le surmoi, c'était Shiv, qui, du coup, bah, on le verra, se prévoit des moments de deuil et tout. Enfin, tu vois, elle est à fond dans se contenir et tout. Et en fait, le gars qui est le plus normal, bizarrement, c'est Kendall. Qui est middle, tu vois, qui est entre les deux. Et du coup, qui est honnête avec Shiv et qui fait bah ouais écoute voilà on va pas non plus te mentir
Ouais et je pense que aussi Kendall il est ok pour avoir une vraie relation avec ses frères et sœurs tant que c'est lui le chef tu vois genre oui. quand il devait partager avec Roman le premier truc qu'il a fait c'est trahir Roman en allant dire à Hugo de la com tu fais les articles qui disent que papa il était sur la fin c'est nous qui gérions donc tu fais le bad dad stuff et tu le dis pas à Roman parce que Roman il veut pas. Et à partir du moment où là il est en leader, bah il est ok pour partager, tu vois. Tant que il partage un peu plus que les autres, enfin lui il a un peu plus que les autres, parce que il s'est toujours projeté dans c'est moi qui vais être PDG et c'est moi papa et papa il est au-dessus des autres. Et du coup il a pas vraiment envie d'avoir une relation égalitaire, mais à partir du moment où il se sent au top, bah il peut dire la vérité à Shiv, il peut même être plutôt sympa avec Roman cet épisode, puisque même quand Roman il fait des grosses conneries, on va en parler, bah Ken il est là. Ok, non, mais franchement, why not? J'aime bien cette vibe et tout, parce qu'à la fin, c'est lui le chef. Et
ouais,
c'est
vrai,
lui le
PDG. Ouais, t'as raison.
Il n'a pas trop à partager ses jouets, quoi.
Et qu'est-ce que t'as pensé, du coup, de leur semi-réconciliation?
J'ai trouvé ça trop fou que Roman, ils disent « Can we do the huggy thing ?» Parce qu'ils peuvent pas dire « Est-ce que je peux avoir un câlin ?» quoi. Ils sont toujours obligés de le dire bizarrement. Et j'y ai pas cru. On a déjà vu un câlin spontané de leur part, bon, notamment quand leur père est mort, ce qui s'entend. Et ça, c'était pas c'est vraiment un câlin où tu sais que tous les trois dans leur tête, encore une fois, ils sont tout seuls, quoi. Et c'est fort de voir.
Ils sont repartis chacun dans leur chemin. Enfin, tu vois, ils sont plus ensemble, quoi.
Ils sont vraiment déconnectés très, très vite. Et, je pense que ça explique aussi, après, enfin, encore une fois, c'est des persos qui sont en deuil de fou et qui ont pas le temps de le gérer, comme on l'a dit. Mais je pense que ça explique aussi les réactions erratiques de Roman dans cet épisode. C'est que, bah voilà, ils savent mutuellement qu'ils sont de nouveau tout seuls. Du coup, Shiv, elle va chercher des alliés. Kendall, il va miser sur lui-même comme d'habitude. Et Roman, il va partir en vrille, je pense aussi, parce qu'ils savent que leur lien est brisé et que...
Ouais, il n'y a rien de sincère dans...
Bah, en fait, il la rassure pas vraiment. Et Shiv, elle sort pas de cette réunion en se disant « Ok, ils ont merdé sur la première. Ils m'ont tenu en dehors de ce truc quand même très important. Mais je peux compter sur eux maintenant, tu vois. » Genre, personne ne croit à ça. Même Kendall, il y croit pas. Donc, ça marchera pas. Effectivement, Steel Marty rappelle que, après tout, Kendall, c'est l'aîné, the eldest son. D'après lui, on est sur un épisode sans Connor. Ça me rend toujours triste.
Ah, moi aussi, ma bichette Connor. Et en même temps, je l'aime.
Ma bichette Connor.
Mais ouais, c'est vraiment ma bichette. Cette saison, c'est... Parce que je crois que c'était Louise Petrouchka, du coup, qui m'avait dit, moi, j'ai une théorie, c'est qu'il y a une saison par frère
enfant.
Et sœur, par enfant. Et du coup, j'étais là, ah, ok, donc cette saison, c'est naturellement la saison de Connor.
Mais moi, je rêvais trop que ce soit la saison de Connor.
Bah ouais, en
politique
et tout. Et en fait, bah non, puisqu'il est jamais là. Et que
mais
Bichette...
si, c'est quand même la saison de Connor, parce que c'est le seul qui va à peu près gagner à la fin. C'est le seul qui a une femme, c'est le seul qui a quelqu'un, qui a une forme d'amour dans sa vie, même s'il pense pas en avoir besoin, il a trouvé une forme d'amour. C'est le seul qui s'occupe des funérailles de son père, qui est, je pense, le truc que t'as envie de faire en tant qu'humain. Quand ton père il meurt, t'as pas envie de gérer des trucs de business. Et même, j'ai vu des gens sur Reddit prédire que, pour X raisons, les gamins vont pas aller aux funérailles de Logan parce qu'ils sont trop dans le business et que t'auras un plan de Connor qui est le seul enfant aux funérailles de Logan. Ce qui est genre pas impossible pour Succession, tu vois.
Ah ouais,
même si je pense
qu'il y a non, quand
un
même.
Truc diplomatique et d'image
ouais,
quand même,
non,
on va
non,
pas
non.
y aller, mais...
Ils iraient pour ce que ça dirait sur les marchés.
Oui, mais tu vois, Logan, il est pas allé au mariage de son fils aîné parce qu'il était en route vers la Suède pour gérer un deal. Donc, c'est pas quelque chose que Succession ne peut pas faire.
Oui, non, c'est sûr.
Donc, en vrai, c'est un peu la saison de Connor parce qu'en tout cas, même si c'est pas du tout... Ça reste pour moi Kendall le personnage principal s'il fallait en définir un. Et on s'ouvre avec Kendall et je pense qu'on finira globalement la série avec Kendall. Connor, c'est la saison où il a le plus de moments forts. Et tu vois, tout son truc au karaoké de « J'ai pas besoin, je suis une plante qui pousse sur des rochers et qui se nourrit des insectes qui viennent mourir à l'intérieur
bichette.
De moi. » Et en même temps, à la fin, il se marie, tu vois.
Mais je sais pas si t'as vu cette interview de Kieran Culkin, et à chaque fois, je change d'avis un peu sur les personnages. Parce que j'ai l'impression que les acteurs sont toujours hyper attachés à leurs personnages. Et notamment, alors t'as celle qui joue Jerry, j'oublie son nom à chaque fois.
Cameron Smith. Mais ouais, son prénom, c'est
Jay. Je crois que c'est juste J.
Jay Cameron Smith, elle doit avoir un prénom quand même derrière. Jay Smith Cameron.
Ah ouais.
On l'avait à l'envers, mais tout à fait. Elle s'appelle Jean, c'est Jean son prénom.
Et en fait, donc ils sont tous méga attachés à leur personnage. Et elle, j'ai encore entendu une interview d'elle où, tu sais, elle explique toutes les manières dont elle a joué et tout. Enfin, tu sais,
ouais,
elle est trop à fond, elle.
Je
l'adore. Et Kieran Culkin, je trouve que dans toutes les interviews qu'il donne, parce qu'en fait, ils ont donné toutes les interviews 2 semaines après la fin de la saison. Et donc, ils étaient tous pas guéris et tout. Et donc, à chaque fois, il dit.
Ils ont appris tard que c'était la dernière saison et tout. Donc, ils étaient aussi dans le frais du deuil. Ouais. Professionnel de cette série, quoi.
C'est ça. Et je trouve qu'en fait, il reste pas mal en personnage dans les interviews. Et en fait, il vient défendre son personnage, qui est quand même, tu peux le dire avec un petit peu d'objectivité, quand même, Roman, c'est quand même pas quelqu'un de bien.
Non.
Mais lui, il est là, c'est le plus gentil et tout machin, et le pire personnage.
Je le dirais pas comme ça.
Non, mais voilà, tu vois. Il fait, le pire personnage, c'est Connor. Mm. Parce que, tu l'as vu cette interview?
J'ai vu l'extrait où il parle de Connor. Mais vas-y, je vais te laisser.
Et il dit que c'était la pire personne parce qu'il séquestre quand même pratiquement Willa, tu vois.
Ouais, il dit qu'il a quasiment acheté.
Ouais, il a quasi. Ouais, c'est ça. Et j'étais là. C'est vrai que vu comme ça, peut-être pas bichette Connor.
Ouais.
Peut-être pire Connor. Ouais.
Mais après, pire Connor, Connor. Willa, elle a répondu en disant que pour elle, pas du tout. Enfin, qu'elle a vu cette interview et que pour elle, pas du tout, que Connor.
Ah, elle a répondu à cette interview?
Oui, enfin, elle a été interrogée dans une de ses interviews sur est-ce que vous avez vu cette interview de Kieran Culkin qui dit que pour lui, Connor, c'est celui qui a acheté une personne. Et elle dit, moi, je le vois pas du tout. Quand je joue Willa, je pense pas la jouer comme quelqu'un qui a été acheté. C'est en fait un des thèmes de Succession, c'est l'amour. L'amour peut-il être autre chose que transactionnel quand on est ces gens-là? Et Shiv et Tom en parlent dans cet épisode. La réponse semble être non. Et en fait, Connor, il n'a pas tort quand il dit qu'il aura jamais d'amour véritable et pur, mais il a ce qui s'en rapproche le plus dans le monde qu'il est, et il demande, enfin, le dernier truc qu'il demande à Willa avant de l'épouser, c'est est-ce que t'es juste avec moi pour l'argent? Et elle dit, y a de ça.
Oui.
Mais pas que. Et je pense qu'il est là, good enough.
Ouais. Il y a quelqu'un dans le chat, Stories96, qui dit, cher Connor. J'ai trouvé ça très drôle.
Ah, il y a Pete Louche qui note, qu'en interview, ils appellent tous Logan Dad.
Ah ouais?
Pour, les persos. J'avais pas
fait
gaffe.
J'ai pas fait gaffe.
Non, je ferai gaffe.
Mais c'est vrai que Jay Cameron Smith aussi, elle dit tout le temps « aïe ».
Oui, quand elle parle de Jerry, elle dit « moi ».
Ouais,
mais je pense que j'écoute pas assez d'interviews d'acteurs pour savoir si c'est courant ou si c'est un peu spécifique à Succession.
Je pense que c'est assez courant, tu peux te tromper et tout, mais j'ai l'impression qu'ils sont... En fait, toutes les interviews qu'ils ont données sont tellement fraîches par rapport à la fin de tournage. J'ai l'impression que ça s'est enchaîné super vite, le montage et tout, et que du coup, ils sont vraiment encore à fond dedans. Et que, à part Brian Cox, qu'on a rien à foutre.
Brian Cox, mais... ça regarde pas la série, il est là. Pourquoi je ferais ça, MDR? Je joue dedans, vous êtes chelou, vous.
Je l'adore. Mais parce que lui aussi, il a arrêté épisode 4, tu vois. Enfin, épisode 3.
Donc, mais même, je crois qu'il a jamais regardé.
Non, mais il a arrêté de jouer, donc ça faisait plus longtemps, tu
c'est
vois,
vrai,
qu'il
était
sorti du personnage, tu vois. Donc, je me dis, c'est peut-être ça aussi.
Oui, et d'ailleurs, quand ils l'ont fait revenir pour tourner notamment la scène d'ouverture de cet épisode, du coup, comme il avait disparu du tournage, il y avait un peu un côté. Tout comme pour nous c'est et pour les personnages de Succession, c'est revoir le voir revenir à la vie un fantôme, c'était un peu pareil de voir Brian Cox revenir sur le tournage alors qu'il y avait eu tous les adieux et tout, c'est genre tu fais ton pot de départ et tout et tu reviens la semaine d'après tourner un podcast. Ça arrivait toujours très bien. On revient à l'épisode et on en parlait assez, ça arrive tout de suite, c'est cette fameuse scène où Shiv se met des créneaux être en deuil dans son agenda prévu par son assistante.
Je trouve ça d'une finesse d'écriture superbe. J'ai adoré.
Ouais, c'était beau, hein. Est-ce que ça t'a touché? Enfin, moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient vu comme une énième preuve de la froideur de ses personnages et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça plus, au contraire, une ouverture sur son empathie et son humanité. Et j'étais triste pour elle qu'elle soit obligée de pleurer son père dans une salle de réunion à l'autre bout du pays, avec un créneau de 20 minutes ouvert par son assistante.
J'ai trouvé ça d'une tristesse absolue et encore une fois, j'étais surprise. Parce que je suis naïve. Je suis quelqu'un de naïf. Mais ouais, j'étais surprise qu'elle, et au début, j'ai cru qu'elle mentait à Tom. je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle est venue faire là?
Ah oui, est-ce qu'elle le troll en mode, ouais. Bah là, je suis dans mon rendez-vous être en deuil, tu fais un peu chier.
Et que... après, non. Mais je me suis demandé, parce qu'il y a tout ce truc aussi où c'est étonnant qu'elle soit vulnérable auprès de Tom à ce moment-là, tu vois. Parce qu'elle aurait pu lui dire, j'ai un rendez-vous, laisse-moi tranquille, tu vois.
Oui.
Mais elle choisit de lui dire, je fais mon deuil à ce moment-là. Donc, ma théorie, c'est que...
les théories d'Alix.
Oh, les ris, les théories.
Les thés, les hauts, les ris, les théories, vous l'avez. C'est le gars des trois frères, là. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le Miracle.
Oh, putain.
J'aime ce jingle.
Non, mais ma théorie, c'est qu'en fait, ça fait très longtemps qu'ils couchent ensemble.
Mais t'arrêtes pas de me lancer de drop des bombes.
Moi, je pense qu'ils ont jamais arrêté de coucher ensemble, en fait.
Ah ouais, que même quand elle le rejetait, là, dans tous les épisodes précédents, ils avaient déjà leur truc, genre, mais juste coucher ensemble.
Ouais.
Genre, tu penses que quand Shiva, elle est allée dans l'appart et qu'ils ont décidé de divorcer et qu'il dit « I could make love to you » et qu'elle dit non, tu penses qu'en vrai, ils ont couché ensemble?
Peut-être pas à ce moment-là, tu vois, mais je pense que en fait, j'ai l'impression, et c'est surtout la scène de cul aussi, la scène de fin de cul, du coup, où j'avais l'impression que, en plus, dans cette scène de cul, ils se rhabillaient pas entièrement, donc ils s'étaient pas entièrement déshabillés. Et je trouve que ça, c'est un move de gens qui couchent déjà ensemble.
Après,
depuis longtemps,
tu vois.
Ouais, mais je sais pas, je sentais une habitude, tu vois, de, je sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais, non, tu le sentais pas?
Je pense pas que je suis d'accord avec cette théorie, mais je pense pas que j'ai de quoi la réfuter entièrement, et c'est la beauté de Succession, c'est que ces gens sont tellement étranges des fois que c'est compliqué de savoir comment ils fonctionnent. Je pense que c'est très compliqué pour Shiv d'être en vulnérabilité et que le sexe, elle l'utilise quand même pas mal pour lâcher prise. Je pense que c'est pour ça qu'elle couche avec Tom d'ailleurs un peu plus tard dans cet épisode. Et je pense que tout ce qui est arrivé dans cette saison jusqu'à maintenant entre Tom et Shiv, c'est une parade nuptiale pour arriver à on couche ensemble. Et que du coup, s'ils couchaient déjà ensemble régulièrement, ça a un peu moins d'impact que quand elle est toute seule, avec fucking Madson au téléphone. Elle a juste Madson en appel rapide, mais c'est tout. Quand elle est toute seule, elle revient vers Tom. Et lui, ça lui donne une raison d'avoir essayé pendant tous ces épisodes. Donc ça fait plusieurs mois quand même entre la saison 3 qui se finit sur Tom qui trahit Shiv quand même, et la saison 4. Ça fait plusieurs fois, à mon avis, qu'il essaye de renouer des liens avec elle et qu'elle dit non. Et là, il vient de trouver comment faire, qui est de ne pas lui demander en mode « petit chien perdu, bébé dauphin, tu me manques ». Mais redevenir le Tom... En fait, le Tom qui l'a séduite, c'est... Enfin, il comprend que ce dont Shiv, elle a besoin pour être séduite, c'est un type d'homme différent. Et du coup, il décide d'être honnête avec elle et ça marche.
C'est son père.
C'est son père, oui. Son père a pas été très honnête avec elle.
Non, c'est clair.
Il y a Steel Marty qui demande dans le chat, vous pensez que c'était legit l'excuse de, enfin, la raison de j'ai un rendez-vous de deuil? Pour moi, elle avait rendez-vous médical pour la grossesse, genre, et du coup, elle a dit autre chose.
Bah, tu vois, moi, j'aurais pu miser là-dessus, parce que vraiment, au début, j'ai cru qu'elle avait menti et que c'était pour,
Et on sait toujours pas si elle a dit à Tom, enfin, on n'a pas eu de scène où elle a dit à Tom, même avec tout ce qui se passe dans cet épisode, qu'elle est enceinte, donc en effet, c'est toujours le gros secret de la vie de Chine, en vrai. C'est même pas tant Madson que.
Elle est enceinte.
Tu penses, on est d'accord, tu penses qu'elle est enceinte de Tom?
Oui, oui.
Ouais, on est 100%. Aligné là-dessus.
Oui, oui, mais c'est pour ça aussi,
même
ça
au-delà de Greg, il y a l'hypothèse Nate, son ex, là, ou je sais pas, elle aurait.
Mais moi, pour moi, ça participe au fait que je pense qu'ils ont pas arrêté de coucher ensemble parce que en fait, même la scène de baiser, elle est intéressante parce qu'elle vient juste après qu'elle a été vulnérable avec lui, alors qu'elle avait pas trop de raisons. Enfin, tu vois, si elle le détestait vraiment, elle lui aurait pas dit je fais mon deuil.
Oui.
Et donc ils s'embrassent et donc c'est une scène sympa. Et après, ils couchent ensemble, mais alors. C'est peut-être scénaristiquement, moi, tu vois, des gens qui recouchent ensemble pour la première fois depuis super longtemps, tu mets le début de coucher ensemble. Tu mets pas la fin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La fin, quand tu mets la fin de gens qui couchent ensemble, ça veut dire c'est une habitude.
Oui, j'ai pas besoin de montrer le début, c'est pas exceptionnel pour coucher ensemble. J'entends.
Moi, je sais pas.
Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'elle est sincère dans... C'est un rendez-vous d'œil parce qu'en fait, dès qu'elle ferme la porte, elle se met à chialer. Et c'est ça qui m'a touchée, c'est que je me dis, la go, elle a tellement de raisons de chialer.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi... Bah, ses frères viennent de lui dire, oui, on t'a mise à la porte. Enfin, oui, on t'a pas incluse. Et ils ont fini avec, certes, ce câlin, mais selon nous, en tout cas, où elle sait très bien qu'elle va pas être plus incluse après ça. Enfin, elle a beaucoup de raisons de pleurer. En plus de, mon père est mort il y a genre, je sais pas, 5 jours, là, dans la série. Donc, ce qui est déjà une bonne raison. Du coup, pour moi, c'est vrai qu'elle est en rendez-vous d'œil et pas en call avec Madson ou en call pour sa grossesse parce que elle ferme la porte immédiatement, elle chiale. C'est aussi pour ça que ça aurait été un peu plus compliqué de mentir à Tom parce que quand il rentre, elle est déjà en train de pleurer, mais c'est un peu sombre.
Mmh.
On pourrait lui dire fuck off, tu vois, et bon, bah, il se douterait aussi peut-être que la meuf qui a perdu son père il y a 5 jours, elle est en train de pleurer. parce qu'elle a perdu son père, donc c'est possible. Et pour moi, il y a un truc de semi-fatigue, de en fait, je suis trop fatiguée de mentir, donc je vais lui dire la vérité, tu vois, qui est bah, là, je suis en, ouais, en moment de deuil. Et c'est cette fatigue aussi qui lui permet de s'ouvrir, elle est fatiguée de lutter et d'être toute seule. Et un peu un truc de, comme d'habitude dans Succession, il y a un peu des deux, un peu un truc de manipulation, de j'ai besoin de plus d'alliés, donc c'est le moment de mourir à Tom. Et aussi peut-être, il y a un moment où ça va être compliqué de cacher cette grossesse, qui quand même est un sujet, quoi. C'est la seule qui pleure son père, c'est la seule qui prend le temps d'être en deuil. Vraiment, Don Roman a fait son pré-deuil, il n'a pas besoin d'être en deuil.
Roman n'est pas en deuil, Roman est complètement normal. Hein.
Oui, depuis le début. C'est bon.
C'est bon.
Est-ce que tu crois à, tu as suivi ma théorie du générique?
Ouais. Où,
alors qui est encore une fois pas ma théorie, hein, c'est l'internet. Je n'ai pas cette imagination, mais où dans le générique le père ce serait Tom avec les enfants de Shiv. T'y crois ou pas?
Moi j'ai bien aimé cette théorie, ouais.
Ouais.
J'ai bien aussi aimé cette théorie. Ouais ouais, je suis assez fan.
Ok. On n'est pas sûr, on y croit, mais on est sûr. C'est pas inintéressant.
C'est pas inintéressant du tout, ouais.
Tom et Shiv, comme on vient de le dire, s'embrassent quand même en plus dans cette scène. On y reviendra, puisqu'ils vont faire un peu plus que ça. C'est l'heure de parler du prochain plan des studios des enfants terribles de CE Bros de Waystar, à savoir
mes préférés,
sur Living Plus. Alix Martineau, qu'est-ce que Living Plus, finalement? As-tu compris?
Est-ce que j'ai compris
son projet?
Pas tout à fait. En fait, j'ai l'impression que c'est une gated community pour les gens riches.
Et qui aiment pas trop avoir des gens racisés en hoodie chez eux.
Tout à fait. Mais qui sont ok pour voir les director's cut de certains films.
Ouais.
Avec des stars.
Oui.
Qui
genre,
passent.
Genre, t'as Chris Hemsworth qui vient te montrer le voilà. Thor en avant-première.
Exactement. Sachant que. Je me dis. Alors, je sais pas, les vieilles personnes peut-être aux Amériques sont plus au courant des stars de cinéma. Mais genre, j'ai eu mes grands-parents au téléphone tout à l'heure. Et bref, on parlait d'acteurs, et donc je leur disais que j'avais envie de faire une formation de doublage. Ils me disaient « Ah, bah comme Jacques Balutin !» Et j'étais là...
c'est pas un vrai nom, Jacques Balutin.
J'aurais dit « Est-ce que vous voulez que je double des stars ?» Genre, est-ce que... Enfin, voilà, ça vous intéresserait que je double des stars ? Ils m'ont dit « Oui, Jacques Balutin et Johnny Hallyday. » Et j'étais là « Bah, je vais pas avoir beaucoup de travail, puisque... »
J'aimerais bien que tu doubles Johnny Hallyday, personnellement, c'est un contenu, je m'abonne. Je sub à cette chaîne, Alix double Johnny Hallyday.
Donc je me dis, est-ce que les personnes âgées qui vont dans Living Plus vraiment ont quelque chose à foutre de Chris Hemsworth, tu vois?
Non, mais si tu vois,
alors ils
préféreraient comme...
peut-être que Jacques Balutin fasse une rétrospective,
oui,
tu vois.
Je pense l'équivalent français ce serait un genre de résidence TF1, tu vois.
Ouais.
Où du coup il y aurait Nikos qui vient te montrer la finale de The Voice en avant-première, et il y a Nikos et tout le monde aime bien Nikos, ou genre Thierry Lhermitte, tu vois, en acteur. Effectivement. On serait peut-être pas sur du Chris Hemsworth parce qu'on n'est pas sur une pop. Enfin, si on prend le parallèle entre ATN et Fox News, on est sur un public qui est pas évidemment les millennials, c'est les zoomers connectés.
Oui, oui, non, c'est sûr.
Plutôt les gens qui ont le temps de regarder la télé et qui vont voter statistiquement plus que les jeunes. Donc ça.
Et merde.
Des choses vivement qu'on revoit Mencken dans Succession, je pense que ça fera plaisir.
Putain, il le tease, hein.
Ouais.
C'est pas faute d'en parler à tous les fucking épisodes, quoi.
J'ai trop hâte. Je pense, moi, je mise sur. Épisode prochain, mais peut-être celui d'après, je suis pas sûre.
T'es trop forte en prédiction.
En analyser les titres des épisodes aussi. Donc Living Plus, gated community avec
ouais,
Nikos.
Mais du coup, ils se disent, bah, pour faire monter l'action, pour que en fait, Madsen ne puisse pas racheter.
Oui, c'est ça leur plan.
Leur plan, c'est qu'ils puissent pas racheter, donc de monter l'action à plus de 192 dollars. Et donc, pour faire monter l'action, il faut...
Et ils ont environ l'après-midi pour le faire.
Enfin, voilà.
Le lendemain, c'est la présentation aux actionnaires. Donc, et puis surtout, la vente à Madsen est prévue très bientôt.
Ouais.
Faire monter le cours d'une action, ça prend souvent un peu du temps.
Bah, ou alors, ça fait comme un buzz, tu vois. Ça peut faire un boom d'un coup. Et donc, c'est ce sur quoi ils tablent. Enfin, en tout cas, Kendall table. Dans sa grande sagesse. En transformant des maisons en de la tech. Puisque l'avenir c'est la tech et donc oui. Ils passent, alors c'est pas une appli non, mais c'est un système de santé qui ferait que les gens vivraient mais vraiment
plus
beaucoup plus vieux et plus
c'est
longtemps.
C'est marrant que ça soit une préoccupation pour lui là tout de suite, la longue
c'est étonnant.
Et la mortalité des gens,
c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique, dont je suis particulièrement fan, mais ouais, donc si j'ai bien compris c'est ça Living Plus.
Ouais,
toi si t'as compris quoi?
Je suis assez d'accord. Et il me manquait l'aspect en quoi c'est plus intéressant pour eux de faire passer ça pour un business tech. Et du coup, j'ai cherché un petit peu. Et si j'ai bien compris, c'est juste que ce genre de gros investissement de buzz, comme tu dis, ça se fait plus actuellement sur des produits tech, comme bah, par exemple WeWork, c'était aussi ça, c'était transformer, loger les gens en c'est l'avenir de la tech, alors qu'en fait c'est pas une boîte tech, c'est une boîte d'immobilier. Immobilier,
c'est les bureaux.
C'est pas un secteur dans lequel on va prendre des risques et faire monter des projets hyper vite parce que c'est un vieux secteur.
Oui,
et
tu peux pas spéculer. Enfin, si tu peux, mais tu pas aussi vite quoi.
Réinventer demain l'immobilier, tu vois, c'est trop rigide, c'est trop vieux. La tech, il y a ce côté. Il y a 10 ans, on n'avait pas. Tu vois, on est en train de faire un truc qui n'existait pas il y a 20 ans.
Ouais.
À ce côté, on peut réinventer, on peut être là dans le futur, et ça va du coup faire plus de gens qui vont mettre, enfin, avoir plus de chances de capitaliser vite.
Ouais, de parier sur les trucs, quoi.
Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais compris de pourquoi c'est si important de faire passer les maisons pour de la tech. À part donner à Cousine Greg, malheureusement, ce qui est une des répliques les plus drôles de l'épisode, à savoir, c'est un peu dur de faire croire que les maisons, c'est de la tech, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on a des maisons.
J'adore cette réplique. Rien que pour ça, j'adore Greg.
Ouais, alors sur les punchlines,
c'est vraiment...
il est toujours là. Hein.
Mais en fait, je trouve que c'est le plus sensé aussi, tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Mais en même temps... toujours celui qui te ramène, tu sais, à la réalité.
Là, bon, bah parce que c'est une personne un peu plus comme c'est pas un milliardaire de naissance quoi. Et en même temps, il le formule toujours de la façon la plus bête. Donc il dit un truc pas bête, mais en disant juste, ça commence à faire un petit moment qu'on a des maisons. Genre, gars, c'est pas un petit moment, on a toujours eu, bref.
Parce qu'il essaie toujours de se faire bien voir, tu vois.
Oui.
Et du coup, il est là, peut-être c'est pas une bonne idée, puisque vous savez, ça fait vraiment longtemps qu'on habite dans des maisons.
Oui, et en même temps, il veut pas se mouiller en disant non, puisque comme on va bientôt l'apprendre, nouvelle règle, personne n'a le droit de dire non. Merci pour la nouvelle règle.
Merci Kendall pour la nouvelle règle.
Quel connard. C'est bien de rappeler un peu que même en tant que manager, tu vois, genre t'as pas envie de bosser pour ce gars-là. Au-delà de est-ce qu'il mérite la boîte ou pas.
Avec son petit sourire de connard là. Allez, me dites pas non. Hein, on fait ça comme règle.
On dit merci tonton Ken et on est ravis. Ah, lui c'est vraiment ce mec qui dit la boîte c'est une famille et tout, mais une famille où je gagne tous les dividendes et où vous êtes au SMIC. Ok, donc on est d'accord, c'est ça le plan, mais le plan, c'est... En fait, l'important, c'est pas est-ce que Living Plus, c'est viable financièrement, est-ce que les gens vont vraiment vouloir y vivre, c'est est-ce que les actionnaires, ils vont y croire parce que ils sont, en fait, tout le temps à court terme, ils ont pas vraiment de vision long terme pour la boîte. Et là, l'objectif unique à court terme, c'est, comme tu l'as dit, que Madsen ne puisse pas acheter la boîte. Pour qu'il puisse pas l'acheter, il faut qu'on puisse... défendre le fait que les actions valent plus que $192, donc il faut faire monter le cours de l'action, parce que Roman dit qu'il a appris que Madsen peut pas aller beaucoup plus haut, enfin il aura pas les moyens, donc c'est leur dernière carte à jouer. Est-ce que tu penses que ça va marcher?
En fait, c'est ça le truc de succession, c'est que moi, je m'y connais pas assez aussi en tout ça pour prédire quoi que ce soit.
Ouais,
donc en fait, je suis toujours d'accord avec l'avis des personnages. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, parce que tout le monde est de l'avis que Kendall va pas du tout y arriver, et en fait, le marché dit ok.
Ouais.
Et du coup, même toi, t'es surpris, t'étais là, Kendall, ah, ok. Ah.
Et pour une fois, Kendall qui monte sur scène, ça ne finit pas en un moment tragique.
Ouais, il y a des moments tragiques quand même, on en reparlera, mais.
Oui.
Mais non, en fait, c'est ça le truc. C'est comme ils disent, le capitalisme, tu peux dire tout ce que tu veux, et il se passe des trucs inattendus, tu vois. Donc, et j'ai l'impression que, à cette hauteur-là, c'est comme si c'était des enfants, tu vois, qui jouaient un petit peu à la cour de récré et qui étaient là, je sais pas, si on essayait de.
Comme un perso le dira plus tard, les chiffres, c'est pas juste des chiffres, en fait, les gars. Enfin, il y a une réalité derrière, mais je pense qu'ils l'ont pas.
Non, pas du tout.
Ils ont jamais travaillé, en fait. Ils savent pas ce que ça veut dire de faire une boîte qui réussit.
J'ai l'impression que la série leur donne un peu raison, dans le sens où il y a pas d'importance, en fait. Puisque l'important, c'est, de dire le chiffre le plus haut, que tu l'aies ou non, tu vois. Et donc de vendre la proposition la plus belle, de vendre l'éternité, l'éternité un peu plus, tu vois. Enfin,
l'éternité plus.
L'éternité plus. Et c'est ça, l'important, c'est le marketing. Et en fait, c'est ce que sont les États-Unis aussi. C'est la terre promise du marketing, tu vois, et du service. Donc en fait, je trouve que la série te dit, attendez, vraiment, notre monde est fucked up, ça peut marcher. Ce discours débile.
Oui, c'est clairement une série qui est très... une satire du capitalisme débridé, et Kendall finira l'épisode en disant ça suffirait presque à te faire perdre foi dans le capitalisme, ce qui
J'adore cette phrase.
extrêmement premier Doug pour un personnage comme Kendall et une série qui généralement fait un peu plus des sous-entendus ou formule les choses avec un peu moins de limpidité, mais parce qu'en fait je pense que c'est le propos de c'est un série. Des propos de Succession, c'est le enfin il faut pas avoir foi dans le capitalisme, mais aucun des gens qui ne sont au top du monde dans lequel on vit actuellement ne mérite fondamentalement d'être là. C'est pas possible de mériter d'être un milliardaire parce que c'est trop loin de, il y a trop de disparités avec les autres gens, donc c'est forcément que quelque chose est cassé dans le système. Et pour finir sur Living Plus, c'est aussi inspiré de vrais trucs qui existent. Okay. Notamment, il y a Celebration, un village en Floride qui a été fondé par la Walt Disney Company. Et l'un génial. Des derniers projets. Ouais. Et ça ressemble à une petite ville de banlieue des années 60. Tu vois, il y a un côté un peu film d'horreur figé dans le temps.
Oh là là.
Un peu Get Out.
La
mais,
nostalgie.
Y a des, tu vois, j'ai écouté des podcasteurs dire ouais, bah, j'avais genre la tante d'une pote qui habitait, donc j'ai été une fois ou deux. Bon. On s'ennuie, et clairement, ça, oui, c'est une gated community de retraités qui veulent pas trop être embêtés, mais t'as pas le côté tech, justement, et science-fiction de « vous allez vivre pour toujours ». Par contre, je pense que c'est hyper surveillé. J'ai vu des références aussi à Google, qui avait à un moment proposé de racheter et de revaloriser à ses frais, très généreusement, un quartier portuaire de Toronto, au Canada, qui était assez à l'abandon. Et... ça a été finalement refusé par le conseil municipal parce que l'une des conditions, c'était qu'ils traquaient absolument tout ce qui se passait dans ce quartier avec les technologies Google.
Yes.
Donc c'était pas juste un move immobilier ou encore moins un move philanthrope, c'était une expérimentation de Google pour voir tout ce qu'on peut traquer dans un même
génial.
Quartier.
Génial.
Et un des plans finaux de Walt Disney qui a pas été mis en place avant sa mort, c'était Epcot, que ça devait être, donc qui est un des gros trucs Disney aux États-Unis, ça devait être une ville. C'était l'idée de... les gens vont vivre dans l'écosystème Disney et ne plus jamais il y aura pas besoin d'en sortir et les gens ne voudront pas en sortir. Donc même les inventions les plus un peu ridicules de Succession sont jamais très loin de choses qui existent réellement dans le capitalisme américain, ce qui est peut-être plus clair pour des viewers américains qui ont les refs. Nous on fait un peu de recherche, mais c'est toujours intéressant de voir les parallèles avec la vraie vie.
Ouais.
Surtout quand on se rappelle que c'est créé par un Britannique, donc pas quelqu'un qui a grandi dans ce système, qui a aussi un œil d'Européen sur ce genre de délire où vraiment un village Disney, je pense que pour des Européens du vieux continent, c'est une chambre de l'enfer, quoi. Ça fait pas rêver du tout.
Mais d'ailleurs, dans cet épisode, ils font grave les... enfin, tu vois, ils rappellent la différence culturelle entre l'Europe et les États-Unis aussi. Tu sais, ils disent « Madsen, il est tellement européen ».
He's so European.
Et ouais, non, et c'est vrai que ça fait un peu flipper.
Alors que Logan lui-même l'était aussi.
Tu vois, c'est vrai, ouais, qu'il est.
C'est ce roman national de Logan comme champion de l'Amérique, mais et d'ailleurs c'est ce que Connor il dit quand Marsha essaye de le faire enterrer dans un kilt, c'est que il a peur que ça rejaillisse mal sur lui aussi parce que c'est un American champion, donc il a bien réinventé sa propre histoire, mais à la base il est pas américain Logan Roy de base. C'est l'heure pour Roman d'aller travailler.
Et oui,
en allant voir la présidente des Waystar Studios. Rappelons que Roman, c'est là où il a bossé. Quand il a bossé chez Waystar, c'était à Los Angeles dans l'aspect plutôt Hollywood et ciné. Et donc, c'est à lui d'aller voir Joy, la présidente de Waystar Studios, pour voir c'est quoi cette histoire avec Calispitron 2 qui prend du retard.
C'est bien le film, on est d'accord, qu'ils ont montré pour dégoûter Madsen. Oui.
Et la stratégie semble être juste, dis-lui qu'elle va avoir toute la thune qu'elle veut, il faut juste qu'elle nous fasse des franchises qui cartonnent. Donc en gros, l'argent ne sera plus un problème, mais il faut qu'elle nous fasse le Marvel Cinematic Universe. Qui ne tient pas que à l'argent, comme elle va essayer de l'expliquer à Roman. Est-ce que t'as kiffé de voir Roman à Hollywood ?
C'était super, parce que encore là, tu sens la différence des cultures. Et parce que Roman, il est dans un délire trumpesque dans tout cet épisode, puisqu'il vire tout le monde.
Oui.
Il dit « You're fired, you're fired, you're fired !»
And you're an ATN citizen.
You are an ATN citizen.
Ma passion. Oprah énergie.
Cette arche B, là, ma passion.
Tom et son discours si nul.
Son discours qui est vraiment l'arche B de tout le discours de Kendall, tu vois, où tu le vois avec Greg
discuter. Oui, c'est Tom qui est là, comment je passe derrière et tout drôle. Machin.
Et là, non, l'écran il sera noir, comme ça c'est toi la star et tout. vraiment ma passion. Mais non, j'ai adoré cette scène où Roman va voir Joy. Parce que moi j'avais pas la ref de Groucho Marx. Tu l'avais ou pas?
Je l'ai pas non plus.
Parce que tu sais, à un moment, Joy, elle limite quelqu'un, tu vois, et il fait « Qu'est-ce que c'est, ça ?» Et il fait « Non, mais c'est un délire de cinéphile, tu vois, c'est Groucho Marx, tout le monde limite, tu vois. »
Bah, je sais que les Marx Brothers, c'est un peu connu.
Voilà.
À l'ancienne.
Bah, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait partie des Marx Brothers, et donc qui était... j'ai regardé sur Wikipédia, il était affilié...
Qu'est-ce qu'elle a taffé?
Eh oui, j'ai taffé. Il était affilié démocrate.
Ok.
Et donc, en fait, dès là, on comprend ce qui va se passer et ce qui se cristallise, en fait, dans cette scène, tu vois.
Oh, c'est bien écrit. Quelle finesse d'écriture.
Bravo, Succession.
Parce que, du coup, ce qui se passe dans cette scène, c'est que Roman lui demande simultanément de... Le premier truc qu'il lui demande, c'est qu'est-ce qui va être viré pour le fiasco à Calais Speedrun et tout l'argent qu'on perd. Et aussi, une fois que t'as réglé ça, t'inquiète, on allume le tuyau d'arrosage Afrique. Du coup, t'auras juste à t'inquiéter à nous faire des franchises et des films qui cartonnent. Et Joy a l'air de dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça, Alex Martino? Qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Hollywood qui pourrait aller au-delà de juste cracher nous de l'argent dessus et on vous fera des bons films?
Eh bien, c'est que Hollywood est une gauche, comme on l'appelle, caviar.
Oui, oh là, on est sur France Inter, une gauche caviar.
Et donc, du coup, idéologiquement, Hollywood est à gauche, bien sûr, le porte-monnaie est à droite.
Tout à fait.
Mais idéologiquement, ça la fout mal d'être affiliée à cette boîte qui a ATN, qui est la chaîne d'infos, qui est vraiment trustée par Mencken,
oui,
qui est très très à droite. Et donc Hollywood se sent pas du tout à l'aise, enfin Waystar Studio en tout cas, par rapport à ses autres petits comparses studios, j'imagine, se sent pas du tout à l'aise d'être représentée par une telle boîte, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Elle dit qu'en gros, on a des problèmes pour recruter des talents parce que, enfin, que les talents ont un problème avec le soutien manifeste de ATN et donc de Waystar à Mencken. Soit à quoi Roman répond. En fait, c'est intéressant parce que je trouve que Roman, il est à la fois odieux et lucide dans son discours puisque c'est lui qui lui rappelle que, il lui dit un truc genre, ah oui, vraiment, cette ville où les gens sont mus par des valeurs de gauche intenses parce qu'il voit aussi l'aspect caviar de la gauche caviar d'Hollywood.
Oui, et Hollywood, Los Angeles, qui est vraiment une ville où il y a des disparités terribles et il le rappelle qu'il est construite sur une faille sismique, tu vois, que tout est bancal, en fait, à Los Angeles, oui. Donc c'est drôle.
Moi, ça m'a fait penser à cette vidéo ultra cringe de célébrité qui était sortie pendant le Covid où elle chantait Imagine. John Lennon, tu sais, il y avait genre Gal Gadot et plein de stars qui chantaient Imagine en filmant pour genre donner de la joie au monde et rassurer. Et j'étais là, oh là là, on n'a pas besoin que des millionnaires nous chantent Imagine parce que, et c'est pas pour, enfin, le travail d'acteur et de comédien est tout à fait respectable, mais on en vient à ce truc de disparité de je sais pas s'il est respectable au point qu'il y a des gens qui gagnent des millions et des millions pour le faire. C'est comme le salaire des footballeurs ou quoi, c'est derrière t'as des gens qui sont infirmiers et qui vont jamais gagner plus de 1500 balles dans leur vie, donc. Le capitalisme est un problème, et je trouve que Roman rappelle ça, et quand il répond à cette idée que l'affiliation avec Mencken est un problème, il dit « Mencken is IP, c'est une propriété intellectuelle ». En fait, il est vraiment dans le truc de « on s'en fout, l'important c'est qu'il fait de l'audience ». Et ça montre aussi l'aspect quasi monstrueux de Roman, qui est celui qui l'admet le plus, mais qui est, je pense, politiquement, il n'y en a aucun d'Héroï qui peut être autre chose qu'à droite parce qu'ils sont milliardaires, enfin même Shiv, tu vois, genre elle est pas vraiment de gauche parce qu'elle est milliardaire et elle veut le rester et elle fait des choses pour le rester, enfin c'est antinomique à ce niveau-là. Et du coup, c'est cet aspect tellement monstrueux que en fait mettre le fascisme à l'antenne, ça n'a pas, il y a pas de regard politique à poser dessus, c'est juste une question d'audience.
Ouais.
Si la gauche, si il avait Fabien Roussel sous la main qui parle de saucisses et ça passionne tout le monde, mais c'est ça aussi, c'est pourquoi les médias ils parlent beaucoup du PCF, c'est parce que Fabien Roussel ça fait de l'audience quoi et que ces petites phrases elles font de l'audience. Donc je trouve que c'est à la fois très lucide ce que dit Roman et très monstrueux, et d'ailleurs là on voit comment il va finir par traiter Joy. Mais donc c'est ça le problème, c'est que c'est compliqué de, par exemple, je sais pas, la star la plus chaude du moment c'est Timothée Chalamet et il veut jamais bosser avec toi parce que tu soutiens Trump, tu peux lui jeter autant d'argent que tu veux à la gueule, il y a un moment où il y en a certains qui vont dire non et c'est compliqué du coup de recruter des talents et de les garder. Et il y a aussi un truc de OK, elle peut les payer plus tout simplement. Et je pense qu'il y a l'idée que tout le monde a un prix, mais en fait, elle a aussi un budget à tenir, et tu peux pas à la fois faire les meilleurs films avec les meilleurs esprits créatifs, avec des talents que tu surpayes parce qu'il faut compenser le fait que tu sois d'extrême droite, enfin, que ta boîte finance un candidat d'extrême droite. Enfin, elle va pas s'en sortir. Et encore une fois, Roman, il est là pour 3 jours, tu vois, genre,
ouais.
C'est pas, en fait, c'est pas dans sa tête, c'est pas son chef. Dans la tête de Roman, c'est lui le chef.
Ouais.
Et ça va être un problème.
Et ça, et en même temps, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que dans la tête de Roman, c'est pas lui le chef non plus, et qu'en fait, il force un peu tout le monde à dire c'est moi le chef, ok. C'est parce qu'il essaie de se forcer un peu lui-même à le penser, parce que je pense qu'il est complètement dépassé par cette tâche qui, en fait, j'ai l'impression qu'il avait envie de l'avoir. Maintenant qu'il l'a et qu'il a plus personne pour lui dire good job ou t'es une merde, et ben en fait, il est là, je suis pas sûr que ce soit
il était pas
job
prêt
pour moi.
Et en soi, j'ai l'impression que Roman, il a jamais tant brigué le poste de PDG, tu vois. Il était impliqué dans les studios. Ça le faisait chier d'être un peu surveillé, babysité par Franck, mais pas parce qu'il voulait être PDG. Je pense qu'il était content d'être évidemment dans les gens qui gagnent des millions d'euros par mois en étant dans le board et d'avoir un poste important, mais il visait pas le top job. Et ça m'a surprise d'ailleurs dans l'épisode où dans l'épisode où il y a le papier où il y a écrit que Kendall doit être PDG, ils décident du coup de, ils font cette discussion avec Shiv, Kendall et Roman sur, en fait il va y avoir le call avec les actionnaires et il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on fait. Ça m'a surprise quand Rom il dit moi aussi je me vois bien dessus, tu vois, mais il dit pas je me vois bien PDG, il dit je veux en être. Il dit normalement comme je suis COO, donc Chief Operating Officer, je suis censé être inclus, donc je veux être inclus. Et c'est, et Kendall il lui dit ok, on peut être co-PDG. Du coup je suis d'accord avec toi, de, il veut pas fondamentalement être le chef, mais il veut que les gens disent qu'il vaut son père.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est bah, plus ça.
C'est un peu le gars, tu sais, qui a la pêche aux compliments, tu vois, pour moi.
Ah
c'est...
bah, il réclame littéralement.
Allez, dis-moi, je suis le meilleur quand même.
Oui, ou alors il dit, j'imagine que tu es en train de te dire que je ne suis pas le meilleur. Et comme je suis ton boss, tu ne vas pas du tout me dire, non, ouais. C'est l'inverse que je pense. Et c'est ça qui, pour moi, Joy, en fait, elle est trop... J'étais la girl, t'as trop la conf dans le fait qu'il va pas être chef longtemps, parce que...
Mais oui.
Et peut-être qu'elle a raison, dans le sens où, oui, Roman lui a dit « you're fired », mais Jerry, le premier truc qu'elle a dit à Roman, on en parlera, c'est « en fait, tu peux pas faire ça sans parler à l'équipe légale et tout ». Peut-être que Joy, elle a toujours son job demain, tu vois.
Oui, c'est voilà, très moi, possible. C'est ce que je pense.
Donc, elle a probablement raison de pas avoir peur de lui, mais j'étais là, girl, t'es quand même très confiante avec ce gars que tu dois connaître être assez lunatique et qui vient de perdre son père et de devenir chef. Parce que son truc sur Groucho Marx, voilà, je trouve qu'elle est sarcastique avec lui.
Ouais.
Et vraiment, quand il lui dit, j'imagine que vous vous dites que je suis là juste parce que je suis le fils de mon père, et qu'elle dit, non, je suis sûre que t'es là pour une très bonne raison. J'étais en mode, meuf, mens mieux, non? C'est ton boss. Et ça, Roman, il aime pas.
Ah non, 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 il aime pas la remise en question, tout ce qui est... ouais, non.
Tout ce qui est lui rappeler qu'il ne vaut pas son père aussi, il n'aime pas.
Et, du coup, et en même temps, c'est très désagréable.
Oui, surtout de la part d'une subordonnée à qui tu viens de dire on ouvre le tuyau Afrique. Qu'est-ce qu'elle veut de plus ?
Qu'est-ce qu'elle veut de plus,
que
en
on
vrai ?
On lui jette de l'argent dessus.
Exactement.
Merde. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à la vie dans le monde de Roman Roy ? Et du coup, il décide de la virer.
Ouais. Bah, en fait, j'adore cette... parce que, pareil, au début, t'es comme elle, tu vois. Je trouve que tu rigoles un peu, tu fais... Il me dit, je vais te virer. Et puis, tu sais, ça vrille d'un coup... Et presque, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Il fait, bah, maintenant que je l'ai dit, j'ai envie de tenir ma promesse, et bah, je vais te le faire. Non, mais en vrai, je vais te virer, parce que j'ai dit que j'allais le faire, donc je vais
T'imagines
le faire.
T'imagines te faire virer comme ça? Genre, tu sors du rendez-vous et t'es là. Du coup, je suis virée, quoi.
Ouais.
Je sais pas, et à qui tu demandes? Quelqu'un à l'info?
Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé, ça, une fois. Ouais.
Promis, c'était pas chez Mademoiselle. C'est pas comme ça qu'Alix est partie, Mademoiselle, avec moi qui dis, ah, bah, je pourrais te virer, bah, tu sais quoi, je le fais. Et Alix, tu fais, d'accord.
Non, mais j'étais dans une boîte de prod, j'étais en stage. Et en fait, bref, il y a une sombre histoire de taxi à l'aéroport qui n'a pas été vue. Enfin, bon, bref.
Qui avait été commandé, mais qui avait été prétendu ne pas avoir été commandé.
Voilà. Donc, en gros, mon boss a cru que je n'avais pas commandé de taxi. Donc, il m'a raccroché à la gueule, il m'a renvoyé des messages à 21h30, tous de longs de une minute, tu vois, pour me dire que j'étais bien conne et que lui avait produit 45 films, dont 3 avec Depardieu. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire, tu vois.
Il a précisé dont 3
dont avec Depardieu, oui.
Quel poker.
mais ouais, et du coup, tu sais, tu sors de ça et t'es là... Tu sais, c'est pour une histoire de taxi.
Ouais.
Du coup, t'es là, c'est aller vite quand même. Est-ce que demain, je vais au travail?
Oui, c'est ça, genre, mais demain à 8h, du coup, je prends le métro.
Il m'a dit, t'es blacklisté du ciné et tout. Et du coup, j'étais là, est-ce que j'y vais?
Du coup, j'y suis allée,
le lendemain matin, il n'était pas là. Et quand j'en ai parlé à ma maîtresse de stage, elle m'a dit, t'inquiète pas, il a déjà oublié ton nom. Donc...
Top.
Voilà.
Bon, bah, tout est bien, qui finit bien.
Non, c'est pour ça que, tu vois, c'est ce genre de... de menaces. Enfin, tu vois, ça peut être un truc qui sort comme ça de son chapeau. Et puis en fait, oui, bon, il l'a dit. Il lui a dit qu'elle était virée. Il l'a pas virée. Il lui a dit qu'elle était virée.
I said you're fired to her. I didn't fire her. Réelle réplique de Roman Roy de cet épisode.
Et, j'adore.
Et aussi, bah, il a aucune idée de ce que ça veut dire avoir un job ou pas, tu vois. Genre, il a aucune idée de ce que ça représente pour les gens d'avoir un travail et d'avoir un revenu et d'avoir un statut lié au travail et tout. Donc, en plus, pour lui, c'est des mots qui ont pas de sens, tu vois. C'est, t'es viré, t'es pas viré, t'es embauché, t'es pas embauché, t'es augmenté, t'es pas augmenté. Pour lui, c'est comme les chiffres. C'est juste des idées vagues de comment il peut avoir du pouvoir sur les gens. Alors Justin dit peut-être que ton directeur de boîte de prod ne préciserait peut-être pas de nos jours qu'il avait tourné 3 films avec Depardieu. Moi, mon avis, c'est que ce genre de gars
ne
se laisse pas abattre comme ça.
Oui, non. Il s'en foutrait complètement que Gérard Depardieu. Justement, je pense qu'il aurait dit on peut plus rien dire, enfin, on peut plus rien faire.
Peut-être que quand tu prod 3 films avec Depardieu, tu le sais déjà. C'était un connard. Tu as l'info peut-être.
Mais oui, et peut-être tu es un connard toi-même, tu vois. Peut-être c'est ça le truc aussi.
Voilà. Oui. Donc oui, bien sûr, Tammy Schmich, c'est notamment du harcèlement, ce que fait Roman à Joy, bien sûr. Après, le harcèlement pour eux, c'est pas tant grave, je pense. Non, je pense pas que ça les empêche de dormir. Et malheureusement, Léo nous apprend, je bosse dans ce milieu en ce moment, c'est une pratique encore courante. Force.
Waouh. Léo. Bon avec courage. Un petit clin d'œil.
Ouais. Bon courage dans le milieu merveilleux du cinéma. On continue avec les CE Bros qui décidément sont on fire et sont en train de décider des trucs puisque Kendall revient à son réel amour qui est le staging, la mise en scène finalement.
Je l'adore.
Il est metteur en scène de sa propre intervention et devant les actionnaires et comme il a décidé que Living Plus allait être the truc à pousser, bah faut tout changer et aussi c'est demain.
Ça, c'est ma passion.
Toi qui connais un peu le monde du théâtre, de la scène, est-ce que c'est réaliste
alors
comme exigence d'avoir des nuages qui viennent d'un show berlinois, ainsi qu'une maison entière construite sur scène dans un laps de temps d'environ 12 heures.
Bah, en fait, ça vient forcément de quelqu'un qui ne connaît pas le théâtre. Tu vois, genre, c'est vraiment quelqu'un qui, en effet, est un petit chef et qui se dit « j'ai une idée, c'est du génie ». Et en fait, j'adore ces gens-là, tu sais, qui se disent « mais attendez, pourquoi personne n'y avait pensé ? » Bah parce que c'était pas faisable en fait, frère.
Oui.
Tu vois, genre et puis
la réponse est simple, c'est pas possible.
Et puis bon, c'était peut-être pas un truc que tout le monde voulait, tu vois. Mais aussi. Il a une idée, donc c'est la meilleure. Et puis personne n'a le droit de lui dire non. Donc bien sûr, c'est complètement impossible. Et du coup, ça me fait beaucoup rire parce que moi, en plus, les nuages, je sais pas si tu les as vus, mais moi j'ai trouvé.
Je les cherche justement.
Je les ai trouvés ok.
Alors les nuages qu'on voit dans l'épisode.
Ouais.
Oui, c'est un genre de brumisateur qui finit par faire un genre de chape.
Une sorte de...
Bon, c'est aussi pas dingue.
C'est pas fou.
J'essaye de retrouver, j'avais vu une photo à quoi ressemblent les nuages auxquels il fait référence, parce qu'il y a effectivement eu un, je sais pas si c'est un show ou une œuvre d'art à Berlin, où il y avait des nuages très réalistes, et je n'arrive pas à retrouver l'info. Donc c'est pas grave, je vous les mettrai dans les notes du podcast si je remets la main dessus, mais c'était peut-être que je la retrouve pas parce que c'était pas très bien sourcé, et que c'était pas trop ça. Donc il demande pas l'impossible, surtout qu'il est déjà à Hollywood, et que construire en soi une maison en contreplaqué sur scène, c'est short d'ici demain, mais ils ont l'air de dire « ok, pourquoi pas ?» Les nuages sont là...
Les nuages, ouais, c'est dur.
Et je pense que c'est une techno assez unique, tu vois. C'est genre, il y a un gars qui a réussi à trouver la bonne hygrométrie, machin. Et aussi, si ça rate, t'as juste un mec qui est vaguement mouillé sur scène, tu vois. Peut-être ça nique les équipements électroniques, les écrans et tout. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de logistique, mais comme Kendall vient d'inventer la nouvelle règle... Personne n'a le droit de dire non.
Allez, mais j'adore quand il le présente comme un jeu. Allez. Et si on disait que personne n'avait le droit de dire non ?
Jacques a dit
non.
Donc là, il est vraiment en full Kendall connard. Et c'est un des leitmotifs de ce personnage, c'est que dès qu'il se sent trop bien dans sa peau, en tant que spectateur, on l'aime pas. Tu vois, c'est genre, ah non, c'est Kendall.
Mais moi, je l'adore.
Kendall qui a la conf. Alors, on aime bien le voir. Oui. Tu vois, genre Kendall qui rappe, c'est top 3 des moments de succession forever, c'est L to the OG, c'est la meilleure chose. Mais on est en mode, je déteste ce mec, tu vois. Genre, j'ai pas envie
mais
de
en même temps, je sais pas, en fait, j'adore son premier degré en fait. Et je trouve que c'est une force que par exemple Shiv et Roman sont incapables parce qu'ils ont trop de protection, tu sais, ils ont trop d'armure sur eux, ils peuvent pas être premier degré.
Oui, alors que Ken, tout le temps,
ouais, c'est ça. Alors que Ken, il peut être premier degré, tu vois, il est un peu libre. C'est un peu un...
He's just a boy with a dream of clouds. Mais oui, il y a un peu de candeur.
Tu vois ouais. Et il y a un côté moins vicieux, tu vois, que Roman, je trouve très vicieux. Mm. Mais Ken, il est il est complètement con, quoi.
Aussi, c'est un problème. Il pense vraiment n'avoir que des bonnes idées. Et malheureusement, cet épisode va montrer que des fois, il a raison. C'est comme ça qu'on finit par garder la conf. Après, la dernière fois qu'on l'a vu avoir ce petit sourire, c'est quand il a menacé Hugo de révéler le délit d'initié avec sa fille pour qu'il sorte le bad dad stuff. C'était la fin de l'épisode 5. Et là, il a ce petit sourire en obligeant ses employés à suivre la règle de « personne n'a le droit de me dire non ». Donc, c'est une candeur, mais qui s'exprime tout le temps dans des moments où il est odieux avec quelqu'un d'autre. C'est jamais quand il fait quelque chose de bien pour quelqu'un qu'il a l'air de se sentir épanoui. Dès qu'il avait tout son rail de, tu sais, Kendall contre le patriarcat et tout machin, bah quand il avait...
Ça, c'était... Oh putain, c'était son bien, père. Ça
Ah, c'était incroyable. C'était vraiment, Kendall Roy qui dit fuck the patriarchy, c'est toujours un mème de l'internet dont je ne me lasse pas. Mais il n'y avait pas ce côté, il a l'air sincère. Tu sentais en tant que spectateur, il s'était écrit et joué comme, bien sûr, un truc de façade, parce que Kendall Roy, en vrai, il s'en fout du patriarcat, tu vois. C'est pas un problème dans sa vie, ça va. Et on voit que premier truc qu'il a fait, c'est évincer la seule meuf de la famille de business. Donc merci. La
lutte après lui avoir dit qu'elle avait sa place juste parce que c'était une meuf.
Aussi, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ah oui, c'est vrai. Et alors que là, il a cette candeur et cette sincérité-là, mais quand il dit des trucs odieux à des gens pour prouver qu'il a raison et que c'est lui le chef.
Donc, j'adore.
Incroyable.
J'adore Lardon Trocuit qui dit dans le chat, Ken, c'est une horloge cassée, il a raison deux fois par jour.
De fou. De fou.
C'est vraiment ça.
Et Stories96 qui dit d'ailleurs Jeremy Strong, donc l'acteur qui joue Kendall, a l'air assez kendallesque dans son côté premier degré, hyper sérieux et deep. Est-ce que t'as suivi un peu les rides? Qui est Jeremy Strong en tant qu'acteur?
Non, je sais qu'il vit à Copenhague avec sa femme et ses enfants. C'est tout ce que je sais.
Il est,
et fait, que c'est lui qui a eu l'idée des vestes Top Gun.
Tout à fait, c'est très vrai. Les bombers de pilotes là qu'il a fait broder pour lui et Roman, est-ce que c'est pas trop chou? C'est une idée de Jeremy Strong parce qu'il était là. Kendall ferait ça, et il a raison. Jeremy Strong, il fait du method acting, donc ce truc de se mettre dans la peau du personnage.
Tout fait sens. Voilà.
Donc il fait ce truc de se mettre dans la peau du personnage et d'agir comme lui, y compris une fois qu'on a découpé. Il a fait l'objet d'un, et ça a effectivement l'air d'être un acteur et une personne assez intense, il a fait l'objet l'an dernier, ça avait fait pas mal de bruit pendant la saison 3, d'un long portrait du New Yorker qu'il avait suivi pendant plus d'un an, et où justement ça avait un peu été la découverte pour le grand public de « Ah ouais, il est intense le fraté », et aussi du fait que, en fait, il y a plusieurs de ses co-stars de Succession qui disaient « Mais enfin, on aime pas trop traîner avec lui, parce que juste... » En fait, si tu finis de tourner et que le gars il continue à agir comme Kendall, t'es là, non mais mec, on a pas envie de traîner avec Kendall dans la vie, tu vois. Et notamment Brian Cox qui était vraiment
rien à foutre.
Et puis il y a aussi, tu vois, il est un peu en mode, mais ça c'est un délire d'américain, le méthode acting, enfin, it's just a job, tu vois, t'arrives, tu le fais, on dit couper, t'as fini, enfin, vraiment délire de personne bizarre de vouloir être à fond dedans, donc.
Ah, mais c'est ça, parce que j'ai vu une interview de. J'ai vu une interview des acteurs et ils devaient dire, genre, qui ressemble le plus à son personnage et tout, ils étaient un peu là, genre, Greg et Kendall.
Oui, mais ce qui est pas très flatteur pour Nicolas Braun.
Non, mais je crois
Braun,
que Nicolas Braun, il rigolait un peu. Genre, ils étaient là, ah bah, Nicolas, c'est vraiment le même que Greg. Hein. Mais je sais pas si...
Il y a un angle chelou dans cette saison. Enfin, il y a un angle méta chelou dans cette saison qui met Greg dans la peau d'un disgusting brother et qui a un angle très... Enfin, Greg, il est ultra sexuel et charmant dans cette saison. Il y a eu des accusations sur Nicolas Braun qui joue Greg.
Oh, non.
De pointeur, en gros, de draguer des mineurs en festival, etc. Il n'y a pas eu de plainte ou de condamnation, mais...
Putain, ils sont shady entre eux quand même dans la...
Et du coup, il y a un peu ce truc de... C'est bizarre qu'ils aient écrit Greg comme ça, si l'acteur... Parce qu'apparemment, c'est des trucs qu'il fait, genre, tu vois, en festoche et tout. Enfin, peut-être tu le vois quand tu traînes avec lui, tu vois, en after party, succession ou quoi. Tu le vois draguer des meufs qui ont l'air... Major-ish, mais pas forcément trop. Non. Et il y a eu plusieurs meufs quand même qui ont dit des trucs. Après, bon, sources internet et gens qui parlent et tout ça, mais c'est un peu bizarre. Du coup, il y a un angle chelou.
Ok, bon, bah Kendall et Greg, Jérémy et Nicolas.
Ça dit des choses, quoi. Et Squazam sur le chat rappelle que Jérémy Strong a fait faire des lunettes de soleil pour Kendall avec les initiales gravées et qu'il a les mêmes avec ses initiales à lui. Donc oui, on est sur...
Aïe. Bon, bah mon préféré, c'est définitivement Matthew McFadden. Et Tom. Je l'aime trop.
Speaking of, t'as déjà joué à Bighty?
C'est... Alors, il y a des scènes gênantes dans cet épisode. C'est la scène la plus gênante à mes yeux. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Ils font ça devant tout le monde, ouais.
En fait, c'est ça, j'étais là. Mais attendez, y a personne qui dit rien, là.
Vous mettez pas tout le monde mal à l'aise en faisant ça, genre.
Puis vous êtes censé aller, enfin, vous allez divorcer, tu vois, enfin, genre, aussi, et tout le monde le sait.
Et c'est pro, quoi. C'est pas une soirée avec vos potes. Déjà, vous en avez pas. Et aussi, genre, c'est un cadre pro de la boîte, que, enfin.
Mais j'ai trouvé ça très bizarrement écrit. On dirait une scène de jeu d'enfant avec Marion Cotillard et.
C'est la meilleure comparaison. Oh, ce film cursed.
Ah, oui, de fou. Ah.
Donc jeu d'enfant, contexte, c'est un film avec Cotillard et Canet. C'est peut-être celui où ils se sont rencontrés d'ailleurs.
Celui où ils se sont rencontrés.
Puisqu'ils ont fini par se marier, n'est-ce pas? Où ils jouent. Donc ils se c'est un garçon et une fille qui se rencontrent quand ils sont petits et qui se mettent à jouer à cap ou pas cap.
Mm-hmm.
Et ça les suit dans leur vie d'adulte et ils sont amis mais aussi amoureux mais n'osent pas se le dire. Et ce cap ou pas cap devient de plus en plus toxique sur. Ouais. Comme on n'est pas capable de se dire qu'on aime et qu'on a envie d'être ensemble, on
va ruiner la vie des autres
avec des défis de plus en plus horribles. Et effectivement, big jeu d'enfant énergie cette scène.
Ah, ça m'a deg. Et franchement, j'étais là, j'aime pas du tout de toute façon ce genre de jeu. Enfin, je sais pas.
Genre les brûlures indiennes, tu mets ton doigt au-dessus d'une flamme et tu vois le premier qui arrête, c'est pas
ouais,
ton truc.
Ouais, j'aime pas. En fait, ouais, ça me met mal à l'aise.
La compète de merde.
Ouais. Je sais pas.
Du coup, t'as pas tendance à faire des concours de morsure avec tes partenaires? Ça fait pas partie de ta parade nuptiale à toi?
Non, pas la mienne.
Peut-être.
Qu'en est-il de toi, Mimi?
Alors, je mords, mais pas comme ça. Pas le bras en pleine soirée pro en costard. Mais je trouve que ça dit aussi de à quel point, notamment Shiv, elle est hors sol.
Ah oui.
Qu'elle se permette de faire ça devant tout le monde. Et à la fois, parce qu'elle est un peu fracasse en ce moment, mais pour moi, c'est un truc de meuf qui est tellement sûre. Enfin. C'est pas comme si elle avait peur d'être virée, tu vois, ou d'être mal vue par ses collègues, parce que pour elle, c'est pas des vraies personnes, elle s'en fout. Et ça en dit beaucoup que Tom, il la suive. Du coup, Tom, c'est peut-être celui qui devrait se dire, bah, je devrais pas faire ça au milieu d'une pièce avec des gens en costard, mais le fait qu'il la suive, c'est que vraiment, il est focalisé sur ma meilleure façon d'arriver à mon but, qui est d'être riche, comme il va l'avouer bientôt, c'est de suivre Shiv, et du coup, de m'adapter à elle, et si elle dit on fait ça, bah, on fait ça, quoi. Et ils ont tout ce truc aussi. Alors, je parle de Baiti parce que c'est quand même le moment le plus. What the fuck? Mais ils ont tout ce truc avant où Shiv, elle croit qu'il veut draguer des meufs. Et lui,
même pas, elle croit. C'est une grosse jalousa, hein. Parce que
ouais,
lui,
pour
il
une
dit.
Meuf qui a proposé la relation.
Ouais,
libre,
c'est ça. Genre, il est là. Alors, tu vas draguer des modèles et tout. Enfin, des mannequins. Et il est là. Non, trop pas. Et elle est là. Et alors, t'aimes bien laquelle? On dirait qu'elle a 8 ans et demi. Ça me gêne.
Mais il y a cet arc depuis le début de la saison où Shiv, elle a l'air de reprocher pas mal à Tom ce délire de Disgusting Brothers et tout. Mais en fait, on sait jamais trop ce qui... Alors, Greg, on a bien compris que visiblement, c'est un gros baiser. Mais Tom, on sait pas spécialement à quel point juste il accompagne Greg dans ses soirées et il le wingman un peu, tu vois. Mais lui, ça veut pas dire qu'il va se taper tout ce qui passe. Et quand bien même, c'est pas très grave, mais ok. Et Shiv, elle a l'air d'avoir cette vision extrêmement genrée en plus, tu vois, de meuf jalouse. Et je suis là, mais on s'en fout. Pour moi, c'est surtout une façon de trouver des trucs à lui reprocher pour pas lui parler du vrai truc qui est tu m'as trahi et tu m'as fait perdre mon héritage en prévenant mon père que j'allais essayer de le garder, ce qui est quand même un sujet un peu plus compliqué que tu veux coucher avec machin. Et Tom, il la laisse un peu le croire parce que je sais pas, peut-être.
Bah, je sais pas, j'ai l'impression que. Tom.
Quel homme.
Non, mais tu sais, il la regarde un peu avec pitié. Enfin, moi, j'ai senti un peu de lassitude et de pitié dans son regard, tu vois, en mode
oui.
Bon, je sais que tu vas pas bien. Vas-y, je te laisse faire des sous-entendus. Et d'accord. Enfin, tu vois, bah non, c'est pas ce que j'allais faire. Mais parce qu'il est tout le temps dans l'honnêteté et c'est aussi le moment qu'il choisit pour s'excuser, tu vois. Et sincèrement, il s'excuse. Il dit, je suis désolée de t'avoir fucked up, tu vois.
Et
c'est
là
qu'elle fait. C'est même pas. Tu m'as égratigné.
Ouais, tu me connais pas.
Non, mais ça a pas la tête.
Avant toi. Et donc, on en apprend un petit peu plus.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur cette. Est-ce que t'as noté sur cette situation dans laquelle était Shiv avant de se mettre avec Tom et ce qui fait que. Bah, elle allait pas bien quand ils se sont mis ensemble, quoi.
Si je me souviens bien, c'est qu'elle était avec un gars.
Ouais,
qui s'appelle
TK.
Et que lui, il est arrivé à ce moment-là où elle était, où il avait dû la lâcher. Je me souviens plus trop exactement.
Il y a pas beaucoup de détails, hein, mais oui, c'est ça. Il parle de ce mec qui s'appelle TK, qui a priori aurait bien roulé sur Shiv, donc peut-être c'est un de ces mecs toxiques, peut-être des cas même plus graves de violence conjugale ou tout. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ça. Et du coup, elle lui dit, You were the one after the one. Donc elle dit en gros celui qui
ça,
m'a vraiment
c'est de la méchanceté
touché et qui m'a vraiment fuck up, c'est pas toi, c'est le mec d'avant. Toi t'as jamais réussi à ne serait-ce que égratigner la surface. Ce à quoi elle lui dit, je pense que j'ai mis quand même un petit petit coup de burin qui est aussi un peu une métaphore de pénétration bizarre. Mais
il y a plein de double sens dans toutes leurs conversations là, cet épisode.
Bah quelqu'un disait Léa sur le chat dit c'est leur préliminaire et c'est vrai quoi, c'est vraiment comme ça qu'ils se chauffent. Et du coup, c'est un peu il requalifie le fait de l'avoir trahi comme bah au moins je t'ai touché, tu vois, genre limite j'ai bien fait entre guillemets ou c'est ça que t'attendais de moi. Et peut-être que c'est un peu vrai parce que Shiv aussi elle est fucked up, on va pas se mentir. Et lui il dit que lui-même et Shiv elle en gros elle lui dit pour moi t'étais celui après le mec à compter. Alors que pour toi, je suis the whole story, genre je suis tout ton monde, quoi. Et il lui dit, non, il y avait une meuf avant qui s'appelait Marie, qui avait quand même... non, mais c'était quand même une histoire un petit peu rocambolesque et tout. Et là, ok, probablement pas, quoi.
Oui.
Je pense qu'elle a raison dans le sens où... Je pense pas je qu'il pense est tombé qu'il a... sur une meuf aussi intense avant Shiv, qui est quand même...
Pas mal intense.
La meuf
un niveau d'intensité... Ouais, de 11 sur 10.
Ouais, environ, ce qui est la moyenne chez les Roy, donc tout va bien. French Fry nous dit, ça met un peu l'emphase sur la complète immaturité émotionnelle de Shiv, gamine de riche fucked up aussi. Oui, ça, ce truc de... Ah non, mais pas du tout, tu m'as pas fait de la peine et tout, c'est aussi... bah, entre jouer à se mordre au milieu de tout le monde en mode jeu d'enfant et pas être capable de, d'admettre que oui, l'autre personne nous a fait de la peine, c'est pas hyper mature.
Ah non, c'est pas mature, non.
C'est pas mature.
Elle est pas honnête dans l'aventure.
Non, non.
Non, ça, c'est sûr.
En attendant que Tom et Shiv aillent plus loin dans leur relation, on a une petite scène que j'ai pas trop aimée, ni comprise, avec Greg qui fait le pitch bot pour Kendall et Roman, où il doit répondre à leur pitch en voix de robot, et où, en gros, il, c'est pour nous faire comprendre qu'il continue à travailler sur Living Plus et à chercher des... des slogans qui fonctionnent bien et tout, mais j'étais là... Qu'est-ce qu'il fait là, Greg ?
Mais oui, moi, en fait, moi, j'ai.
Il le déteste.
Mais en fait, ouais, moi, j'ai pas compris, et je pense qu'il doit y avoir une scène coupée ou un truc comme ça, parce que j'ai pas compris en quoi Greg est revenu dans les bonnes grâces des frères, parce que il est censé être avec Tom, et Tom n'a pas l'air au courant quand même que les frères veulent tanker le deal, tu vois.
Ouais, non, je pense pas.
Parce que tu vois, il dit c'était de la négo et tout. Enfin, tu vois, il a pas l'air. Enfin, en tout cas, c'est
on
jamais
sait pas
dit.
S'il l'a déduit.
Voilà, c'est ça.
Et on sait pas si Shiv lui a dit. Pour l'instant, a priori, non.
Et du coup, est-ce que Greg, c'est un agent double pour Tom et les frères? Enfin, tu vois, genre, il y a. En fait, il y a aucune mention de Greg rejoint ce camp-là, mais où est-ce qu'il se situe? Parce qu'après, il reparle à Tom. Enfin, tu vois, il est dans les deux camps, mais je sais pas pour qui il travaille vraiment. Et surtout, quand est-ce qu'ils lui ont dit qu'il voulait tant que le deal, tu vois? Enfin.
À l'épisode précédent, Kendall avait un petit peu défendu Greg auprès de Madson quand il se moquait de lui en disant « c'est mon cousin, it's my cousin, he's good », vraiment en mode Jersey Shore. Et je me dis qu'en vrai, ils ont tendance à se moquer de Greg quand il arrive avec son histoire de « on est la famille, on est ensemble, on est le quad squad », mais je pense que Kendall, peut-être ça lui parle un peu, ce truc de « whatever happens, c'est la famille ». Et que aussi, il voit pas Greg comme une personne à 100%, donc c'est un peu... Peut-être qu'ils le voient comme un de leurs autres assistants, tu vois, on peut le faire bosser avec nous, contre nous, mais ils se méfient pas de lui, je pense que c'est une erreur. Alors que Ken, il doit savoir, genre, ça a été le premier à savoir que Greg, il avait caché les papiers que Tom lui avait demandé de détruire, et il lui avait dit, l'espèce de Machiavel, j'aime beaucoup cette attitude, mais du coup, il devrait se méfier de lui. Il y a Darvex sur le chat qui dit « Greg, il bouffe à tous les râteliers ». Je comprends pourquoi Greg, il veut être là, et
si
on propose d'être là, il va être là. T'as les deux nouveaux PDG de Waystar, qui sont tes cousins aussi, qui te disent « Vas-y, viens, on va te pitcher des idées. » Tu fais « Oui, 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 bien sûr, ils veulent mon avis et tout. » Mais pourquoi ils lui ont demandé à lui ? Je sais pas.
Je sais pas. Moi, peut-être aussi qu'ils l'ont... En fait, je pense que c'est une scène qui aurait mérité d'être coupée. Mais je pense qu'ils l'ont gardée, peut-être pour la réplique de Roman, tu vois, pour mettre encore un coup sur... Parce qu'à un moment, Roman lui dit « Ouais, t'es viré. » Tu sais, mais pour rire, parce qu'il fait mal le robot. Il lui dit « Ouais, t'es viré. » Donc peut-être c'est une emphase sur Roman est en train de virer tout le monde parce qu'il est en mode Trump, tu vois.
Pour lui, ça devient une ponctuation fired, quoi. Ok.
Je sais pas.
Et alors le prochain truc qu'ils vont faire à Greg, c'est d'aller modifier la vidéo de Logan. Ça, c'est... On va en parler de ce moment parce qu'il est incroyable. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc pour reprendre une des répliques de Carl dans cet épisode de « t'as peut-être ma bite dans ta main, mais j'ai la tienne dans la mienne », c'est-à-dire ce truc de destruction mutuelle assurée. En fait, il n'y a pas grand monde dans la boîte à qui ils peuvent dire « va faire ce truc illégal pour moi ». Et je ne sais pas si c'est 100% illégal de monter une vidéo de Logan Roy qui dit « ça va doubler doubler ouais. les revenus, parce que mentir sur les chiffres, c'est un sujet dans cet épisode. Mais à mon avis, tu peux pas demander à Jerry d'aller dire au gars, va monter la vidéo, tu vois, elle va pas vouloir. Donc il y a aussi ce truc de à qui on peut demander, à Greg, parce qu'il est de la famille, et parce qu'on a du dos sur lui, s'il a du dos sur nous, donc il va jamais nous trahir. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il sollicite Greg
ouais,
aussi.
Ouais, peut-être.
Je sais pas trop. Et alors, quelqu'un dans le chat disait, et je suis assez d'accord, on l'a pas mentionné, Tammy Schmich disait... Je pense que Shiv n'a pas dit à ses frères que c'est Tom qui les a trahis, parce que sinon il lui aurait pété les genoux
c'est
à
vrai.
La façon des Roy, donc probablement ah, en lui disant « You're fired ». Mais effectivement, je pense pas que Kendall et Rom, ils savent
ah non, c'est sûr, ouais, non.
que Tom
bah non, non,
les
sûr.
A trahis. Du coup, ce qui fait que Greg, il est agent double encore plus que ce dont il se dit.
Ouais.
Donc c'est intriguant.
Mais c'est aussi peut-être pour le côté marketing de cette scène où tu sais, ils viennent, enfin ils arrivent avec cette idée de nom... livre de vivre la vie presque éternelle, tu vois, enfin
oui.
Éternelle
Not
plus
eternity,
quoi.
But...
Mort forever quoi.
Oui. Et forever plus.
Ça c'est du génie, tu vois, et ça rajoute au... après à tout le truc en fait, le capitalisme, c'est juste du marketing bien fait, tu vois. Mais ouais, j'ai pas trop non plus compris cette scène.
Mystère. Lardon trop cuit demande est-ce qu'on peut rappeler la trahison de Tom ?
Ah oui. Donc c'est la saison dernière, c'est le dernier épisode de la saison 3, c'est ça ?
Le remariage de la mère de Kendall, Rom et Shiv, du coup.
Si je me souviens bien, mais là, peut-être falloir que tu remettes du contexte.
Bah vas-y, et je complète s'il faut.
Je crois qu'ils étaient... Il fomentait un coup encore les enfants. Shiv a appelé Tom pour lui en parler. Et Tom l'a dit à Logan. Logan, sachant ça, a changé leur testament. Qui a fait, c'est le testament, non?
C'est le
les actions.
De divorce.
Ouais, c'est ça.
Mère.
Voilà.
Parce que du coup, comme ça, leur mère aussi les a trahis. Ils ont vraiment 100% gagné
ouais.
la journée, quoi.
Et donc, en changeant le contrat de divorce, ils n'avaient plus assez d'actions pour faire le coup qu'ils voulaient faire.
Ouais, en gros, c'est ça. C'était déjà la vente à Madson. En gros, ils avaient compris que Logan voulait vendre tout Waystar Royco à Madson et pas. En fait, à la base, dans la saison 3, Waystar Royco devait racheter Gojo, la boîte de Madson.
Oui, oui.
Et sur la fin, Logan change d'avis parce qu'il se rend compte qu'aucun de ses gamins ne va être en mesure de prendre sa succession. Et du coup, il préfère vendre la boîte que leur laisser. Donc, il sort Roman de la discussion avec Madson et il négocie une vente de toute la boîte. Et du coup, les gamins se rendent compte que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent bloquer ce choix-là parce qu'ils ont un super vote. Il faut une super majorité à Logan pour faire ça et sans leur vote, il l'a pas. Donc, c'est le moment où Shiv et Roman, ils vont voir Kendall pour lui dire, OK, on est sur un coup, il faut que tu nous aides. Et Kendall, il est assis par terre en disant, j'ai tué un homme. Ils font, c'est pas très grave, on a tous tué un homme, OK? Tu viens nous aider à Ken Papa.
C'est pas vraiment un homme.
Oui, aussi, genre, ah. Et qui dit, si tu veux, on peut Ken Papa. Il fait, c'est mon activité préférée. Vous m'avez convaincu, j'arrive. Et donc, ils arrivent et tout, machin. Et effectivement, Shiv avait appelé Tom pour lui dire, on va faire ça. Et Tom lui avait demandé, what about me? Genre, où est-ce que moi je rentre là-dedans? Il était là. Oui, on trouvera un truc. Et c'est toute la saison où Tom, il était persuadé qu'il allait aller en prison pour Logan Roy.
C'est vrai
femme,
qu'il
quoi.
Allait en prison, putain.
Donc, et oui, Shiv avait zéro empathie pour ça et il l'aidait pas du tout. Donc, ça a été aussi la goutte d'eau pour Tom de se rendre compte que, comme il lui dit, j'étais coincé entre ton père et toi, et en fait, Shiv, elle va pas prendre soin de lui. Donc, il a jamais vu Logan Roy get fucked. Donc, il est allé voir Logan Roy et lui dire, tes gamins, ils vont essayer de bloquer le deal en faisant ça. Ce qui a donné Logan le temps de parler à leur mère. De revoir le contrat de divorce, de leur enlever cette super majorité au niveau des votes. Je sais pas si c'est un truc de nombre d'actions ou si c'est juste
oui, c'est
un
ça,
truc
c'est
de
la super majorité, ouais.
Et du coup, ils se sont fait vendre leur entreprise et c'était montré à la fin par Logan qui mettait une main sur l'épaule de Tom en sortant et Shiv qui était la seule, effectivement, ses frères le voyaient pas, qui était la seule à le voir. Et donc, c'est son deuxième gros secret. C'est non seulement je suis enceinte de mon mari, mais aussi mon mari, enfin, mon futur ex-mari, mais aussi mon futur ex-mari m'a trahi. Elle ne l'a pas dit. Indeed.
Ah, c'est vraiment clair. La maison des secrets.
Ah bah moi je suis pas venue ici pour faire des amis, ok.
Ah ouais, là je suis venue
pour
jouer.
Gagner. Speaking of gens qui sont pas venus ici pour se faire des amis, cette scène du pitchbot est interrompue par Jerry qui vient dire à Logan, à Roman, et oh, viens la gamin, faut qu'on parle, qu'est-ce que t'as fait là, virer des gens. T'en es où sur Roman et Jerry, toi?
Bah en fait.
Est-ce que tu les ship un peu?
Je les ship?
Est-ce que t'étais un peu en mode j'ai envie qu'ils soient ensemble? Quand ils étaient dans leur Zumba, ils se font du fun sex bizarre.
Non,
et tout.
Non.
Non. Non. Ah non, t'as l'air gênée, t'as l'air dégueulasse.
Bah non, j'étais pas bien parce que c'était complètement déséquilibré comme relation en plus. Enfin, tu vois, y a rien qui allait.
Dans les deux
c'était...
sens, quoi. Ça ne marche pas.
Enfin, c'était pas incestueux, mais tu vois, c'est presque une meuf de la famille. Enfin, tu vois, c'est. Ah oh, non.
C'est la marraine
non,
de
non,
sa sœur. Ouais. Elle lui a clairement, peut-être pas changé les couches, mais tenu les mains pendant qu'il apprenait à marcher, c'est sûr, quoi.
Donc non, j'étais pas pour eux. Toi, t'étais pour eux? Ouais.
Non, mais j'ai pas détesté. Ça aurait été marrant, quoi. Je me doutais que ça allait probablement pas se concrétiser physiquement parce qu'il y a tout ce truc de Roman, il a l'air d'avoir des problèmes pour performer. Mais en même temps, je me disais peut-être que ça fait deux saisons qu'ils nous disent Roman, il arrive pas à bander pour nous dire en fait, il arrive à bander quand c'est Jerry, cette figure maternelle, qui lui parle mal et peut-être qu'ils vont, sans dire le coït total, mais pas faire que ça plaît. Mais comme après, Jerry, elle lui disait arrête de m'envoyer des dick pics, c'est que il s'est passé ce qu'on sait avec la dick pic. Pour moi, c'était sûr que ça allait pas repartir de plus belle, cette histoire. Mais je pas détesté cette storyline.
Non, mais moi non plus.
J'aime bien.
Oui, c'était malsain.
C'est un peu BDSM et tout, j'aime bien. Oui. C'est intéressant, quoi.
Oui. Mais bon. Moi, c'est le côté, c'est fait partie de la famille et tout, je suis là.
Oui, et quand tu vois dans... C'est pour ça que je disais c'est déséquilibré dans les deux sens. Ouais. De l'autre côté, Jerry, par rapport à Roman, il est où son pouvoir total de consentement? Parce que c'est le fils du boss et que, tu vois, c'est... Mmh. Et au final, on voit que quand Roman lui a envoyé des dick pics,
c'est elle qui a été
virée. Logan, ouais, il voulait la virer. Et Roman a décidé de s'inspirer de son père à ce moment-là. Est-ce que c'était pas la meilleure scène de Jake Cameron Smith qui joue Jerry depuis, genre, le début?
Ouais, elle est vraiment... Super, moi j'adore cette actrice.
Ah ouais.
Et j'adore son implication dans son rôle. Ouais, elle est méga belle. Et d'ailleurs dans le dernier épisode de Succession, enfin du podcast de Succession de HBO, la journaliste lui dit il faut que vous retrouviez un job après ça. Elle fait je suis pas sûre de pouvoir y arriver. En mode sous-entendu aussi, il y a tout le truc agiste de Hollywood, oui, tu vois. Et je trouve que c'est un super beau rôle pour une femme de plus de 50 ans à Hollywood, tu vois.
Carrément.
Et dans une série, ouais. Et dans une série où il y a très peu de femmes déjà, parce que c'est représentatif de ce milieu-là. Mais bon, ça reste une série, voilà, on est en manque de femmes, donc j'adore ce personnage et je suis vraiment à fond pour elle. Et ouais, non, je trouve que c'était vraiment un climax, si on la revoit pas tant que ça après, tu vois, je suis là,
c'est une bonne dernière scène, ouais, phare.
C'est une bonne dernière scène phare. Après, je pense qu'on va la revoir, bien sûr, mais ouais, en fait, le côté aussi, la voix tremblante qu'elle prend quand, elle dit, mais si, je suis bonne à mon taf. Parce que
I am good at my job.
Mais parce que c'est ma bichette, c'est la seule chose qu'on peut pas lui dire, tu vois.
Mais
Jerry.
Ouais, et surtout, mais tu es qui pour parler? Tu vois, le gars, he has never worked a day in his life.
Ouais,
et
c'est clair.
Il vient lui dire, peut-être que t'es pas assez bonne à ton job, je vais prendre quelqu'un de mieux. Et elle sait pourquoi il le fait, tout comme elle savait qu'elle était virée pour les dick pics, tu vois. Et son job, genre 50% de son job, c'est de faire comme si elle savait pas et de pas dire au gars, c'est vraiment très patriarcal ce que tu fais parce que sinon t'arrives pas à être Jerry à ce niveau-là. Mais elle le sait et là, c'est une des rares fois où ça sort, quoi. Ouais, là, Roman, tu vas pas me prendre pour une conne. Je suis bonne.
Mais parce qu'elle oublie là qu'elle est plus dans sa relation avec lui privilégiée, entre guillemets. Là, c'est lui le boss et il est dans un autre monde, donc en fait elle a complètement oublié elle a complètement oublié ça et donc elle se permet de dire, comme dit Léa dans le chat, la phrase le dire ou le penser, quand du coup Roman lui demande de lui donner plus de respect et
de dire
qu'il est aussi bon que son père, et elle dit le dire ou le penser.
Mais mic drop, mais punchline, quoi.
Et elle a expliqué que du coup, ils ont tourné plusieurs versions de cette scène.
Oh.
Ouais, ils ont tourné une version où elle prenait une gorgée d'eau et qu'elle la crachait, elle la crachait sur la vitre et tout. Qu'il y avait un moment où elle répondait pas aussi. Enfin voilà, ils ont vraiment tourné plusieurs. Et je trouve que c'est celle qui marche le mieux.
C'est très Jerry comme réponse, ouais, parce que c'est incisif de fou, quoi.
Ouais. Mais après, tu vois, elle essaie de polie et elle essaie de se rattraper après. Tu sais, il se parle un petit peu dessus juste après et elle dit non, mais je sais plus exactement ce qu'elle dit. Non, mais parce que t'es dans une position super différente de ton père, oui, tu vois. Elle dit un truc comme ça pour essayer de se rattraper,
oui,
mais c'est trop tard.
Et elle dit, en fait, la tech va vous bouffer. Il y a aussi un aspect, ouais, business dans ce qu'elle lui raconte de pourquoi il faut vendre à Madson, parce qu'on peut pas gagner. On est une vieille entreprise du vieux monde, des vieux médias. L'avenir, c'est les gars comme Madson et les boîtes comme Gojo. Et si toi, Roman Roy, tu veux continuer à avoir un avenir dans ce monde, tu devrais t'en rendre compte. Et elle lui dit, ton père l'avait compris, quoi. C'est le seul truc qui compte à la fin, c'est la thune. C'est pas vos projets de Living Plus ou machin, on s'en fout. À la fin, c'est eux qui vont gagner. Donc autant leur tirer le plus de thunes possible. D'où l'intérêt de faire le deal. Et elle utilise le mot Genre spontanément, elle dit « Tu es un monarque affaibli dans un interregnum » en latin, quoi. Donc une période entre deux rois, littéralement. Chérie. J'étais là, mais tellement cultivée. Mais qui parle... En vrai, je suis pas sûre que dans le monde corporel, que les gens parlent avec des aussi beaux mots, tu vois.
Je suis pas sûre.
Mais j'aime à croire. On claque des petits interregnums comme ça. Et tout de suite après, Roman va voir Kendall pour lui dire
« Au fait...
Peut-être que j'ai... » Alors, il commence en lui disant pour Joy, des studios. Et Kendall est là, ok.
C'est un move intéressant, oui, pourquoi pas. Il faut qu'on fasse des gros moves pour s'affirmer en tant que CEO, puisqu'on veut devenir des vrais CEO.
Tout à fait.
Donc, pourquoi pas. Vas-y, dis-moi ta justification. Elle m'a cassé le couille.
Elle a mal parlé.
Elle a pas
elle
dit bonjour.
Elle m'a pas respecté. Du coup, elle a niqué sa mère.
Non, mais voilà. Mais j'adore quand Roman, il dit « Tu me respectes pas, Jerry ?» Alors qu'il lui a littéralement envoyé des dick pics il y a 2 mois, tu vois.
Sans son consentement, quoi. On est où, là?
Top.
Et il informe quand même Kendall que Jerry est pas ravi qu'il ait viré Joy et que du coup j'ai un peu viré Jerry aussi.
Jerry, la marraine de Shiv.
C'est marrant non qu'il en parle comme de la marraine de Shiv.
Oui.
Genre c'est pas le premier truc où.
Bah c'est. Enfin,
c'est pas le rôle.
C'est la mif
fait,
quoi.
Tu vois. Mais oui c'est la mif. Et c'est aussi une meuf et est-ce qu'on est sûr? Mais comment t'as lu à ton avis? Roman, il cherche quoi quand il vient dire ça à Ken? Est-ce qu'il cherche à être applaudi? Ou est-ce qu'il cherche à ce que quelqu'un lui mette un frein peut-être et lui dit « Mec, tu déconnes ?»
Ah, c'est intéressant cette théorie, parce que bah, c'est ce qu'il cherchait chez son père aussi, tous les deux, tu vois. C'est oui. Des freins et qu'on leur dise « C'était qu'une merde », tu vois.
Qu'on les bolosse un peu.
Ouais, bah ils se branlent vraiment sur, littéralement sur le fait de « démerde », tu vois. Donc c'est toujours en fait il faut que eux ils montent jusqu'au sommet et qu'on leur jette des cailloux pour qu'ils redescendent, tu vois. C'est Sisyphe finalement.
Oh là là, c'est trop. Oh.
Mais là ouais, peut-être c'est peut-être ça qu'il vient chercher, mais sauf que l'autre est tellement dans son trip de son côté et c'est en ça tu vois que les frères et sœurs ils sont complètement bah c'est pas ils sont vraiment plus ensemble parce qu'ils sont chacun sur leur chemin de deuil
ils
et
sont
sur
chacun
leur chemin
le main
de...
caractère de
ouais.
Leur propre histoire.
Et donc il est là OK bah OK t'as fait ça bah, pas de souci c'est comme en TPE tu sais où t'as l'impression que tu prends 3 storylines différentes pour le TPE mais pourquoi pas chacun travaille et puis on mettra ensemble après à la fin tu vois
ça ne marche pas généralement s'il y a pas d'intention commune vous allez faire un truc Frankenstein avec des bouts scotchés et mal recousus. Mais Kendall effectivement il est en soutien de la décision de enfin en tout cas il essaye de en fait il fait du spin il fait un spin truc de spin doctor donc de d'expert des médias qui voilà t'as je sais pas demain tu te fais cancel un spin doctor c'est le mec qui va te dire voilà comment essayer de transformer ça en truc positif comme ça tu peux faire une histoire de renaissance tel
oui,
le
voilà.
Phoenix par exemple. Sans vouloir parler de gens qui ont sorti des vidéos récemment après avoir été cancel il y a pas beaucoup de temps parce que c'est des gros pointeurs. Et du coup, Kendall, il a ce truc de spin doctor puisqu'il est là en mode donc, Shiv, la marraine de... Enfin, Jerry, la marraine de Shiv. Ok. C'est quoi ?
Next
les
step.
Deux jeunes audacieux à la ouais. Tête de Waystar font des big moves pour dépoussiérer la boîte.
Lui, je l'adore, il est toujours
lui
en mode marketing.
Média,
ouais, c'est le délire, lui. Il est vraiment très fort.
Donc ça marche, quoi. Bonsoir, Katel, qui vient d'arriver. Et moi, je l'ai lu comme Roman, il va lui dire « Mets-moi un frein », tu vois. Genre,
ouais.
Je pars en couille.
Non, mais je pense que t'as raison.
Et en plus, l'épisode précédent, il est parti en couille avec Madson, un peu à l'encontre de ce que Kendall et lui avaient décidé, qui était « On y va subtilement, il faut qu'il croie que c'est son idée ». Et on n'a jamais eu la résolution de « Est-ce que Kendall, il lui en a voulu d'avoir dit les choses clairement à Madson et de s'être emporté ou pas ?» Visiblement non, mais je pense que Roman, tu sais, il a ce truc dans sa tête de je sais que je fais de la merde. Pourquoi personne me dit que je fais de la merde?
Eh, parce que c'est ça. Mais en fait,
normalement,
si,
les
y a
gens
des gens
disent que je fais de la merde.
Bah Joy et Jerry, elles lui
pas
disent.
Pas des vrais gens.
Mais
ça,
c'est pas des
femmes.
Vrais gens. Voilà, c'est des femmes et c'est pas son père. Et donc il va chercher, je pense. T'as raison, je pense le père quelque part. Donc peut-être son frère. Ouais.
Bah oui, puisque Kendall prétend être Logan. Du coup, je pense qu'il va chercher à être ralenti, en tout cas pas à être félicité, mais comme. Comme Kendall arrive à spin ça en positif, bah Roman il est un peu en mode. Ok.
Et j'ai une T, une O, une RI, une théorie.
Incroyable.
Est-ce que du coup Kendall, alors c'est peut-être tiré par les cheveux, j'en sais rien, mais Kendall du coup écoute ce que Roman a fait et se dit. Est-ce qu'il se dirait pas s'il fait vraiment n'importe quoi et il le laisserait faire n'importe quoi pour qu'il se fasse virer
il le
et
laisse
que ce
aller
soit
dans
le seul CEO?
En vrai, j'y crois. Je pense qu'au moins inconsciemment, il y a
ouais.
Un peu de ça. Ouais.
Tu vois, il le laisse faire. Il est là, ouais, vas-y, fais ce que tu veux, ouais.
Ouais, ouais. Je pense que consciemment, l'histoire qui se raconte, c'est moi, j'ai trop été brimée de mon père, il me laisse pas diriger comme j'en ai envie, il me laisse pas suivre mon instinct businessman, donc je vais pas faire ça à mon frère, on est ensemble et tout. Et au fond.
Aïe, aïe, aïe. Ouh, j'ai là. Pas vu. Aïe, aïe, aïe.
C'est bon?
Allez, j'avais les jambes nues.
Yes, sorry, c'est le chat. Attends, je gère. Quel con ce chat.
Ça va, elle va pas tomber?
Non, non. Bah, non, oui, bah je oui. sais, mais bon.
Oh, bah, j'ai
Peut-être que si tu plantais pas les invités, je serais pas obligée de te soulever. Ça va?
Ouais, ouais, ça va.
Ok. C'est pas beaucoup plus agréable quand on a un pantalon, non, mais jambes nues, c'est pas fou. Désolée. Il y a un accident de Momo qui a décidé de faire la varap sur les jambes d'Alix, qui est extrêmement de jambes et qui est juste donc venue en robe.
Voilà.
Je peux plus te prévenir que c'est risqué.
Non, mais j'ai mis ma robe sur mes jambes là, désormais.
Très bien. Je vais essayer de surveiller aussi. Que, généralement, je te préviens quand elle arrive parce que ça surprend toujours les invités. Ah
c'est vrai okay. que je l'avais pas vu.
Donc, back to Kendall. Effectivement, je pense que s'il y a un aspect de lui qui se dit au pire, il se crache, c'est pas moi. Mm-mm. Il y a un peu de ça. Et Sika dans le chat dit que ce serait un move tellement Kendallesque. Mm. Donc j'aime bien. J'aime bien cette petite théorie. Bon, bah c'est le moment de Tom et Shiv. Post-coït.
Attention.
The floor is yours, Alix Martineau, parce que je sens qu'on a un plaidoyer là.
Non, mais c'est ma scène préférée. Je trouve que c'est la scène la plus romantique de tout Succession. Voilà.
Oui, ça dit aussi beaucoup de choses sur à quel point l'amour a pas une place prépondérante dans Succession.
Et en même temps, moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois, en rematant cet épisode, et je me suis dit, mais attends, nous, on a une idée un peu préconçue de ce que doit être l'amour, tu vois, et on nous met des idées romantiques et tout dans la tête, tu vois. En réalité, l'amour, ça revêt plein de formes différentes. Et chez les gens, en effet, qui ont... Alors, je pense pas qu'ils savent pas aimer, même si longtemps j'ai cru, mais je me dit, ils s'aiment entre eux quand même, tu vois. Enfin, il y a un amour entre eux, à leur façon. Et du coup, là, c'est juste Tom qui explique « Moi, je t'aime à la façon dont je peux t'aimer et je pense que tu m'aimes aussi de la façon dont tu peux m'aimer, tu vois. »
Oui, je pense que Tom, il est moins incapable d'amour que Shiv parce que, bah, a priori, déjà, il a l'air d'avoir des parents un peu aimants et normaux. Ce qui est littéralement un sujet de blague dans les premières saisons. Les Roy se foutent de lui en mode « avec tes parents sympas, je suis là. » C'est pas vraiment une insulte, mais d'accord. Et aussi parce qu'il est pas ultra riche de base, donc de raison d'être une personne un peu plus normaux. Mais Shiv, elle peut pas aimer autrement, enfin, elle peut pas aimer normalement. C'est le max qu'on puisse attendre d'elle. Et du coup, ça, ils peuvent trouver un terrain d'entente. Comme Willa et Connor, un petit peu. C'est pas
ouais, c'est ça. Et puis même, je trouve que tu vois... alors après, voilà, ça va être de droite ce que je dis, attention, mais en même temps, pas tant.
C'est rare sur cette chaîne, donc profitez.
Non, mais en fait, la valeur de la pauvreté et de l'amour est plus fort que l'argent et tout, c'est un truc super catho et très... c'est une valeur catholique, tu vois, les vœux de chasteté et de pauvreté. Et bah en fait, on sort un petit peu de ce modèle-là aussi, qui vient justement de l'Europe, enfin tu vois, très européen,
oui.
Et dont les Américains s'émancipent largement, puisque c'est très libéral comme pays. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est une réalité, tu vois. Et je trouve que leur amour, il est pas fantasmé. C'est la vérité. Quand t'as un confort, quand t'es riche... mais même que t'es moins riche, mais que t'as un certain niveau d'argent, tu vois, bah, par exemple, j'ai augmenté mon niveau de vie.
Bravo.
Je me vois pas revenir en arrière, tu vois.
Oui, ça va rentrer dans tes critères.
Ça va rentrer dans mes critères.
De partenaire, c'est quoi le niveau de vie qu'on peut avoir ensemble?
C'est ça. Et je suis pas sûre que, par exemple, quelqu'un qui serait étudiant aujourd'hui, qui aurait pas le même niveau de vie que moi et qui peut pas, je sais pas,
Aller à Miami
ou en Sardaigne ou voilà.
Ou apprendre le surf.
Mais voilà. Non, mais tu vois, c'est un truc qui compte.
Ouais.
Et d'autant plus pour ces gens-là, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement honnête que je pense qu'il y a de l'amour là-dedans plus profond parfois qu'un truc fantasmé où, en effet, allez, on quitte tout, on va vivre dans un mobil-home et juste d'amour et d'eau fraîche. En vrai, c'est un truc qui n'existe pas, tu vois.
N'importe où par amour, Tom Wamsgans.
Non, mais t'as vu. Et le aussi, tu viens, c'est « Are you coming ?» qui a un double sens énorme, tu vois, de est-ce que ça t'excite, tu vois? Et bah bien sûr que non, ça l'excite pas.
Bah non, ce qui les excite, on le sait quoi.
C'est niqué dans la thune, dans les billets sur le lit, tu vois, c'est ça qui les fait kiffer, c'est ça, c'est d'être drunk on power, tu vois, et d'être et moi,
et de se mordre aussi mutuellement pour voir lequel lâche en premier.
Ouais. Et je trouve que c'est des émotions qui sont différentes de ce qui nous est donné à voir en termes de romantisme dans la pop culture en règle générale. Et du coup, j'ai beaucoup aimé.
Bah écoute, je suis assez d'accord. Ah, merci pour cette analyse, même si Néon sur le chat dit « Ok, Alix déteste les pauvres. Ton secret est révélé. » Voilà, désolé. Parle de ton prof de reggaeton.
Quoi ?
Madame Louis nous dit « C'est le même problème qu'avec le prof de reggaeton d'Alix. » J'en déduis que tu as eu une forme de crush sur un prof de reggaeton qui était trop prolétaire pour toi. Ça doit
non,
être ça,
non, non, c'est pas ça. C'est sarouels. Mon prof de reggaeton qui a un crush sur moi. Et
tu peux le blâmer.
Et voilà, et je n'ai pas poursuivi, notamment parce qu'il était beaucoup
prof
plus
de
jeune que moi. Oui, et puis, enfin, bon, voilà, il est beau gosse, mais voilà, je n'aurais pas beaucoup de choses à lui dire, je pense, en dehors de.
Oui.
C'était bien le cours lundi, bon, voilà. Mais non, c'est pas parce qu'il est pauvre hein, que je vais pas sortir avec lui. Non, parce que. Mais je dis juste que c'est. En vrai, c'est. Je pense illusoire de dire que c'est pas important.
Oui, je suis d'accord. Et en fait, c'est déjà. C'est relativement récent. Enfin, je suis d'accord avec le truc de l'amour romantique tel qu'on le comprend. C'est une construction sociale qui vient de plein de trucs, mais il n'y a pas si longtemps et ou dans d'autres cultures, même encore actuellement, on se marie pas par amour.
Mm-hmm.
Et on se marie en bonne partie par intérêt financier. Mais généralement, c'est l'inverse en termes de genre. C'est l'homme qui provide, tu vois, et qui va acheter parfois carrément avec des systèmes de dot et tout sa compagne. C'est quasiment un mariage arrangé, même si c'est des gens qui se sont plus ou moins choisis, mais ils sont choisis en partie parce que Shiv, elle a en partie choisi Tom parce qu'elle pouvait lui rouler dessus et qu'il serait jamais... En fait, il sait qu'il vaut moins qu'elle.
Mm-hmm.
Et elle a besoin d'un mec qui sait ça. Et lui, il a en partie choisi Shiv parce qu'elle peut lui permettre le train de vie.
Et en même temps, je sais pas si elle... En fait, c'est très bizarre sa façon... Parce que les moments où elle l'aime le plus, c'est où il la traite comme une merde, tu vois.
Ouais.
Enfin, où il lui dit la vérité. Donc finalement, c'est peut-être pas vraiment lui rouler dessus qu'elle veut.
Mais je sais pas s'il la traite comme une merde quand il lui dit
non,
la
non,
vérité.
Non, non, il la traite pas comme une merde, ouais, t'as raison.
Même son truc sur tes lobes d'oreilles, ils sont trop charnus. Je suis là, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est pas. Il lui a pas dit un truc genre, ah ouais, bah, tes frères, ils te donneront jamais le pouvoir parce que t'es une femme, tu vois, et qu'ils te respectent pas. Ce qui aurait été genre, mec, je vais pas avoir envie de te toucher le zob maintenant que t'as dit ça vraiment. C'était du flirt à leur façon, donc du flirt avec de la violence dedans et avec j'ai envie de te faire du mal, mais pas vraiment, tu vois. On va jouer à se mordre, mais on va pas jouer à se cogner dessus. Même si c'est pas très sain. Et je pense que ce qui interroge, peut-être qu'on comprendrait mieux cette dynamique si c'était une femme qui dit à son mari milliardaire, en fait, je m'attends aussi à un certain niveau de vie et je suis avec toi pour que tu me le provides, parce que c'est le rôle, genre, dans cette société genrée, c'est plutôt inversé comme rôle. Donc c'est intéressant de voir une jeune femme comme Shiv être dans le rôle de son mari dépend d'elle pour son train de vie à lui. Alors qu'il a quand même un super bon job, tu vois.
Oui.
Il est genre numéro 2 de ATN, donc ça va, hein, je pense qu'il gagne sa thune, mais il veut plus de thune. Et je suis d'accord avec toi que c'est la scène la plus romantique, déjà parce que c'est une des rares où les gens ils sont sincères et où ils se disent les choses. Ils sont honnêtes sur ce qu'ils veulent. Et tu peux pas faire un truc qui a l'air... Enfin, tu peux pas faire de l'amour sans sincérité. Du coup, c'est forcément une des scènes les plus amoureuses. Et quand je dis c'est le max qu'on aura dans Succession, je suis pas forcément en mode c'est une mauvaise chose, tu vois.
Pour
moi, c'est comme Willa et Connor, je suis
ouais.
là. Si ça vous va, vous êtes pas capable d'avoir... de l'amour désintéressé. Donc peut-être que la solution, c'est juste de trouver l'amour intéressé qui vous va.
Mais c'est vrai que toi, dans le... C'était toi ou c'était Mathias qui disait dans le dernier épisode que l'amour est toujours intéressé?
Ouais, l'un des... Je pense qu'on est un peu alignés les deux là-dessus, tu vois. Et même... Enfin, là, on parle de trucs un peu pratico-pratiques d'argent, mais tu
ouais.
vois, par exemple, ça rejoint aussi des projets de vie. Moi, je pourrais pas être avec un mec qui veut des enfants.
Bah
parce
voilà,
que moi, j'en
ça,
veux
ouais.
pas. Et qu'on a été élevé dans cette idée, mais qui peut être considéré comme égoïste dans d'autres cultures, de « je vais pas me mettre avec quelqu'un qui me permet pas de faire ce que je veux de ma vie
».
Donc, pourquoi ça nous choque quand c'est quelqu'un qui dit « moi, ce que je veux faire de ma vie, c'est d'être blindée ». Et du coup, toi, t'es blindée, meuf, et quand je t'ai épousée, je pensais que je serais blindée. Et un jour, j'ai eu l'impression que t'allais me laisser de côté, et j'ai été voir l'autre personne qui allait me rendre blindée, à savoir ton daron. Et en même temps, on est en train de rationaliser un mec qui a trahi sa femme et tout. Tu vois, ça arriverait à une de tes potes, je pense que tu serais là, mais quitte-le
ah, mais
et ne lui reparle plus jamais.
Mais bien
de la
sûr.
Vie et ne va pas lui retoucher le zob.
Et en même temps, si je savais que ma pote, elle lui parlait comme un chien et tout, et que. Enfin, tu vois, c'est quand même.
Et
elle a
échange,
quand même
elle a
été
accès
odieuse.
À un jeu privé.
Ouais. Aussi. Mais je pense que, aussi, elle comment dire, ça l'excite, cette vérité. Et tu vois, elle arrête pas de lui dire, ah, truth bomb, from the. Phony man, parce que c'est vrai que Tom, ça a été un hypocrite pendant super longtemps, et je pense que c'est ça qui l'agaçait chez lui. Alors que maintenant qu'il lui dit la vérité, parce que c'était un petit peu ça, tu sais, quand il jouait à se faire du mal avec les mots, là, mm-hmm. qu'elle lui disait « je suis trop bien pour toi » et tout. Ouais, en vrai, ouais. c'est la vérité. Et mais en fait, oui, elle veut
le
jouer...
Le dirty talk de l'angoisse, là.
Ouais, c'est le dirty talk de... Vas-y, on se dit les vrais trucs qui font mal, mais qui sont vrais, tu vois. Et là, il dit les vrais trucs qui sont... Et qui sont vrais et qui font un peu mal, parce qu'au début, elle est là, qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Attends, pas
t'es
pur
en train
ton
de me dire
amour.
Que t'aimes l'argent, hein.
Attends, quoi?
T'es un peu avec moi pour ma thune, hein.
Ouais, mais en fait, j'adore ce... Parce qu'elle fait une sorte de hon-hon. Elle fait hon-hon. Et genre, il a pas dit ça. Alors je suis là.
C'est ce truc très bourgeois.
T'étais en jet privé avec Lucas Madsen, c'est drôle, tu vois. Oui. C'est les valeurs méga cato, en fait, de.
On est censé se laver les mains de cet voilà. argent et ne pas le désirer. C'est sale de le vouloir. Mais à la fin, ils sont quand même tous depuis 4 saisons en bisbille, en partie pour qui va garder le pouvoir représenté par la thune. Et d'ailleurs, Tom, il lui dit, bah vas-y, fais-le, toi.
Ouais.
Lâche tes bijoux, lâche tes maisons et on va vivre ensemble dans un trailer park. Et ce rire partagé, pour moi, c'est leur meilleure déclaration d'amour.
Ouais,
tu
c'est
vois,
clair.
C'est... Mais d'ailleurs, on va pas faire ça, lol. On est grave là pour la thune.
On déteste les pauvres.
Moi, c'est la scène qui m'a fait me dire, Shiv et Tom, ils finissent ensemble.
Ouais, moi aussi.
Et c'est tragique pour leur enfant à naître, je pense qu'il va être fucked up aussi. Mais ce sera une des happy ends, peut-être, de la fin de Succession. C'est ok, là, ils sont alignés, c'est bon.
Ouais.
Bravo au meilleur couple. Hello! And sometimes, c'est Soraya. C'est ma copine
Soraya. Oh, hello Soraya.
Hello Soraya. Greg va demander à un ingé son qui ressemble étonnamment à Yvick, Mister
oui, V. Oui, c'est vrai.
De faire un deepfake de Logan Roy pour lui faire dire autre chose. Et on retrouve ce truc que Greg avait quand il essaye de d'arronner Kerry, mais qui lui était bien revenu dans la gueule avec Kerry, parce que Kerry, elle était en mode « En fait, je suis la meuf de Logan Roy.
Ah, » oui,
Donc
oui.
tu te calmes. C'est qu'il est hyper directif. Enfin, il est toxique avec le gars, quoi. Il est vraiment en mode « Tu fais le truc !» C'est comme ça. Il n'a pas décidé d'être un manager.
Snippy Snip.
Mister Snippy Snip. J'ai adoré Mister Snippy Snip. Évidemment, Snip Snip, c'est ma passion.
Bah ouais, j'ai pensé à toi. Franchement, j'étais là. Celle-là.
Je pense que c'est une rêve.
C'est ouais, c'est une rêve.
Bien sûr, de Jesse Armstrong.
C'est une
rêve. Merci à lui.
Rêve aurait cap rigolo.
Est-ce que tu t'es dit, ok, le mec va le faire, mais ça va être horrible et il y aura un truc gênant.
Ouais.
On voit que c'est un cut. Ou est-ce que tu t'es dit qu'il allait le réussir?
Moi, j'ai cru qu'il allait pas y arriver parce que, alors, étant dans cette position régulièrement, de gens qui me disent, tu pourrais pas faire, tu sais, qui m'envoient un truc fini et qui me disent, tu peux baisser la musique à ce moment-là? Je suis là, bah non, parce que t'as pas deux pistes, donc comment te dire, à part refaire le truc, tu vois. Et donc, je me retrouve souvent dans cette position-là et donc j'étais là.
Et en fait, j'ai vu beaucoup de gens dire, ça me rappelle, j'ai trop des flashbacks de taf. Il y a Linoun qui dit snip snip, j'ai explosé de rire et j'ai dû expliquer la vanne à mon cum. Merci de répandre la bonne parole de l'amour du snip snip. Et juste après ça, on voit la scène où il y a cette fameuse phrase numbers aren't just numbers, they are numbers. Donc,
numbers.
Les chiffres, c'est pas juste des chiffres,
c'est des chiffres.
Parce que dans Succession, ils adorent parler en phrases qui veulent tout dire et rien dire. Ken est en train de mettre la pression à un mec pour.
La Pete. Pauvre Pete.
Grossir un peu au moins les chiffres.
Ouais, ou au moins les traficoter, quoi. J'adore.
Ouais.
Oui, mais si on disait par exemple qu'on en mettait deux fois plus,
mais,
ça ferait quoi? Et il fait des sortes d'additions, soustractions, comme ça. Et puis l'autre, là, il sue.
Bah, l'autre, il comprend que les chiffres, c'est. Donc, comment tu la comprends, toi, cette phrase? Les chiffres, c'est pas des chiffres, c'est des chiffres.
Bah, en fait, pour moi, c'est. Les chiffres, c'est pas. Tu dis un chiffre. Les chiffres. C'est, il découle d'autres chiffres.
Oui,
donc c'est pas
réalité,
manipulable.
Tangible.
Mais en réalité, si, c'est manipulable.
Oui, c'est manipulable.
Parce que les chiffres, c'est pas des chiffres. En vrai, c'est des chiffres.
En vrai, c'est des chiffres. C'est des chiffres. Et à la fin, ce sera des chiffres.
Et voilà.
C'est une idée qui avait déjà été évoquée dans l'épisode précédent avec Roman. Cette idée de, ils sont quand même conscients qu'il y a certains trucs qui sont illégaux, qu'ils sont pas censés faire en termes de, pas comme le scandale des croisières qui était vraiment couvrir un meurtre, et des viols, etc. Mais deux, il y a des régulations des marchés et il faut qu'on ait l'air d'avoir tout fait pour que la boîte aille le mieux possible financièrement et qu'il se trouve que le chemin où elle va le mieux possible, c'est quand nous, on est chef et qu'on fait ce qu'on veut. Donc il faut qu'ils trouvent des façons de faire croire aux organismes de contrôle des marchés financiers que c'est réglo ce qu'ils font. Et en même temps, comme la série nous dit que bah le capitalisme est cassé, c'est pas un si gros sujet que ça parce que à la fin... déjà ça marche, et aussi il me semble qu'en dans la réalité véritable dans laquelle on vit, c'est assez rare les gens qui ont manipulé des marchés et qui ont été, enfin Elon Musk, il a clairement manipulé des cours d'actions etc pour son bénéfice personnel, et je pense que Elon Musk ça va, je pense financièrement ça va, il est pas en prison,
ça va, oui.
Rien. Ça, enfin ça va autant qu'Elon Musk peut aller, c'est-à-dire très mal, mais ça va, il a pas été inquiété plus que ça, il est pas empêché légalement de monter ou de gérer des boîtes ou d'avoir des actions en bourse. Et du coup, pour moi, j'aime bien c'est qu'on nous rappelle régulièrement de le capitalisme dit vous êtes pas censé faire ça, mais le capitalisme dit aussi
ça passe frère. Ça
passe. Si t'arrives à bullshit assez, ça passe frère. Et le pire qui peut t'arriver, c'est pas grand chose quoi. Kendall, il va jamais finir en prison pour fraude fiscale. Jamais de la
même
vie,
pas pour hein. Meurtre alors bon.
Oui.
J'aime bien.
Homicide involontaire, non assistance à personne en danger, on ne sait pas trop quoi. Ensuite, on continue la parade nuptiale Tom et Shiv, puisque il y a Scoochie avec Madson dans auquel assiste
qui
Tom.
Est un préquel de ma théorie.
Bien sûr, de la cocufication de Tom Wamsgans, mais volontaire.
Volontaire, oui.
Parce que du coup, à la fin, c'est lui qui a le pouvoir finalement. En vrai, on verra. Si un jour, franchement, si ça arrive, je te réinvite.
Ouais.
Pour faire, ok, ouais Alix, on t'applaudit tous sur le fait que t'as eu la théorie la plus niche de succession et tu l'as eu juste, tu vois. Je l'avais pas sur mon bingo, mais c'est possible. Et dans ce call, on en a pas trop parlé de qu'est-ce que Madson, pourquoi Madson il aime pas Living Plus et qu'est-ce qu'il dit à Shiv quand il la voit. On a parlé de, il est pieds nus et il flirte et c'est dégueulasse, mais niveau business, qu'est-ce qu'il veut Madson dans cet épisode?
Bah en fait il s'en fout de Living Plus quoi. Ouais. Donc il est là, bah le lancez pas parce que je vais le détruire quand je vais arriver.
Oui.
Donc faites pas les cons tu vois parce que...
Ça et... sert vraiment à rien, c'est perdre du temps quoi.
Voilà, c'est perdre du temps, c'est perdre en plus de l'argent, c'est perdre les investisseurs que je vais récupérer ensuite. Enfin voilà, c'est... Il a pas envie et puis je pense qu'il y a aussi un côté où il veut être le chef aussi.
Bien sûr.
Et donc il est déjà le chef dans sa tête et donc là il veut juste tirer les ficelles comme il peut en attendant que ce soit officiel.
Mmh. Et je pense qu'il teste un peu Shiv aussi, genre à quel point il peut lui dire quoi ouais. faire et à quel point elle a du pouvoir sur les deux autres.
Mmh.
Ce qui est un peu bâtard, mais déjà elle lui résiste. Enfin, elle est là en fait. Si t'es pas contente avec elle, leur en parler, je sais pas, c'est pas ma vie, tu vois. Et quand il l'appelle My Girl on the Inside, elle lui dit fuck you. Mais My Boy on the Outside, tu
my
vois.
My Boy on the Outside.
Et en même temps, elle l'appelle My Boy, donc je suis là, ah, ça. Elle garde quand même la ligne de il faut qu'il croit que je flirte avec, même si pas trop. Et pour le coup, elle lui dit, écoute, je peux rien y faire à Living Plus, c'est vraiment pas ma vie, c'est pas moi qui le lance. Toi, essaye de faire un truc, tu vois, t'es quand même quelqu'un, donc essaye de faire un truc. Et on verra qui fait un truc, bon. Des choix de vie. On avance vers la présentation de Kendall, qui s'annonce de plus en plus désastreuse. Shiv assiste à Kendall, qui se rend compte que, oh non, c'est pas les nuages.
Ah non! Guys.
These are not the clouds.
Comment faire? Ma présentation sur des nuages.
Je les ai vus à Berlin, guys. Pourquoi j'ai pas les nuages de Berlin? Come on, guys. Donc il est triste. Et pendant ce temps, Shiv, elle va chuchoter à l'oreille de Roman, quand même. Roman, oui, qui est en train, en plus, d'étudier les chiffres de Living Plus, où elle est là. C'est quoi? Attends, c'est quoi ces chiffres? C'est pas du tout les projections du marché qu'on avait littéralement hier. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as pensé de Shiv qui s'implique un peu plus?
Mais en fait, je trouve que c'est... En fait, leur collaboration, elle est vicieuse parce que, du coup, ils se font moitié confiance les uns aux autres, les uns avec les autres.
Les uns aux autres.
Les uns aux autres. Ils se font moitié confiance, alors qu'avant, tu sais, ils se faisaient jamais confiance. Et oui. Donc, ils soupçonnaient tout le temps qu'il y avait quelqu'un qui avait un agenda derrière la moindre remarque, tu vois.
Donc, que c'est maintenant, mieux bah, moitié par rapport à zéro.
Ouais, mais comme ils essaient quand même tous de se fucker.
Oui, c'est vrai.
Et que... Maintenant, en fait, ils sont juste là en mode bon bah je dois lui faire confiance parce que on essaie plus de se fucker, mais sauf qu'ils se fuckent quand même tous les uns avec les autres. Ils ont l'impression d'être les seuls à fucker les autres. C'est drôle, mais du coup, je pense que c'est ça aussi qu'elle fait. Shiv, elle essaie de bah là pour moi, elle agit pour Madson, tu vois. Donc elle se dit si Roman n'y va pas, Kendall ira et explosera en plein vol, ou Kendall n'ira pas, tu vois.
Ouais. Ok, moi j'avais l'impression qu'il y avait un petit truc, mais peut-être des fois je suis trop optimiste sur la nature humaine. Il y avait peut-être un petit truc de mec, c'est pas rendre service à Kendall de le laisser faire ça. Là, parce qu'elle dit il a ses yeux fous un peu, tu vois. Là, il est parti en couille dans l'épisode où
on
il
sait
décidé,
toujours pas s'il a repris.
Moi, je suis dans la team Kendall est sobre. Il a pas. En fait, sa vraie drogue, c'est ce truc de relation fucked up avec son daron et la boîte. Et je pense que ça fait partie de son délire de se persuader qu'il le fait sobre. et que il a même pas, il a pas besoin de drogue pour faire ça, tu vois, parce que au final il se rend pas compte que c'est ça son addiction. Et comme au moment où ils sont en train de décider est-ce qu'ils vont soutenir Kendall pour être PDG à cause de la ligne sous-libarée dans le papier, à un moment elle lui dit, enfin t'es vraiment en train d'agir comme un junkie là, t'es en train de, t'es tout fébrile, donc calme-toi. Pour moi, il y a un tout petit peu de, non seulement c'est une idée de merde et il est en train de faire des trucs pas bien et Madson ça l'arrange pas, donc je vais essayer de tuer ça dans l'œuf, mais aussi peut-être un petit truc empathique de,
ah ouais, ouais, oui,
mec,
non,
c'est
mais
pas lui rendre service que de le laisser faire ça, il est dans un état qu'on connaît, enfin il est en phase
maniaque,
mais
elle lui dit pas, elle lui dit pas arrête-le, elle lui dit n'y va pas, ne t'associe pas à ça.
Oui, bah après on verra que Roman n'arrive pas de toute façon à arrêter Kendall. Il y a Madame Volovitz qui dit la spectacle de maternelle vibe, c'est si triste.
C'est d'une tristesse.
Après, les coulisses d'un spectacle, c'est jamais, tu vois, c'est mal éclairé, enfin, c'est éclairé cru parce que faut bosser, les gens ils sont pas en, c'est toujours un peu nul quand tu vois l'envers du décor, donc je suis là. Mais bon, il y aura pas de maison.
L'idée de toute façon, les décors, enfin, le costume de la fusée, je vais y revenir juste deux minutes parce que ça m'a fait beaucoup rire. C'est une référence directe. Certainement pas, mais à mon job chez Acast,
bien sûr,
où il y a vraiment toute une déclinaison de l'espace.
Ok.
Et genre c'est un vrai truc dans la tech et dans genre il y a plein d'autres boîtes de podcasts aussi qui ont cette déclinaison autour de l'espace et donc des astronautes et donc tu vas découvrir
des explorateurs,
enfin tu vois, et genre. Et moi, c'est vraiment le truc de ma boîte. T'as des fusées partout. Enfin,
j'avais fait gaffe, mais oui, carrément.
Mais oui. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vraiment un gimmick de la tech. Le côté aller explorer l'espace. Et donc, ça m'a fait tellement rire avec leurs petits noms sur le, avec
oui,
Roman
c'est des
et CEO.
Vestes de pilote. Un peu spatial. Pas ouais. De pilote que non. Top Gun, quoi. On est un peu dans le futur. Kendall, il en a fait faire deux. Il attend Roman
en
mode frangin, c'est à nous et tout, on y va. Et Roman, il le laisse solo, quoi.
Oh, ma bichette.
Il a pas besoin de Roman. Parce qu'il va... Et je pense que Roman, à ce moment-là... En fait, Roman, il a un peu tendance à écouter la dernière personne qui lui a parlé.
Oui, vraiment.
Vois, il a pas trop d'opinion personnelle sur la vie. Et en plus, il est en mode totalement chaotique. Donc, je pense qu'il a pas trop réfléchi ce que ça veut dire pour lui de pas être impliqué dans cette présentation. Alors certes, si ça rate, il y était pas... Mais ça, enfin, il y aura quand même des questions de bah, qu'est-ce qu'il a foutu, tu vois, si ça rate, pourquoi il y était pas, qu'est-ce qu'il a foutu à la place, et si ça réussit, il y était pas. Et là, il se trouve que ça va réussir, puisque on a Carl. Il faut qu'on parle de Carl, parce que juste avant que Kendall monte sur scène, il y a Carl qui arrive, et Carl, il connaît un truc ou deux au sujet d'un truc ou deux. Je vais te faire dire.
Carl, il en a de la bouteille, en fait.
Est-ce que tu le kiffes, Carl?
Moi, j'adore Carl.
Fire,
je l'adore. Ouais, c'est vraiment le gars le plus en roue libre, mais dans le sens opposé à tout le monde. Il est à contre-courant. Tout le monde est là. Ah, je veux le pouvoir. Il est là. Je veux me barrer. Je veux aller en Grèce.
À la retraite à 60 ans. Le gars, il est en magnifique.
À 60 ans. Ah, putain, Carl. Je l'adore.
Il fait les barbecues EGT. Il fait les saucisses. Je l'aime trop.
J'ai envie d'un mème Carl en barbecue EGT. Carl.
Qui a des skills Photoshop là sur le chat? Je suis sûre que vous pouvez le faire et si vous ne pouvez pas, je trouverai quelqu'un qui le peut, ok? Ce qui a l'air d'être une phrase Roman Roy bizarre où je vous menace de vous virer, mais je peux pas vous virer. Et aussi, je vous paye pas. Mais n'hésitez pas à sub à la chaîne, comme ça c'est vous qui me payez. Et je vous jure, le capitalisme il dit numbers are just numbers and they're numbers number. Also.
Mais ce qui est drôle, c'est que, bah, il pourrait s'en foutre complètement du coup de ce que Kendall dit, mais il tient quand même à sa crédibilité, à sa dignité, tu vois.
Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kendall? Parce que c'est toujours ce truc où il parle à demi-mot. Il lui dit pas clairement, t'as pas le droit de dire tel chiffre ou quoi. Mais il lui dit en gros, si tu dis un truc que j'aime pas sur scène,
je vais crier.
Squeal, donc, je vais dire des trucs que je sais. Enfin, ce fameux truc de si tu me mets dans la merde, j'ai de quoi te mettre dans la merde. Mm. Pour toi, tu l'as compris comment? Qu'est-ce qu'il essaye de protéger? C'est sa crédibilité, c'est pas l'argent de la vente, c'est ça. On est d'accord qu'il parle de son standing pro à lui.
Ouais, je pense. Parce que je pense qu'il. J'imagine pas Carl penser que Madson va retirer l'offre si Kendall se foire sur scène. Enfin, tu vois,
oui, non,
genre,
ouais,
c'est
non.
Allé trop loin, l'offre a été faite et tout. Donc là, je pense que c'est vraiment sa crédibilité en tant que CFO. C'est aussi ses derniers instants dans sa tête, tu vois, en tant que CFO. Donc il est là, bah, autant que je parte avec panache, quoi, et pas
tout
que je parte et que j'ai l'air d'un gros con. Je pense que c'est ça.
Oui,
je sais pas,
oui,
t'en as pensé quoi, toi?
Ouais, je l'ai compris aussi comme ça, où en gros, il dit à Ken, tu fais ta merde si tu veux, mais tu me mêles pas à ça. Et si tu dis des chiffres précis, ça va, c'est moi, c'est mon job. Donc ça va me retomber dessus à moi. Donc débrouille-toi. Il lui dit pas c'est malhonnête de faire ça, ton truc avec Living Plus et tout. Il lui dit même pas arrête d'essayer de tuer le deal avec Madson. Il lui dit si tu dis un chiffre que j'aime pas, on va avoir un problème. Et au final, bah Carl est à la fin, il félicite Kendall et je pense que c'est sincère parce que Kendall, il a pas dit de chiffres précis. Il a laissé, on va en parler, mais il a laissé Logan dire ça pouvait doubler les revenus. Et il a dit, pour les détails financiers, je laisserai bien sûr la parole à mon incroyable CFO Carl. Donc il a bien compris le message.
Et en même temps, tu vois, il a
un petit coup juste avant de monter sur scène, quand même, de un petit coup de pression, quoi.
Puis il a mal réagi, quand même, au début, tu vois. Il lui dit, montre-moi les chiffres. Parce qu'au début, Carl, il arrive pas à frontal en disant, tu dis n'importe quoi, je vais te défoncer,
Carl,
tu vois.
Il fait toujours le mec sympa.
Ouais, il fait, bon, tu me montres et tout. Et l'autre, il est là, CEO, CFO. Et... Je l'adore.
Vraiment, l'audace par rapport à un mec qui a 60 ans de métier et tout, je suis là. Oh là là.
Il est vraiment très fort. Donc ouais, elle est marrante cette scène, I'll fucking squeal. C'était très drôle.
Et c'est l'heure pour Kendall, Logan Roy, de monter sur scène, présenter Living Plus, le futur de la tech, mais aussi du logement. Qu'est-ce que t'attendais de Kendall qui remonte sur scène? Quelle a été ta réaction quand Logan est arrivé sur l'écran et s'est mis à lui parler? Et à quel moment t'as compris qu'il était pas en train de se foirer bizarrement et que ça marchait?
Et ça,
les trois grandes questions pour moi de cette séquence.
Bah moi je m'attendais à du rap, enfin tu vois, je m'attendais à tout sauf
au
à
moins des flammes quoi.
Ouais, c'est ça. Je m'attendais à tout sauf à ce qu'il réussisse. Ce qui finalement est vraiment la force de cette série, c'est vraiment de nous dire, attendez, vous croyez vraiment que c'était si simple et qu'il était nul de A à Z? Et non, il a parfois des bonnes idées. Il aimait bien en scène. Et comme quoi, en fait, ça lui donne raison aussi, la mise en scène est importante. Le marketing, c'est important. L'illusion est importante dans le capitalisme où c'est que de la spéculation, tu vois. Et j'ai trouvé ça méga intéressant, surtout quand tout le monde commence à lui cracher dessus dans les coulisses, personne ne croit en lui.
Ah ouais, c'est chaud. Hein.
Tout le monde dit, putain,
même
il va
Greg,
se...
il a l'audace et tout, tu vois. Bon, après, Greg, il a toujours trop l'audace.
Oui, n'importe quoi. Et c'est vraiment le pire. Mais, quand Tom lui dit de pas parler au prompteur et tout, et Greg, il fait, ah bon, pourquoi faut pas parler au prompteur? Et ben, je sais pas, c'est juste un truc qui se fait pas, quoi. Mais vraiment, et t'as les suits, Jerry, Carl et Frank qui disent amateur hour, enfin, tu vois.
Ils sont trop marrants sur leur petit balcon, là, entre les, vraiment, Riri, Fifi et Loulou, en train, les vieux briscards, en train de râler sur quel petit con, il est nul et tout. Incroyable. Ouais.
C'est fou, et donc tout le monde le traite d'amateur. Et puis il y a Hugo, à un moment, qui fait une remarque et qui dit « Ah ça, ah ça c'est bien, ça c'est bien », et il se retourne vers Carolina, il fait « C'est toi ça ?» Et elle est là « Non, parce qu'en fait il a tout changé. »
Elle est là « Oui. »
Ah, elle dit
oui ?» Mais parce que Carolina et Hugo, ils sont trop en rivalité, tu vois, et elle est là…
Parce qu'au début, elle dit « Non, mais c'est pas il a tout changé, c'est pas ça et tout qui était écrit. » Ah, elle dit « C'est moi ?»
Ouais,
okay,
quand il lui dit « Est-ce que tu veux prendre du crédit pour ce truc ?» Elle est là « Bien sûr, car c'est du Carolina, c'est de moi, alors que pas du tout, je pense qu'elle a touché. » Enfin, elle a pu mettre 0, sur cette présentation que Ken a vraiment gérée en solo. Et ouais, il y a un moment où « Oh, oh, oh !» Tu vois un avion décoller, ça, tu vois, il est pas droit, tu te dis « Il va se crasher, il commence à stabiliser. » Tu fais « Touchons du bois,
ça marche. » Ok,
Ken the boy do it.
Mais comme quoi, tu vois, c'est ça que je dis, moi, je m'y connais pas assez en tout ça pour pouvoir avoir une opinion autre que celle des personnages qui en ont une, tu vois. Et des investisseurs, finalement, parce que c'est eux qui donnent la tendance, en fait, c'est une histoire de boule de neige, quoi. Mais je sais pas quelle est ta phrase préférée de son speech, moi, c'est « big, big shoes
». Big, big shoes.
Big shoes. Big, big... Et là, c'est là, quand il l'a répété 5 fois, j'étais là... Ça va être méga long.
Roman dans les coulisses qui est la big hat.
Je sais.
Big job.
Big mental breakdown. Mais je sais, j'avais vu dans tes stories que Fab t'avait envoyé un truc genre attention ça va être cringe et tu t'avais envoyé une photo de toi sous la couette. C'était quel moment de
l'épisode? C'était le discours.
C'était Big Shoes.
Moi, j'ai pris la photo de moi en PLS au moment où Logan apparaît sur l'écran. et où j'ai compris que non seulement Logan il apparaissait sur l'écran, mais Ken il avait fait genre il lui parle, tu vois. En fait, c'est quand Logan il tourne la tête vers petit Ken et qu'il lui dit bon, let's get on with it. J'étais là, oh non, il a fait le dialogue. Du coup, il y a des pauses cringe parce que c'est pas répété et on dirait un zoom où du coup tu finis de parler et t'attends que l'autre il prenne la parole et tout. J'étais là, ah non, il va lui parler. Donc là, j'étais en PLS et juste après, il y a eu le tweet de Madson, Mazzy et tout. J'étais là en mode, my god, mais qu'est-ce qui. Et je pense qu'à ce moment-là, je croyais encore que c'était un foirage, tu vois.
Ouais, moi
là,
aussi.
Là, c'est regarder un accident de voiture au ralenti. Tu peux pas détacher les yeux, mais t'es là.
Oh, ouais.
C'est horrible ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as pensé quand Logan Roy est arrivé? Moi, j'avais un peu oublié. Tu vois, il s'était passé tellement de trucs, j'avais oublié que, ah oui, on va avoir Logan Roy en full frontal, et j'avais pas compris, ils allaient se parler et tout. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce choix artistique, finalement, bah, de scénographie?
Bah, moi, j'ai adoré. moi, j'ai adoré parce que je trouve
avec
qu'il...
Avec ton nom, il est quand même d'artiste.
Bah ouais, parce que je trouve qu'en fait, il est très fort parce qu'il joue sur une corde sensible. Et ça, c'est vraiment smart, je trouve, dans un milieu où, justement, tout le monde parle de chiffres et de business et tout machin. Et lui, il parle du why. Et c'est souvent ce qu'on dit dans les entreprises, t'as le what, bon je sais plus. Hein,
what, where, when,
ouais,
why.
Ouais, voilà. Et le why, c'est vraiment au cœur de ton projet. Et donc le why, il est tout trouvé pour Living Plus, pour Kendall, parce qu'il dit la phrase, je pense, la plus sincère de tout l'épisode, quand il dit, moi, passer une journée de plus avec mon père, ça n'aurait pas de prix.
Ouais, et c'est vrai.
Et c'est vrai, et du coup, ça te brise un peu le cœur. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de jouer sur cette corde sensible. Et en fait, il tourne la mort de son père à son avantage. Ce
bah,
qui
ça
un
devient
move.
Un argument business, quoi.
Ça devient un argument business. Je pense que Logan aurait été méga fier de lui, tu vois.
Ah oui, bah l'arc Kendall de « c'est ça que papa aurait fait », il a raison. Papa, ouais. Il aurait joué sur le bad dad stuff. S'il avait pu planter un couteau dans le dos de son père décédé pour gagner de la thune, il l'aurait fait. Ou du pouvoir. S'il avait pu ne pas vendre sa boîte à Madson lui faire un sale coup pour récupérer la boîte, il l'aurait fait. Et s'il avait pu utiliser la mort d'un proche comme... Alors, il l'a pas fait avec Rose, mais ça avait l'air d'être ultra traumatique et tout. Mais s'il avait pu utiliser la mort d'un proche comme levier marketing pour vendre une idée, il l'aurait fait aussi. Donc, c'est peut-être la pire version de « mon père serait fier de moi ».
Ouais.
C'est que oui, t'as bien inculqué ces valeurs de « rien n'est trop pur pour être sali par... » À la fin, ça a fait un bifton en plus, quoi.
Mm-mm. Ouais, donc en vrai, en le revoyant, je suis là, c'est smart.
C'est très smart, et ça fonctionne chez les gens.
Parce que même si c'est cringe, t'as quand même... Enfin, je me dis, quand tu connais pas, si je me mets à la place des investisseurs ou du public, tu vois, qui découvre ça, toi, t'as pas les backstage, tu sais pas.
Oui, tu le connais pas,
tu le connais pas, le gars. Et donc, tu le vois parler à son papa, qui vient de perdre, tu t'es au courant de tout ça et tout, tu te dis, putain... Il y a des images de son père et il lui dit un truc un peu remuant et tout. Ah, c'est vraiment un bel hommage
et
à son père.
Et en même temps, ça dure pas 120 ans.
Ouais, c'est ça.
Il
y a pas
Logan
un dialogue. Enfin, tu vois, et tout est bien dosé en fait quand tu regardes avec un œil de gens qui connaissent pas la série. Ça marche.
Ouais, je suis d'accord, ça fonctionne. Est-ce que t'as vu que la scène où Logan dit, donc la fameuse scène modifiée où Logan il dit. Je suis très prudent sur ce genre de choses, mais je pense que ça a de bonnes chances de doubler les revenus, et c'est doubler les revenus la partie modifiée. Que
very
c'est
well
un vrai, genre ils auraient pu juste, Brian Cox n'est pas mort, ils auraient pu faire tourner à Brian Cox la version Double the Earnings et l'utiliser, mais non, ils ont vraiment fait,
et ils
c'est
ont vraiment
montage.
Coupé.
Donc c'est vraiment possible de faire ça.
Donc,
avec
Mister
d'autres
Snippy
scènes de
Snip.
Brian Cox qui parle dans d'autres phrases. Donc les Mr. Snippy Snip de HBO, je pense qu'ils avaient plus que deux heures pour le faire, j'espère pour eux, et qu'ils n'étaient pas one guy avec un fucking Greg qui leur donne des ordres. Mais je trouve ça... En vrai, je me suis repassé la scène trois fois.
Et moi, j'ai
et
pas
là,
vu.
Je vois pas le cut, mais je me suis juste dit, bah c'est normal, ils ont juste fait dire le truc à Brian Cox. Et non, ils se sont fait chier, et du coup,
à
c'est...
Vraiment après... Putain, ça c'est
me fait trop peur.
Ça, c'est de la dévotion.
On peut plus rien croire. Ça a l'air vraiment vrai. On peut plus croire
tout
ce qu'on voit sur Internet, quoi.
Ah bah c'est clair, encore plus aujourd'hui où tu peux mettre la tête de n'importe qui en train de faire n'importe quoi, donc...
Oui, faites attention.
Faites attention.
Vérifiez vos sources.
Vas-y.
Qu'est-ce que t'as pensé du tweet de Madson? Est-ce que tu l'as compris déjà? Moi, j'ai dû le googler.
Je l'ai googlé aussi. Pourtant, je suis allée à Auschwitz quand j'étais en première. Mais je ne me souvenais pas.
Moi, j'avais le Marthe Fry, donc il tweet d'Audric Marthe Fry, qui est une référence à Arbat Marthe Fry, qui en allemand veut dire le travail rend libre, qui était un slogan sur l'entrée de Auschwitz. Évidemment, très mensonger, puisque le travail n'a libéré personne à Auschwitz. Et moi, c'est donc ça, je l'avais, le Marthe Fry. Donc j'avais la référence camp de concentration, mais j'avais pas d'Audric. J'étais là, bah c'est oui. Quoi d'Audric
Mais en voyant le petit film de Logan, on comprend mieux.
Voilà, et apparemment, ils l'ont mentionné une fois ou deux. Donc d'Audric, c'est le chien emblème des Parkway Star. Et c'est notamment Greg, sa première apparition, c'est quand il est en Daudric et qu'il vomit à travers... tu sais, il est en mascotte dans le parc, oui, parce que ça commence
c'est
vraiment
vrai, difficile. Putain.
Et il a fumé un vieux Zdar dans sa vago avant d'y aller. Oui. Et il vomit à travers les yeux du chien sur les enfants. Et enfin, c'est horrible. Mais j'avais complètement oublié qu'en gros, c'est leur Mickey, quoi. C'est leur,
leur mascotte. C'est vrai, ouais.
Donc, le tweet, il veut dire... Enfin, il fait un parallèle entre Living Plus et des camps de concentration, quoi. C'est ça,
oui, c'est ça, ouais.
C'est ça qu'il dit.
Bah, c'était ce qu'il disait depuis le début, non? Que c'était des camps pour vieux ou je sais
oui,
pas quoi.
Oui, oui, c'est ça en gros. C'est des camps pour parquer les vieux. Bon move, pas bon move. Businessment, enfin, il est fou et on est dans un monde où Elon Musk existe, tu vois. Donc je suis là, des fois c'est un bon move d'être fou. Là, ça a pas l'air.
Ouais.
Je comprends pas trop pourquoi c'est pas un bon move.
Bah moi non plus. J'avoue, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris.
Parce qu'il retire le tweet en plus.
Ouais. Donc il sent que c'était pas. Parce que Shiv aussi lui dit peut-être c'est trop.
Oui, peut-être, mec, il y avait des paliers.
Ouais, il y avait des paliers avant d'aller...
Référence.
Ouais.
Auschwitz.
Ouais. Oui. Parce que là, du coup, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça sert Ken qui resserre le truc de « on est différent culturellement », ce qu'il avait déjà essayé de mettre dans la presse l'épisode précédent, quand ils
essaient
de...
Oui, en disant « la retraite, ça se passe pas bien », parce qu'il y a des clashs culturels entre les deux équipes, quoi.
Et donc, il dit « ah ben, il est très européen, voilà, nous, on n'aurait jamais fait ça ».
Oui, apparemment, il y a un côté de « c'est vraiment un big nono de faire référence de façon non sérieuse au nazisme et à l'Holocauste aux États-Unis », donc il y a un truc de paraître aussi, tu vois, de « oh là là, je suis si choquée par ce qu'il vient de dire ». Et j'ai écouté des...
Sachant qu'il a quand même tatoué le front d'un SDF avec ses initiales.
Oui, oui, bof, une bonne personne, KLR, Kendall Logan Roy. Et j'ai, dans un des podcasts que j'écoute, je crois que c'était dans Decoding TV, en fait, le mec qui tient le podcast, il a beaucoup bossé pour des trucs très corpo, notamment Amazon et tout, des grosses, grosses boîtes. Et il a dit que pour lui, un des trucs hyper intéressants, c'est que, en fait, là, pour lui, le fait que Kendall réagisse bien au tweet de Madson en direct, ça, c'est un truc pivot dont les gens croient à sa capacité d'être PDG, parce que c'est hyper dur à faire de... Là, tu peux pas l'avoir préparé, quoi. T'as, pendant ton speech, un journaliste qui dit « Est-ce que vous avez une réaction au tweet ?» Ouais. Et il ouvre le tweet et il faut intégrer les enjeux qui vont derrière et donner la bonne réponse. Et en vrai, quand Kendall, sa première réponse, c'est « Bon, je vais pas le fave », j'ai trouvé ça hilarant.
C'est
là,
c'est génial.
Tellement une bonne vanne. C'est vraiment la meilleure réponse. Genre, j'ai fait pause et j'en ai parlé à ma copine Fanny qui était... avec moi en vacances en train de me regarder Succession qu'elle regarde pas parce qu'elle m'aime, et j'ai fait pause pour lui expliquer le concept et je lui dis, et là le gars il a dit bah je vais pas le fave, elle était là oh bla bla.
Non mais ouais, c'est très fort, et j'ai oublié ce que j'allais dire.
Bon, ouais. Bah, y a un peu un côté genre beaucoup auraient dit écoutez je ne vais pas commenter
ouais.
Genre no comment, on passe à autre chose, quoi.
Moi j'ai cru là aussi qu'il allait se planter, tu vois. Quand il a dit I'm catching up, quoi, qu'est-ce qui se passe,
ouais,
et tout, et
le
que tout le monde était là, c'est une
scie
circulaire qui attend Kendall et tout, et j'étais là, ah mon dieu, ça va être horrible! Et je m'attendais, en fait, j'ai plus cringe de pas cringe, enfin tu sais, d'attente de cringe.
Ouais.
Comme un roman qui dit si je cringe encore plus, je vais devenir un fossile.
un bon résumé de Succession en général.
Et je cringeais, mais ça ne venait jamais vraiment, tu vois, comme un jumpscare qui est latent, tu vois, et
ouais,
que tu vois jamais venir. Et en fait, ouais, non, il s'en sort très très bien, quoi.
Heureusement qu'on a un petit bout de cringe avec Tom qui arrive en faisant « You're an ATN citizen !»«
You're an ATN citizen !»
J'adore qu'on voit que ça de son discours, oui, genre on n'a jamais la
mais
suite.
Tu le vois en plus répéter ça, un moment,
oui,
dans le fond,
phrase,
hein. Il fait « You're an... » Tu sais, il regarde son papier, il fait « You're an ATN citizen !»« You're an ATN citizen !»«
I'm an ATN citizen !» Tom, il est, et malheureusement, jusqu'à pas loin de la fin, il pensait que il pouvait pas, enfin,
ouais,
passer derrière ça était une réussite assurée, parce que à un moment, Greg lui dit, mais t'as même pas besoin de ton discours, tu vas juste,
oui,
éponger le sang, littéralement, du carnage. Et en fait, bah, c'est lui qui a l'air,
ouais,
un peu naze en passant après Kendall Roy sur scène, ce qui est, dur. En parlant de deepfake, il y a un autre deepfake qui a été commandé à Mr. Snippy Snip de Logan Roy, puisque Kendall a fait faire une vidéo très spéciale pour son frère. Déjà, est-ce que t'as pigé tout de suite que c'était Kendall qui l'a envoyé? Ouais, on le voit sur l'écran du téléphone, mais je me suis dit peut-être il y a des gens... Enfin, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là. Attendez, qui a envoyé la vidéo à Roman? Est-ce que
Oui, moi j'ai capté.
J'ai vu qu'il y en avait qui disaient c'est le gars de le mec qui a fait le montage pour se venger. J'étais là, non.
Oh mais, non, vraiment,
pas Snippy Snip. Ou alors c'est Madson parce que bah comme Roman lui a roulé dessus à l'épisode d'avant, Madson tu vois a fait monter un truc de son. Mais il y a vraiment marqué Kendall Roy a envoyé une vidéo, donc c'est Kendall. Que dit la vidéo? Et à ton avis, pourquoi est-ce que Roman? Qu'est-ce qu'il y a comme intention dans Roman qu'il écoute encore et encore?
Bah, c'est toujours... je sais plus exactement ce qu'elle dit, la vidéo. C'est genre, il a des petites couilles...
Je vais faire une annonce historique. Roman Roy a un micro-pénis et rate tout ce qu'il entreprend.
Voilà.
Sauf ce papa.
Bah, c'est ce qu'il cherchait depuis le début, quoi. Quand il vire tout le monde, et c'est ce que tu disais, en fait, c'est ta théorie qui est vérifiée là. C'est qu'en fait, tout ce qu'il attendait, c'était qu'on lui dise « Non !
Non, tu es nul !»«
Non !»
Oui.
Et en fait, il attend que ça. Et c'est aussi, tu sais, comme un dernier message qu'on te laisse sur le téléphone, où c'est un peu les derniers mots que son père lui adresse, en fait, finalement.
Oui, carrément. Alors que, et puis lui, il a cette histoire de le dernier message vocal qu'il a laissé à son père. Oui. Je sais pas s'il l'a entendu. Et c'était aussi un message un peu insultant. Et la réelle a dit un truc que j'ai trouvé très beau et auquel j'avais pas pensé, qui est quand tu perds quelqu'un, t'as plus jamais, il te dira jamais une phrase qu'il t'a jamais dit, tu vois. T'as jamais de nouveaux contenus de cette personne, en gros, de nouveaux audios, de nouvelles vidéos, tout. Tu peux plus avoir des nouvelles choses qu'il te dit, et du coup, même un montage un peu nul parce qu'il est pas aussi quali que celui qui a été diffusé, et avec une phrase insultante, bah déjà, dans leur famille, c'est normal de se faire insulter par leur daron, malheureusement. Donc ça fait partie de... C'est un langage familier, et c'est aussi bah, comme si son père lui disait un truc pour la première fois, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper... J'avais pas cet angle...
Moi non plus,
Et j'étais là... Oh, du coup, je suis triste pour lui. Enfin, je suis un peu toujours triste pour Roman. Mais j'étais super triste pour lui. J'avais un peu du mal à lire pourquoi il écoute et il réécoute. Est-ce que c'est un truc masochiste de... J'ai envie que mon père m'insulte, ou est-ce que c'est plus un truc de il me manque?
Ouais, je pense que c'est il lui manque.
Ouais.
Ça fait vraiment référence, je trouve, à la première scène où Kendall demande à réécouter aussi le moment où il dit My fucking idiot kids.
C'est vrai qu'ils font la même chose aussi.
Ouais. Et donc, en fait, je pense que sous la blague, parce qu'ils se vannent tout le temps avec Roman et qu'ils lui font plein de vannes là-dessus, mais c'est aussi, je pense qu'il sait que ça va lui faire un peu plaisir, tu vois.
Oui, pour moi, il y a un truc de... Au début, il glousse. Et je pense qu'en fait, il a cette réaction très naturelle de... C'est marrant, parce qu'en vrai, c'est une bonne vanne. C'est un truc qui... En fait, si leur père était pas mort, ce serait juste une bonne vanne.
Ouais.
De « Ah tiens, j'ai mis la main sur un rush de papa qui fait une pub et je lui ai fait dire un truc insultant sur ta bite. » Bon, c'est... dans leur monde, c'est une bonne vanne. Suivi de « Ah, c'est vrai qu'il est mort. » Suivi de « Ah, il me manque. » Et aussi... J'aime bien quand mon papa, il m'insulte, parce que c'est des gens qui ont été élevés par un papa qui a fait des problèmes, quoi.
Ouais.
On parle de la toute dernière scène, la petite baignade.
La petite baignade, bah d'ailleurs, qui est une scène qui était importante, je crois, pour la réalisatrice de l'épisode, qui disait que donc elle, c'est une spécialiste des épisodes de Kendall et Kendall,
big
on
Kendall
le,
girl.
Ouais, c'est ça.
Big shoes.
Big shoes.
big shoes.
Big shoes. C'est tu sais, il y en a un de trop, ou deux de trop, tu vois.
Trop long, mec, trop long. C'est le début, là, faut...
Ah ouais, c'est... Ah, big shoes, oh là là. Et c'est tellement bien. Et ouais, donc en fait, il y a cette scène où Kendall, donc, se déshabille. Et là, c'est la première fois qu'on le voit vraiment en dehors du bureau, du coup.
Oui, c'est vrai, ouais.
Et en fait, il se déshabille, et il se met en maillot, et il a des lunettes de soleil. Ce qui confirme la T, la O, la théorie.
On l'aura réussi au moins une fois. La théorie selon laquelle, qui c'est qui a les plus grosses lunettes, c'est lui qui gagne l'épisode. Peut-être que Kendall avait les plus grosses lunettes de l'épisode.
Voilà, en tout cas, il en avait sur cette dernière scène. Et donc, il s'immerge dans l'océan.
Avant, il trace number one. Il trace
ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié le numéro 1.
Il trace le 1
number
parce qu'il
one.
Est le number one boy. Et le number one tout court.
Oui.
Genre,
je suis trop
content. C'est vraiment des enfants, quoi.
Fils papa, moi
j'étais
premier.
À la plage, je suis le premier, je suis le meilleur.
Kendall avec un cœur. Mais Mais ouais, donc il écrit Ken, enfin qu'il écrit un, et ensuite il s'immerge dans l'eau, et donc il est face, enfin il est dos, il fait une planche. Mm-hmm.
Il n'a plus le visage dans l'eau.
Voilà.
Comme il a pu l'avoir dans la saison 3.
C'est 3 ou 2 ?
Ouais,
3.
C'est dans la saison 3 qu'on pense. Bah, c'est au mariage de sa mère qu'on a ce soupçon de. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que Kendall vient de mourir et on n'est pas sûr ? Et enfin, il y a un gros thème Kendall et l'eau qui commence principalement avec bien sûr le serveur du mariage. Ensuite, il y a cette presque suicide dans la piscine qui est en plus traité comme tel par la série. Genre, c'est enfin le lendemain, il y a toute sa famille réunie, il y a son père qui est là avec son fils et enfin avec du coup le fils de Kendall. C'est vraiment traité comme le gars.
Il a essayé de se suicider
là. Même si après ils en reparlent jamais parce que c'est l'héroï. Donc voir Kendall aller dans l'eau, généralement, c'est pas bon. Et là, c'est bon.
Une renaissance finalement.
Tout à fait. Un baptême. Baptisé par la street. Bon, on est épisode 6 sur 10. Et ouais. Kendall Roy est au top. Est-ce que ça
aïe, 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 aïe.
Plus haute et l'ascension.
Plus basse
et la chute. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à... Est-ce que tu penses que l'arc de Kendall, c'est... Il se maintient au top, quitte à aliéner tout le monde, ou est-ce que c'est... Il va se cracher et pas à finir PDG.
J'aimerais dire quelque chose et en être sûr. Mais le problème, c'est que là, tout peut arriver. C'est... Moi, je pense qu'il va y avoir un gros, gros move de Shiv et Tom.
Ouais,
il y a un moment
aussi
où c'est eux qui vont renverser la tendance, c'est sûr.
Elle mérite un peu, hein.
Ouais, elle
mérite.
Faire
un move business, tu vois.
Ouais,
elle
n'a
pas trop fait. Elle a genre obligé son gars à avoir une relation libre. C'est quand même moins intéressant que gérer des deals à des milliards de dollars, quoi.
Mm-hmm. Donc, je pense qu'ils vont quand même... Il va quand même y avoir un truc de... Madsen va revenir les mettre à leur place...
Mmh.
Mais bon, franchement, j'ai aucune vision. Toi, t'en penses quoi ?
Moi, je pense que je vois Kendall finir. En fait, pour moi, la tragédie, c'est il a ce qu'il veut, mais il devient le monstre. Quoi. Je pense qu'il y a moyen que ça finisse avec Kendall PDG, mais qui a aliéné tous ses frères et sœurs, en fait, qui est devenu Logan. Il a personne dans sa vie. Mais il est le chef et il a le plus d'argent. Ok, super. À quoi bon, tu vois, finalement. Sauf qu'en plus, il n'aura pas le mérite de se dire j'ai travaillé dur pour en arriver là et je l'ai mérité et j'ai construit cette boîte de mes mains, tu vois. Donc il y a de ça. Mais honnêtement, là, après l'épisode, j'ai parlé à Mathias, du coup, qui était dans le dernier débrief, et je lui ai dit à ton avis, se passe quoi dans la suite ? Et il m'a dit mais girl, je sais pas, et c'est trop bien. Et en fait, on a 4 épisodes de la fin. Et on pourrait se dire, si on sait pas ce qui va se passer, c'est que. C'est pas toujours bon signe, tu vois. C'est genre, ça part dans tous les sens, il y a trop de storyline, où on fait pas confiance au scénariste pour nous emmener dans un truc qui est cohérent. Là, c'est plus un truc de...
Tout peut... juste... Ouais.
C'est comme les menus dégustation dans les restos gastro. Tu sais pas ce que tu vas manger, mais t'es là. Même si tu me sers... Genre, un jour, dans un gastro, on m'a servi du poulpe, et voilà, je mange pas de poulpe de ma vie. J'ai un problème de texture, j'ai un problème de goût, j'ai un problème de sentiment par rapport au poulpe, et enfin, trop de trucs... Et eh ben c'était délicieux parce que c'était préparé d'une façon délicieuse par des gens dont c'est le métier. Donc je suis.
Mais
moi le menu dégustation succession quoi.
Je pense que dans les prochains épisodes il va y avoir forcément l'enterrement et l'élection parce que l'élection ils l'ont trop teasé pour que ça n'arrive pas.
L'avant-dernier épisode s'appelle America Decides je crois.
Ok.
Donc soit là on est au 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est soit le 8 soit le 9, je sais plus.
Ok.
Donc, on verra.
Donc, mais en fait, je comprends pas pourquoi l'élection a une si grande importance. Enfin, je comprends parce que c'est ça, mais je comprends pas pourquoi c'est un des derniers trucs de la série. Sachant qu'on n'a pas vu Menken depuis super longtemps.
Le seul lien qu'on a avec la politique, c'est Connor.
C'est Connor et c'est pété, tu vois.
Bah, je sais pas non plus. Je sais qu'il y a des théories comme quoi, en gros. Connor gagnerait un peu de pouvoir par rapport au fait que son père est mort et tout. Et du coup, serait genre Menken, il serait obligé de compter sur lui pour avoir la fin des voies républicaines. Je sais qu'il y a quand même un enjeu entre Roman et Menken, parce que Roman, c'est celui qui était le plus dans la team Menken, et il a eu cette scène bizarre dans les toilettes avec lui, parce qu'il adore flirter avec des hommes aux toilettes. Et du coup, peut-être que pour le personnage de Roman, faire revenir Menken, ça va lui donner un levier, tu vois. Mais je sais pas trop non plus pourquoi ça prend une telle place. Peut-être aussi que ce sera une genre de morale de la série pour nous rappeler que, en fait, derrière tous ces gens qu'on regarde dans leurs hélicos et leurs jets privés, c'est les gens qui font élire les fascistes pour le peuple.
Ah, oui.
J'ai vu des gens dire, mais je pense pas du tout, mais des gens, parce qu'il y a un fil sur le Reddit Succession qui est justement qu'est-ce que vous imaginez pour la fin. J'ai vu quelqu'un dire, pour moi, l'épisode de l'élection, c'est les riches qui sont dans leur truc à regarder mannequin gagner et des émeutes dans la rue. Et en fait, c'est une façon de rappeler que c'est pas juste du contenu intellectuel, une propriété intellectuelle qu'on a poussée, c'est un vrai impact. Mais je pense que Succession ne montrera jamais des manifs dans la rue parce que les vrais gens, ça les intéresse pas. Enfin, c'est pas le... Ça fait partie du propos qu'on les voit jamais, les gens de la société civile. Donc je sais pas trop en vrai, mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, quoi.
J'attends trop la semaine prochaine avec impatience.
Grave. Et je sais pas si t'as vu quand même, belle info pour finir, que le final fait 1h30.
Oh,
moitié plus long que d'habitude.
Ok. Ouais,
ça a été confirmé par, je crois, j'en parle parce que Léa sur le chat parle de la musique dans la scène de Kendall. On peut quand même mentionner la musique dans toute cette saison et dans Succession en général. Et c'est Nicolas Britel, je crois, le compositeur, qui a spoilé entre guillemets que le final ferait 1h30 parce qu'il a dit j'avais 90 minutes de musique à faire. Et ça a été confirmé ensuite sur... On essaye de vous régaler pour la fin. Donc ça va être un long débrief. Là, on est à 3 heures de débrief pour un épisode normal. Donc préparez-vous. Le final, ça va être...
Mais d'ailleurs, en parlant de musique, j'ai eu l'impression qu'il y avait un nouveau thème musical.
Je crois aussi, mais je suis pas très bonne là-dedans.
C'est au niveau de Roman.
Ouais.
En fait, ce thème musical m'a tellement surprise que je me suis dit, je crois qu'il est nouveau.
Quand il arrive dans les studios, là, qu'il est dans sa petite voiturette de golf. Mais moi aussi, j'ai tendu l'oreille. Et d'habitude, j'avoue que la musique, c'est pas le truc auquel je suis le plus sensible.
Ouais, moi non plus.
Dans les séries, rien. Donc je crois à cette théorie. Je pense qu'il y a effectivement
un nouveau thème musical.
En tout cas, on les remarque plus. Parce qu'aussi, j'ai l'impression que c'est plus de variations du thème de base de Succession qui est hyper reconnaissable et que du coup, il nous
titille le cerveau. Quoi.
Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Alix ? Dans tes longues notes.
Qu'est-ce que j'avais dit ? Bon, non. Hein, oui, bah, ah oui, non. Si, dans le discours de Kendall, quand il dit, quand il parle de justement la bourde de Madsen. Il commence à planter la graine aussi de la possibilité que ça se fasse pas le deal en disant if and when.
Oui, oui, oui. Subtil, we make the deal. Subtil, subtil, frère. Comme si tout le monde lisait pas dans son
jeu. Ouais, vraiment.
Hein.
Mais non, moi j'ai trouvé que c'était un super épisode plein d'ironie tragique, de régression aussi dans les personnages. Et ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode.
Écoute-moi aussi, et je comprends d'autant plus que tu es une Tom and Shiv girl, et surtout une Tom girl.
Tom girl.
Je comprends. Tant que tu n'es pas une Greg girl, tu es bienvenue. Merci d'avoir été là, Alix.
Bah, merci de m'avoir invité, ça m'a fait trop plaisir.
Vous pouvez retrouver Alix dans le podcast 4 quarts d'heure, dans Game of Reroll une fois par mois à mes côtés sur la chaîne de Fibre Tigre, le prochain est en mai, et en termes de trucs publics où les gens peuvent te retrouver, et sur Instagram.
Sur Instagram, oui.
Tout à fait. Merci d'être venue, moi je vous laisse là, la mif. On se donne rendez-vous lundi pour le live Reddit, mardi soir pour un nouveau débrief Succession avec Fabrice Florent, jeudi pour un live jeu vidéo.
Waouh.
Merci d'avoir été là.
Merci d'avoir été
là. Vos follow et vos subs et votre soutien globalement. Des bisous.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.